Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Salut, c'est Mimi Hegel, et vous écoutez House of the Dragon, le podcast dans lequel Tequila Tex et moi, on débriefe chaque épisode de la série qui nous ramène à Westeros. Ceci est un replay de live Twitch, ce qui peut expliquer son aspect un petit peu chaotique. Retrouvez-nous en direct chaque mardi à 21h sur twitch.tv/MYMYHGL. Et pour info, chaque lundi sur mon Patreon, je publie le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues débiles dedans. Donc si vous aimez le snip snip, rendez-vous sur patreon.com/MYMYHGL. Et bonne écoute. Et bonjour Twitch.
Bonjour Twitch.
Hi Twitch, how are you Twitch? Welcome. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Mimi Hegel et je suis avec Tequila Tex. Hi Tequila Tex.
Tequila Tex aka le Patrick Sabatier de Twitch.
Tout à fait, le Patrick Sabatier de 2022. Si vous n'avez pas cette référence, bravo, vous êtes né après nous. N'hésitez pas à utiliser Google.
N'hésitez pas à sub, surtout.
Oui, n'hésitez pas à sub à ma chaîne pour soutenir les créateurs et créatrices indépendants. Sachez que c'est September en ce moment, les subs sont 30% moins chers, ce qui fait 30% de raisons de plus de soutenir les gros nerds et les grosses nerds comme moi.
Est-ce que t'as déjà entendu parler, Mimi, de September Santa?
Ah, c'est faire des cadeaux en septembre. J'adore le concept.
September Santa, c'est un personnage qui arrive chez toi, pas par la cheminée, mais par la fenêtre.
Tant mieux, j'ai pas de cheminée.
Et il arrive chez toi le 18 septembre.
Oh, c'est très précis, c'est dimanche.
Et il te fait des cadeaux qui sont en rapport avec la rentrée des classes.
Trop bien, j'ai trop hâte qu'il m'offre des gommes que je n'ai pas utilisées depuis avant le baccalauréat, je pense.
Ouais, ouais.
Bah écoute, aujourd'hui, mon September Santa, c'était Tequila Tex qui m'a amené plein de fromages délicieux. On a mangé du Bria Savarin à la truffe, de la tome aux fleurs et de la tome au foin. C'était incroyable, mais moins incroyable que toi, Nat. Merci beaucoup pour les subs offerts, ça fait très plaisir. Bravo à vous qui avez gagné un sub offert par Nat. Thank you, merci
Faites
de profiter
Nat.
De September. Soyez comme Nat, soyez une belle personne.
Prenez vos...
On s'est pas vu pendant 2 semaines, Tequila Tex.
2 semaines, c'est énorme pour
c'est
Twitch,
énorme.
Il paraît. Moi qui suis Patrick Sabatier, je connais pas
mais
ces
choses-là.
Mais oui,
je lui ai dit que je vais pas streamer pendant 1 semaine. J'ai fait un retour hier avant de recommencer aujourd'hui.
Explique-moi comme si j'étais Patrick Sabatier.
C'est des relations parasociales. La présence est importante car la régularité crée la familiarité et crée le réflexe ainsi que l'affection que les gens te portent. Il y a tellement d'offres sur Twitch. Il y a une énorme majorité de gens qui Twitch pour 0 ou 1 ou 2 personnes. Donc okay. C'est très dur de se faire une place, et dès que tu la perds et que tu sors de l'esprit des gens, même si je sais que vous êtes super fidèles et que vous ne m'oublierez jamais,
c'est quand même mieux quand je suis là tous les deux jours dans votre écran. Parce qu'il y a plein d'autres gens à regarder, et tu t'abonnes, et il n'y a pas tant d'heures dans une journée que tu peux passer, comme tu l'as dit, devant un ordi à regarder Twitch.
D'accord.
Donc il faut faire des choix. Tous les gens de qualité ont choisi d'être avec nous ce soir. Okay. Mais du coup, moi, j'ai pas streamé pendant une semaine car j'étais à Avignon, et toi, je t'ai pas vu pendant tout un épisode de House of the Dragon car j'étais à Avignon. Est-ce que tu veux nous faire ton petit débrief de l'épisode précédent, du coup, avant qu'on se lance?
Crap.
Du coup, l'épisode précédent,
l'épisode
triste,
précédent,
triste de la fin. Alors, t'avais dit,
moi,
dans le deuxième
bien.
Épisode, j'espère que Crab Feeder va pas tenir un épisode et c'est ciao. Et ben, c'était ciao.
Et ben, c'était ciao. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je le sens.
Oui.
Je le sentais. Et ça s'est, produit.
Oui.
Et j'étais un peu vénère.
Oui.
Mais en même temps, ce qui s'est, tu veux que je te dise ce qui s'est passé, pour de vrai?
Dis-moi ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, il y a eu Rings of Power.
Oui, alors...
Et que j'ai maté Rings of Power et que j'ai trouvé ça tellement lent.
Les hot takes de Teki. Moi, j'ai pas encore regardé Rings of Power, je n'ai pas d'avis, mais j'ai cru entendre que c'était plutôt chiant. Plein de pognon, mais chiant.
Lent, ça n'avance pas, les gens pataugent, etc. Je me suis dit, au moins, on est en train de mater une série où on perd pas de temps.
Ah bah
le truc avance.
On jump de 3 ans, Damon il va couper le gars en deux, c'est hors champ,
exactement.
On a pas de time, let's go.
Exactement,
quoi.
Ça va vite, mais au moins... Mais c'est pas choquant, c'est bien fait, tu vois ce que je veux dire?
Oui, moi je suis pas dérangé par ces sauts temporels.
On lui a donné sa bonne bataille au Crab Feeder, tu vois ce que je veux dire? Après tout, les batailles, elles durent pas plus d'un épisode, tu vois, bon...
Et il en a eu une très belle.
Après, c'est plus un
plot. Lui, il s'est
c'est
pas
vraiment
battu,
un plot point, ce gars, tu vois.
Oui, bah, dans le bouquin, juste... il a vraiment une demi-ligne et il finit comme ça avec Damon qui, apparemment, le coupe en deux avec son épée et c'est ciao, quoi.
Ouais,
c'est pas,
il a
un antagoniste formidable pendant 200 ans, c'est juste un gars.
C'est pas la saga du Crab Feeder, là. Qu'on est
mais
en train
il
de regarder.
L'avait quand même bien hypé, quoi.
Parce que il voulait nous le vendre un peu dans les trailers comme le grand méchant de la saison. Au final, non. Ça y est, c'est réglé, on passe à autre chose. Et c'est pas si mal au final, j'ai aimé l'épisode, j'ai adoré l'épisode
moi aussi,
et j'ai tout autant adoré celui qui vient de d'être diffusé.
Trop bien, on passe un très bon moment toutes les semaines
pour des raisons différentes.
Oui, moins d'hommes poissons dans cet épisode 4, plus de fion, on va en parler. Il y a des scènes de cul qui sont, je pense, parmi les meilleures qu'on a eues dans cet univers. Et Dieu sait qu'il y en a eu des scènes de sexe dans Game of Thrones. Donc peut-être que le grand méchant de cette saison, c'est l'inceste, finalement. Ce n'est pas Crab Feeder. On verra ce que ça donne. Pour rappel, en termes de programme, House of the Dragon, c'est toutes les nuits de dimanche à lundi, 3h du matin, heure française sur OCS. Si vous êtes une personne moins zinzin que moi, vous le regardez quand même à des heures normales le lundi. Du coup, tous les lundis soirs, vous pouvez retrouver le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues dedans sur mon Patreon, dont je vous mets le lien dans le chat. Tous les mardis soirs à 21h, comme ce soir, c'est avec Tequila Tex sur Twitch, le débrief. Et tous les mercredis, vous pouvez retrouver le débrief en podcast, en vous abonnant au podcast House of the Dragon. Il y a de l'atout. On avait prévenu, il y a de l'atout, mais j'ai fait une soupe à Tequila Tex afin de le guérir. Donc il y aura un peu de tout. Du coup, vous pouvez retrouver tous les mercredis en podcast notre débrief en vous abonnant au flux House of the Dragon, le podcast de Mimi et Tequila Tex. Voilà, une invention de titre qui m'a demandé beaucoup de réflexion. Je pense qu'on peut le dire.
Bah oui, titre non officiel, House of the Poisson quand même.
Oui, on aurait, mais tu vois, c'est pas bon pour le référencement, mais on aurait pu l'appeler House of the Poisson.
C'est un titre non officiel. En fait, si tu veux créer la proximité avec ton public Twitch, mm-hmm. il faut que tu fasses des choses un petit peu codées, un petit peu. Il y a uniquement.
Ah mais t'inquiète, il y a des gens qui me disent, je chantonne le générique Homme Poisson à mes filles et elles le chantonnent avec moi alors qu'elles n'ont pas la ref. Donc il y a quelque part dans ce monde des enfants qui chantonnent. Tequila Tex qui chantonne le point homme poisson sur l'air du générique de Game of Thrones et qui ne savent pas pourquoi. C'est beau.
Point homme poisson.
Point homme poisson. Point homme poisson.
Mais
merci Tintouin pour le sub.
Merci pour le sub. Et tu vois, l'important c'est que l'important c'est qu'il y ait une petite partie des gens qui regardent ce Twitch et qui se disent, je suis en train de regarder Only Poisson in the Building et je trouve ça bien, tu vois.
Rings of Poisson, bientôt, le podcast de Tequila Tex.
Moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé c'est une personne qui doit, soit écouter le podcast, soit être dans le chat room en ce moment.
Bonjour, si tu es là.
Qui m'a envoyé un petit DM en me disant, merci pour Only Murders in the Building.
Et oui, car les recos séries de Tequila Tech sont toujours à suivre. Donc on a eu Only Murders in the Building et tout l'univers Star Trek. Il me semble que t'avais fait cette propagande là. Et plus de recos à venir, mais it's time d'abord de parler de cet épisode 4 de House of the Dragon. Du coup, évidemment comme d'habitude, spoiler alerte, on va spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans House of the Dragon, on va spoiler tout ce qui s'est passé dans Game of Thrones quelques centaines d'années plus tard, mais on ne va pas vous spoiler ce qui va arriver après dans House of the Dragon. Moi j'ai lu les livres, enfin j'ai lu le livre Fire and Blood, toi c'est à jour.
C'est vraiment, vraiment sympa de faire un Twitch qui s'intitule un débrief de House of the Dragon, mm-hmm, et de rappeler aux gens qu'on va parler de ce qui s'est déjà passé dans la série House of the Dragon.
Tu sais quoi, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et étant personnellement quelqu'un qui est phobique des spoilers, je me dis c'est toujours bien de rappeler c'est quoi les bails.
Tu penses qu'il y a une personne qui va dire je vais cliquer sur ce truc, mais j'ai pas du tout envie qu'on me spoil les deux premiers épisodes.
Mais je sais qu'il y a des médias qui font des récaps, mais où ils spoilent pas vraiment. Ils disent voilà un peu les trucs importants de l'épisode, à vous de le regarder pour savoir. Et je suis là, mais c'est quoi l'intérêt? Genre, si je regarde House of the Dragon, je regarde House of the Dragon. Bref. Vous savez qu'on va pas vous spoiler la suite. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer dans la suite de l'intrigue. Par contre, on va parler de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Let's go! House of the Dragon, épisode 4. Caliente time. T'as kiffé du coup ?
Ouais, j'ai kiffé.
T'as kiffé ? Est-ce que t'attendais à quoi tu t'attendais pour cet épisode ? Donc on a terminé l'épisode précédent sur Daemon qui tue le crab feeder et Rhaenyra qui doit se marier en fait au bout d'un moment, qui doit sortir les doigts et choisir. Par contre, son père lui dit tu peux choisir ton époux. Est-ce que tu t'attendais à un plus gros saut temporel ? Là, on est à un peu moins d'un an a priori après l'épisode précédent, puisque dans le bouquin, elle part en tour. Merci pour le sub, Sissi. Dans le bouquin, Rhaenyra part en tour du bachelor là, comme ça, de la bachelorette pendant à peu près une petite année. Et là, elle rentre un peu plus tôt que prévu. Donc, on peut dire que ça fait quelques mois, mais pas encore un an.
Ouais.
À quoi tu t'attendais pour cet épisode ? Et est-ce que t'es content de ce qu'on a eu ?
Ben, ayant un peu suivi, enfin, connaissant un peu ce qui va se dérouler. En ayant lu, on va pas le rappeler à chaque épisode, mais en ayant une petite idée de ce qui allait se dérouler à travers les chapitres de World of Ice and Fire, je savais qu'il allait y avoir un retour de Daemon et que là où tout le monde allait s'attendre à ce qu'il fasse un genre de coup d'état, mm-hmm, qu'en fait il donne sa couronne à...
Et
il,
oui.
Il démontre sa
loyauté.
Sa loyauté.
Sa féalité.
Ouais, exactement. À son frère, tu vois.
Tout à fait.
Et que ce soit pas du tout genre... il arrive, il est là, je suis le roi de comment le roi de la mer,
le roi de la, le king of the Narrow Sea, c'est d'ailleurs le titre de l'épisode, le roi de la mer étroite, qu'on peut peut-être prendre comme un double entendre d'une autre mer étroite dans cet épisode, mais ce serait un peu crado.
Oulala, c'est crado ce que tu viens de dire.
Cet épisode est crado. Je pense que il y a plein de gens qui avaient un peu oublié que les Targaryens ils sont team inceste et qui devant cet épisode ont fait comme mon mec un truc de oui, non, c'est vrai qu'ils font ça. Ah, c'est dégueulasse. Donc, j'ai le droit d'être un peu dégueu.
Ouais. Eh ben, écoute, franchement, moi, je dis, Daemon continue à la fois être un peu horrible, à la fois on l'aime bien.
Qu'est-ce qu'on pense de cette coupe de cheveux ? Les gens en parlent dans le chat. Hein. Les gens étaient là. Allô ? Est-ce qu'on parle de cette coupe de cheveux de fuckboy ?
Moi, je préfère ça aux cheveux longs.
Ouais.
Moi, je suis toujours partisan de pas fan de cheveux longs. Ouais. Pas fan des catogans, pas fan des choses, des coiffures sur les mecs. Pas fan
du plus
côté
Jamie que Ned Stark.
Hidalgo, relou.
Pourquoi Hidalgo ?
Non, mais
ça cache
Paris, qu'est-ce
qui se passe ?
Non, mais j'aime pas.
Elle est brune, Hidalgo.
Moi, je sais pas. J'aime bien. Genre, je trouve ça. J'ai un peu une phobie des cheveux. Chez les hommes.
Les mecs aux cheveux longs, ça te met mal.
Les mecs aux cheveux longs, ça me fout mal.
Un jour, on fera un podcast masculinité avec Tequila Tex.
Ça veut dire soit hippie, soit gros douchebag,
Soit mec qui va au Hellfest et du coup
devient
Ned Stark. Quoi.
Ouais, ouais.
Ça marche bien. Pour moi, les mecs avec la coiffure de Ned Stark, c'est vraiment les mecs qui jouent à Warhammer et qui vont au Hellfest.
Ned Stark, cool. Mais dès qu'il commence à s'attacher les veuches, c'est trop catogan, c'est trop douchebag, quoi.
Ok, bon. Genre, un truc que
moi, j'ai un truc que je déteste. Vraiment que je déteste. Et franchement, j'en parle jamais. Mais genre, j'ai envie de vous mettre dans la confidence de ça.
Le Mimiverse.
J'ai envie de vous mettre dans la confidence de ça. Je ne peux pas faire trop confiance à un homme avec un man bun. J'aime pas la coupe de rugbyman là, rasée sur les côtés et long en haut avec un man bun.
Ah, mais j'appelle ça la coupe d'influenceur.
Ouais,
mais d'influenceur un peu télé-réalité.
Je trouve ça tellement. Je trouve que c'est. Ça va mal vieillir, c'est vraiment genre.
Du coup, dans l'épisode précédent, Damon, il avait une coiffure de combat avec une genre de demi-tresse, catogan tresse et tout. Toi, t'as pas aimé, du coup, parce qu'on l'a pas vu ensemble. On n'a pas débriefé les cheveux de Damon dans l'épisode précédent. Parce que c'était juste.
J'aime Damon. Donc, j'aime Damon. Tu vois. J'ai adoré le fait qu'il ne dise pas un mot dans l'épisode précédent et qu'il casse les gueules.
C'était bien. C'était fabuleux. J'en ai parlé à Fab tout à l'heure avec qui j'ai regardé et débriefé l'épisode et je lui ai dit, mais tu te rends compte que le gars a pas une ligne de dialogue dans l'épisode 3. Et il est là, pas du tout. Je fais, non, il arrive. Il tabasse le messager,
ouais.
Il fait sa mission suicide, il déboîte le crab feeder et il a 12 000 émotions en regardant dans le soleil crépusculaire là.
Il en dit un milliard de fois plus que 3 épisodes de Rings of Power où ça fait que parler et où ça dit les noms des elfes en faisant un accent. Tu
est-ce,
vois
que, est-ce que tu veux faire ta version de comment il parle dans Rings of Power? Eh que...
hey, salut, comment ça va, Galadriel?
Ok. Alors, Tequila Tex m'a débriefé Rings of Power. Je pense qu'on en fera un épisode spécial Twitch podcast juste pour toutes ces voix parce qu'il y a beaucoup de voix. Ok, bah
et bon, bref, en tout cas, genre, je kiffe Damon comme on kiffe un Jamie, tu vois.
Pour l'instant, il n'a pas la...
C'est pas parce qu'on est d'accord avec lui qu'on
l'aime. Il n'a pas la complexité d'un Jamie pour l'instant, mais j'attends de voir.
Ouais,
mais oui, on l'aime évidemment parce que dès qu'il arrive,
c'est un bad boy, tu vois. Mais
all eyes on him, quoi. Vraiment, il arrive dans la pièce, c'est genre, c'est lui qu'on regarde. On a envie de voir ce qu'il va faire.
Il lui fait un Aladdin là à un moment.
I can show you the world.
Ouais,
ah oui, c'est vraiment mets ta capuche, on s'en va dans les bas-fonds pour voir le vrai monde des vrais gens. Rhaenyra, elle s'en bat la race des vrais gens, mais on va en reparler. Écoute, moi,
je vais t'offrir un monde. Oh, mille et une. Est-ce que vous savez que j'étais à l'école avec Karine Costa? C'est une histoire que je raconte à chaque instant de ma vie.
J'adore, let's go.
J'étais à l'école avec Karine Costa, qui chante Ce rêve bleu.
Waouh.
Le morceau dans Aladdin.
Waouh. C'est une anecdote de star. Ça marche.
Plusieurs anecdotes découlent de cette anecdote.
Mais les deux, j'espère que Karine Costa dit, vous savez que j'étais à l'école avec Tequila Tex?
Ah, j'aimerais.
J'espère.
Ouais, je suis pas sûr que ça.
On va lui envoyer l'info. Puis envoyer un DM à Karine Costa après l'info.
Et
moi, attends, back to Damon.
Donc Damon, ok. Damon, on s'en bat les couilles.
La coupe de cheveux.
Décolle la coupe des cheveux. Je l'aime avec n'importe quelle coupe de cheveux, mais c'est vrai que je préfère quand c'est court.
Il y a Traficot qui dit c'est triste qu'ils se réconcilient avec Viserys pour seulement 5 minutes. Ils étaient tellement mignons tous les deux. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça chou. Alors moi, je suis team. Je suis pas contre le changement de look de Damon. Évidemment, il est très beau. Mais je trouve que la coupe est quasi anachronique. C'est vraiment une coupe que il y a des mecs dans le 10e qui ont la même, tu vois. Donc je suis là. Ouais. En termes d'entretien, est-ce que c'est pas hyper chiant quand t'es à Westeros, mais moins chiant que d'avoir les cheveux longs et blonds quand t'es en train de te prendre des tripes de crab feeder? Ah, et truc dont on n'a pas trop parlé avec Fab dans l'épisode précédent, du coup c'est l'occasion. Il y avait quand même plein de gens qui s'attendaient à ce que Damon risque de contracter la Grayscale, puisque le crab feeder avait l'air d'avoir la Grayscale, donc cette maladie qui a notamment frappé Jorah Mormont dans une des dernières saisons de Game of Thrones. Il y avait tout un truc de c'est incurable, et avec Sam ils ont fini par trouver un remède inattendu et tout, parce que la Grayscale, quand tu l'as, a priori c'est ciao. Et comme le crab feeder avait ce chara-design où on aurait dit qu'il avait la Grayscale, il y avait vraiment beaucoup de gens, quand ils ont vu Damon traîner son corps, qui étaient là « C'est une bombe à retardement, genre le gars il va ramener la Grayscale à King's Landing et tout », et moi, pas du tout. Parce que, déjà, a priori, si le crab feeder il vit avec la Grayscale, c'est qu'elle est dormante, ce qui est possible chez de rares personnes qui y survivent, comme la fille de Stannis Baratheon, Shireen, qui avait une Grayscale endormie. Ensuite, parce que les Targaryens tombent très peu malades. Généralement, ils sont pas immunisé à toutes les maladies, c'est arrivé, et on voit d'ailleurs que Viserys, c'est pas la forme, mais c'est arrivé d'avoir des Targaryens qui succombent à des épidémies, mais c'est très rare et c'est plutôt mauvais présage.
C'est des maladies métaphoriques en général.
Oui.
C'est des maladies
qui veulent dire quelque chose.
Parce que leur âme est rongée par quelque chose.
Oui, c'est toujours très symbolique quand un Targaryen tombe malade et a priori, enfin moi, il y avait aucun doute que, mais c'est peut-être parce que je savais que Daemon n'allait pas finir par choper la Grace qu'elle allait mourir en deux chapitres dans le bouquin. J'ai eu aucun doute sur le fait que le crab feeder c'est ciao et il y aura plus d'enjeu lié à ça et il y aura pas la Grace.
Bien montré coupé en deux, il y a pas de résurrection,
même pour toi c'était genre vraiment il n'y a pas d'espoir que le gars ressorte.
Quelqu'un qui meurt dans l'eau dans Game of Thrones en général.
Alors c'est pas arrivé dans la série mais parfois ça arrive que la personne revivent en étant parfois très différentes.
Méfiez-vous des morts, des gens qui meurent en tombant dans l'eau.
Est-ce que les cheveux longs, c'est pas une marque de pouvoir et est-ce qu'en se coupant les cheveux, Daemon, c'est pas symbolique, il laisse son pouvoir à son frère? Je pense pas que ça marche comme ça chez les Targaryens et à Westeros, ça marche comme ça chez les Dothraki, puisque un chef Dothraki laisse pousser sa tresse comme Khal Drogo et la coupe quand il subit une défaite. Il a autant de poignes de clochettes dans sa tresse que d'ennemis qu'il a tué. Mais à Westeros, non, je pense que c'est pas comme si dans le bouquin les maîtres qui ont compté la dynastie Targaryen écrivent « Et là, Daemon est rentré en s'étant bien coupé les cheveux. » Franchement, il s'était fait bégé. C'est un ajout de la série pour dire il continue à faire son... Moi, je l'ai lu comme il continue à faire son intéressant. Quoi. Il fait jamais rien comme tout le monde. Il arrive, il est changé. Il y a aussi un côté, il est un peu beau gosse. Enfin, il est différent de tous les autres. Il l'était déjà avant, hein, vu que c'est un Targaryen. Mais là, il est encore plus différent. Et du coup, la petite Rhaenyra qui vient de voir passer 98 brins barbus de 7 à 77 ans. Elle voit arriver Daemon, elle est là. Un peu de fraîcheur quand même. Hein. Un peu de nouveauté, tu sais, c'est ton correspondant en Allemagne au lycée, où t'es là, ouais, mais Johannes, il est pas comme Jordan et Kevin, quoi. C'est Johannes, il est différent. Alors qu'en fait, c'est aussi un fuckboy.
Moi, j'ai des potes qui m'envoient des messages.
Parce qu'ils savent que tu as une phobie des hommes aux cheveux longs.
Non, du tout. Pour me dire... ma relation avec telle meuf, c'est plutôt Alicent avec, Sir Criston avec Rhaenyra et ma relation avec, tu vois.
Ouais.
Il y a des analogues quoi, tu vois. Choisis ta team un peu, tu vois.
Je vous conseillerais de ne pas vous identifier à la moindre relation amoureuse ou sexuelle dans un univers écrit par George R. R. Martin. À la limite, Jon Snow et Ygritte, c'était un peu mignon. Et en même temps, ils sont un peu ken au seuil de la mort à la base, donc c'est pas non plus fou, quoi. Il était un peu son prisonnier et tout. Le consentement, on va beaucoup en parler dans cet épisode. Du coup, je ne vous conseille pas de...
C'est vrai qu'il y avait ça un peu avec Ygritte.
Bah un peu, hein, parce que ouais. Jon Snow, ça va qu'il était fort en Cuny et qu'il avait un peu envie d'y aller, mais s'il avait pas eu envie d'y aller, est-ce qu'il aurait pu ne pas y avoir envie d'y aller? Moi, je dis oui, je pense pas que Ygritte l'aurait forcé, mais on n'est pas dans du full consentement. Rob et sa meuf, comment ça a fini, Rob et sa meuf, s'il te plaît? Red Wedding, ça finit très mal. Hein.
Ouais, ça finit très mal, mais c'est pas de sa faute, Rob.
Si, quand il l'épouse, il sait très bien qu'il est pas censé l'épouser parce qu'il s'est promis à une autre. C'est quand même tout le bail du Red Wedding.
Excuse-moi, j'étais plus à jour, là.
Alors, j'ai une question pour passer à l'étape d'après. Je vous ai demandé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, AmyGHGL. Tous les mardis, je vous demande si vous avez des questions sur l'épisode pour qu'on y réponde ensemble. Et j'ai une question qui concerne Alicent et Rhaenyra. Pourquoi elles se sont réconciliées? Donc, vu que c'est la scène qui arrive, il y a Martina qui m'a demandé, c'est pas expliqué pourquoi Alicent est malheureuse et pourquoi elle est en meilleur terme avec Rhaenyra, puisqu'effectivement, à l'épisode précédent, Rhaenyra lui faisait la maxi-gueule comme une grosse ado. Elle était dans le bois sacré en mode... Ok, bah si c'est le roi qui m'ordonne de venir, j'imagine que je vais venir. Et là, on voit qu'elles ont de nouveau, quand Daemon revient et que Daemon et Viserys ignorent superbement leur fille et femme, enfin la fille et la femme de Viserys, comme font les hommes parfois. Alicent et Rhaenyra semblent s'être réconciliées, rabibochées. Est-ce que ça t'a surpris? Qu'est-ce que tu penses de cette relation, toi, qui est très roller coaster?
Cette relation. Elles sont dans le royaume ensemble. J'ai l'impression que elles peuvent pas trop. Elles savent qu'elles vont se croiser. J'imagine qu'elles sont pas vues depuis longtemps déjà
parce que Rhaenyra a été en
bachelorette tour.
Ah d'ailleurs on m'a demandé, ils sont à Stormfront au tout début quand il y a la file de prétendants devant Rhaenyra. Ils sont à Stormfront, le siège des Baratheon qui s'appelle Accalmie en français. J'ai toujours du mal à faire le lien parce que c'est une traduction un peu très jolie mais pas très claire. Et il me semble que c'est peut-être la première fois qu'on le voit dans la série qu'on voit. Alors c'est l'intérieur du château, enfin de la grande salle du château de Stormfront. On voit pas l'extérieur. Mais voilà, pour les curieux et curieuses, c'est là qu'on est.
Donc ouais, oui, donc ça fait un moment qu'elles se sont pas vues. Elle est un petit peu en tournée, ça fait longtemps qu'elles se sont pas vues. J'ai pas de mal à imaginer qu'à un moment, l'autre, elle commence à se rendre compte que qu'elle est une usine à faire des prétendants,
des gamins, des héritiers.
Oui, des héritiers, ouais. Voilà, ça.
Oui, comme des littéralement Rhaenyra lui dit, ça doit être vraiment horrible de subir de vivre dans un château et d'être juste là pour pondre des héritiers. Et sa pote est là.
Ouais.
Vraiment, je suis là, enfin, hein, c'est un peu vexant, quoi, tu parles de moi, donc je te confirme, c'est très chiant.
Et donc je pense qu'il y a un moment où. J'ai pas de mal à imaginer qu'elles se retrouvent toutes les deux sur qu'elles sont pas en guerre ouverte parce que c'est la cour quoi et que c'est pas comme ça que voilà et j'ai pas de mal à imaginer qu'elles se retrouvent sur un j'ai pas éprouvé le besoin d'avoir une scène où elles se disent nous sommes à nouveau copines.
Oui bien sûr moi non plus, que, tout comme on n'a pas eu besoin d'une scène où elles s'engueulent pour savoir pourquoi elles étaient brouillées.
Exactement.
Alors j'ai vu sur internet sur Google vous irez voir sur Google j'ai vu que ils avaient tourné des scènes du mariage d'Alicent et de Viserys qu'ils ont coupé au montage mais on a des plans behind the scenes notamment de la robe de mariage et tout et vraiment j'aurais adoré voir les interactions Rhaenyra Alicent au mariage d'Alicent avec le daron ça je pense ça aurait été cringe 4000 mais du coup on l'a pas vu alors il y a deux choses il y a à l'épisode précédent, Viserys a du coup promis de nouveau à Rhaenyra qu'il allait pas la déshériter et il lui a dit tu dois être bien seule en ce moment parce qu'elle dit en fait j'avais une famille, j'ai plus de famille et elle a plus de meilleure amie puisque c'est maintenant la femme de son père et du coup je me dis que peut-être que prendre conscience de cette solitude et le fait qu'Alicent lui dise j'ai plus beaucoup d'amis à la cour parce qu'en fait tout le monde me voit comme la reine et plus personne se rappelle que je suis une personne, bah elles sont un peu la seule amie l'une de l'autre. Donc ça m'étonne pas qu'elles se soient rapprochées. Et après, il y a la question, et ma petite sœur m'en a reparlé récemment en me disant « Mais c'est trop bizarre que t'en parles pas » de « Est-ce qu'elles sont amoureuses ? Est-ce qu'elles s'aiment ?» qui était suggéré dans le premier épisode, et c'était volontairement suggéré par les actrices, cette ambiguïté dans leur relation quand elles étaient adolescentes, où voilà, il y avait cette idée de « Sont-elles très bonnes amies ?» ou un peu plus. C'est pas quelque chose qui est exploré dans le bouquin, le fait que Alicent ou Rhaenyra, mais qui sont voilà, qui ont une relation différente dans le livre, soit éventuellement bi, soit éventuellement dans une attirance réciproque. C'est pas du tout évoqué, et pourtant il y a des personnages qui sont pas hétéros dans le bouquin, il y en a qui sont très clairement homosexuels même, et c'est un sujet quoi, on en parle. Donc si Rhaenyra avait eu une aventure avec Alicent, le bouquin en parlerait.
La série.
Donc je pense que la série l'a suggéré comme une possibilité, comme parfois à l'adolescence aussi, on explore des choses. Je lis pas ça comme elles redeviennent in love, c'est pour ça qu'elles se rapprochent, quoi.
J'ai pas vu, tu sais pourquoi ?
Mm-hmm.
Parce qu'il y a quand même un langage audiovisuel qui fait que dès la première scène de l'épisode, tu vois des gros plans sur des regards entre Sir Criston et Rhaenyra.
Quand tu sais pour qui elle a la dalle. Quoi.
Quand ils veulent, tu vois, pareil avec Daemon, entre Daemon et Rhaenyra.
Ah bah dès que Daemon il arrive, Rhaenyra elle est là.
Tu vois toujours. Il y a un langage audiovisuel.
Tonton, yes, salut.
Qui te montre les envies, les
oui,
désirs.
Oui, le désir, ouais.
Des personnages entre eux, et je l'ai jamais vu entre Alicent et Rhaenyra. Tu vois, à part.
Bah, je suis assez d'accord, quoi.
Tu vois.
Je l'ai vu dans le premier. Je pense que dans le premier, c'était volontaire. Mais.
Je sais pas où est-ce qu'il est.
Je suis d'accord. Dans le premier, quand même, il est. Si, il y a des trucs, tu vois.
Il y a des regards.
Si, il y a des regards. Mais elles sont plus jeunes aussi, tu vois. Elle a moins les yeux qui crient braguette. Et puis, il y a cette ambiguïté, cette impossibilité aussi de ce désir naissant. Mais dans le premier, pour moi, il était suggéré et les actrices l'ont visiblement joué comme ça. Je pense que quand ils veulent te montrer un désir ou un amour, ils savent te le montrer. Là, je trouve pas, mais vous savez quoi, maybe je le vois pas et il est là, puisque Cosmos Diary, ma petite sœur me crie, mais c'est pas le même amour, c'est tout. C'est pas le même désir que pour Kristen, peut-être. Écoute, peut-être. Je n'ai jamais été une jeune femme qui désire une jeune femme, donc peut-être aussi qu'il me manque ce niveau de lecture. Donc je vous crois. Je ne l'ai pas spécialement vu et c'est pour ça qu'on n'en parle pas, on n'en a pas beaucoup parlé dans ces podcasts parce que c'est pas, et c'est peut-être parce qu'on sait que dans le bouquin c'est pas vraiment un truc donc on s'attend pas à ce que ça arrive.
Mais c'est ça,
c'est surprise est toujours possible.
C'est ça quoi.
Oui. Parce que sinon peut-être que je serais un peu plus genre attends, c'est la nouvelle série Game of Thrones en 2022, peut-être ils vont mettre une héroïne non hétérosexuelle incroyable.
Parce que.
Mais moi je sais qu'a priori non.
Sans spoiler et en étant vraiment genre Maxi, attention, on a déjà vu des personnages qui s'avèrent être homosexuels dans la série, Et rien dans la série ne nous a laissé entendre que ces personnages l'étaient.
Tu parles de dans Game of Thrones ?
Non, dans
Ah
dans
oui 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 oui, ça viendra. On en
dans
reparlera.
Dragon, on en reparlera, mais tu oui. vois ce que je veux dire ? Genre
Oui oui, c'est pas non plus dès qu'un personnage
et nous on le sait.
Ça vient quand ça vient quoi.
Et nous on le sait, donc on sait que ça va arriver, mais quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui n'a pas lu les bouquins, ne pourrait pas s'en douter aujourd'hui, tout comme il ne pourrait pas se douter s'il se passait quelque chose un peu plus tard entre Alicent et Rhaenyra. Donc c'est légitime de se poser la question.
Oui, oui. Et peut-être qu'il y aura une réécriture de cette histoire et une relation un peu plus ambiguë à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que, j'aime pas quand vous dites on en reparle. Alors. Loulou, vraiment, ma vie, c'est des gens qui m'envoient des textos et moi qui réponds haha avec un smiley, deux points, sourire, parce que je peux pas répondre à leurs questions, parce que sinon c'est spoiler la suite, quoi. Mais c'est pas grave, continuez à m'envoyer vos questions en DM, ça me fait très plaisir. Ok, Daemon is back. Il a bien ghosté Rhaenyra, tu vois, il lui a bien fait dans le chaud-froid, il a fait le froid, il a été direct voir Viserys, évidemment. Jurer fidélité, être beau gosse. Dans le parc, Rhaenyra, elle arrive, il lui parle pas, il lui dit pas bonjour, ouais. Il s'en fout, elle est là. Peut-être tonton, il veut parler et tout, ils sont là. Mais allez regarder les tapisseries, là, les gonzesses. Donc vraiment, j'étais en mode, mais les connards. Et enfin, quand il est en drama queen tout seul dans le bois sacré, toute la soirée, toute la fête s'est retirée, il se dit, est-ce que c'est pas le bon moment pour parler des aléas du mariage avec ma nièce, qui a quand même, même si elle est majeure, 15 ans de moins que moi.
Et lui tripoter le collier.
Et lui tripoter le collier qu'il lui a offert et qu'elle portait. Petit détail dans l'épisode, enfin au tout début de l'épisode, quand il y a les prétendants qui défilent, elle porte son collier offert par Daemon et elle le triture. Et moi j'étais très intéressée par cette scène parce que, encore une fois, il y a plein de gens qui vont un peu oublier que les Targaryens c'est la team inceste et que la différence d'âge ne les dérange pas trop. Et comme en plus il y a eu ce truc où Viserys, quand on lui a proposé de marier le tout petit Aegon à Rhaenyra, il a dit mais non, mais c'est pas possible. En fait, je pense que les gens, ils avaient un peu oublié que Daemon et Rhaenyra, il y a une vibe chelou. Et du coup, j'étais dans la scène devant l'arbre au cœur, j'étais là. Il est vraiment en train de lui filer un verre de vin, les pieds sur la table, en train de lui dire mais écoute, la vie, c'est ouais, tu te maries et puis après tu niques qui tu veux, par exemple. Tu peux niquer des gens qui sont dans la même pièce que toi là tout de suite, tu pourrais, t'es pas obligé, mais tu pourrais.
Ouais.
J'étais là, waouh, c'est pas subtil. Est-ce que t'as kiffé voir Daemon activer le. Fuckboy énergie de
ouais.
Je vais draguer une meuf de 15 ans de moins que moi.
Ouais,
quoi.
Il est dégueu, mais.
Ah, il le fait bien, hein. Il fait bien, il les vieux gars bien, qui font quoi. La sortie des lycées, là.
On aime un bon méchant, hein.
Pour lui montrer que le plaisir féminin existe, je vais l'emmener dans un bordel. Écoute, c'est pas comme s'ils avaient des ateliers vibro à l'époque, tu vois, pour parler de clitoris et tout. C'était le closest.
Ouais, franchement.
Closest tout.
Moi, franchement, jusqu'au moment où il commence à jouer à touche pipi. Je trouve que je trouve que ce truc de montrer la vraie vie à Rhaenyra, ça lui fait pas trop de mal, je trouve.
Oui, je suis d'accord. Et puis elle a pas l'air si effarouchée par ce qui se passe.
Non.
Elle a pas peur dans ce quartier des circassiens.
Non. Et puis
là.
À un moment, il lui dit, tu sais, il faut payer les choses. Hein, ici.
Oui. Et elle se casse.
Et elle se casse en courant, genre les frontées.
Oui, je pense qu'il y a un côté, mais en fait, toute cette scène jusqu'au bordel, elle est cool.
Ouais.
C'est ton cool tonton. Qui t'emmène faire un peu le mur pour t'emmener à la rencontre des vrais gens de la vraie
ouais.
vie. Il l'emmène voir une pièce pour lui rappeler qu'en fait, le peuple, il n'est pas acquis à ta cause et qu'il va falloir se motiver
exactement.
Si tu veux le gagner.
Exactement.
Et Rhaenyra, elle est littéralement en mode « la vie
exactement.
Des gens ne m'intéresse pas ». Je suis là « waouh ». Pour une meuf qui veut être reine, tu t'en bats vraiment bien la race des gens sur que tu vas gouverner. Ce serait, faudrait peut-être que ça change. Donc
elle
tout
applique,
ça,
elle
jusqu'au bordel, on est bien, tu vois.
Elle applique le dicton de Tywin Lannister
The lion doesn't concern
itself
with
the opinion
of
the
sheep. Le lion ne s'embarrasse pas de l'opinion des agneaux. Alors le dragon ne s'embarrasse peut-être pas de l'opinion des agneaux. Mais les Targaryens sortent quand même d'une longue période de guerre civile, notamment sous le règne de Maegor le Cruel, qui était avant Jaehaerys, qui était avant Viserys. Donc le vieux roi qui nomme Viserys au début de House of the Dragon, c'est Jaehaerys. Et avant, il y avait Maegor le Cruel.
Non, mais Jaehaerys.
Il était pas sympa. Jaehaerys était hyper sympa.
Il a vécu longtemps quand même.
Oui, il a vécu, mais c'est genre 60 ans, tu vois. Ça fait pas
ouais.
si longtemps qu'il y a eu des vraies rébellions populaires contre les Targaryens. Et guess what, même si t'as des dragons, quand t'as tout le peuple qui est pas d'accord, et notamment pour ces histoires d'inceste, bah, il t'arrive des bricoles. Donc, je trouve que Rhaenyra, elle est très nonchalante sur pas besoin de l'opinion du peuple. Après, elle a pas tort. C'est pas un univers où le peuple choisit ses dirigeants.
Et on a un écho de ça dans le fait que plus tard dans l'épisode, Alicent fait la leçon à Rhaenyra et lui disent « Quoi ? T'as baisé avec ton oncle ? C'est dégueulasse !»
Oui.
Parce que...
Elle lui dit « Vous, les... Bah, » oui, elle lui dit « Vous, les Targaryens, vous avez des pratiques bizarres. » Elle dit « You Targaryens have queer habits. » Donc, il y a quand même un côté, genre, vous êtes
Est-ce que c'est
chelou,
un spoiler que de dire que Alicent est extrêmement religieuse ?
Bah, alors, pour l'instant, c'est pas trop... C'est montré parce qu'elle prie une fois ou deux avec Rhaenyra. Mais j'ai pas eu l'impression qu'ils insistaient dans la série là-dessus. Après, elle va aussi le devenir.
Ça va être une star autour du cou à un moment.
Si, elle est religieuse. Elle a une éducation religieuse. Et d'ailleurs, si dans l'épisode 1, quand elle lise sous l'arbre, qui est une des scènes où tout le monde a fait, elles sont peut-être pas que copines. Hein.
Okay.
Quand elle lise sous l'arbre, elle lise un livre religieux et Rhaenyra en arrache une page et elle est là en mode mais qu'est-ce qu'elle va dire la Septa? Et Rhaenyra elle fait fuck la Septa. Et Alicent elle est un peu choquée genre. Oh elle est pas vraiment. C'est pas pour l'instant une. Désolé pour la. C'est peut-être pas très respectueux, mais c'est pas une grenouille de bénitier, tu vois. Elle est pas genre ultra stricte, mais effectivement, elle est très croyante et le fait qu'elle soit religieuse est une des raisons qui font que elle est pas hyper à l'aise avec l'inceste. Mais bon, il y a plein d'autres raisons de pas être à l'aise avec l'inceste. Mais en tout cas, oui, on voit que la. Là, on saute un peu à travers l'épisode, mais on va rattraper les wagons. Mais oui, clairement, le désir, la détente des Targaryens pour l'inceste et la détente de Rhaenyra envers la détente potentielle de Rhaenyra envers le fait de Ken son oncle ne va pas aider sa relation avec Alicent. Parce que mais en vrai, c'est choquant pour plein de gens à Westeros quand même. Ouais. Certes, il y a un décret religieux qui dit qu'il y a une exception pour les Targaryens, c'est les seuls qui ont le droit. Mais ça veut pas dire que tout le monde est hyper à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, pour l'instant, voilà, Viserys, il a pas épousé sa sœur. Il a pas marié Rhaenyra à son frère. Et quand il parle de la marier, c'est soit à des nobles de Westeros, soit à des Velaryon qui sont pas de la même famille. Donc ils sont pas non plus autant détente sur l'inceste qu'ils l'étaient avant, quoi. Avant de passer à la famous night out de Daemon et Rhaenyra, il y a quand même un truc important qui se passe puisque ça va conditionner la fin de l'épisode. C'est qu'il y a quand même un petit conseil royal où on voit que deux choses importantes. Rhaenyra a une promotion. Elle n'est plus cupbearer. Elle a un siège à la table avec tous les autres membres du conseil, donc la main du roi, Lionel Strong, etc. Et la main du roi justement apprend à Viserys que Corlys Velaryon, qui est toujours fâché et qui n'est pas revenu avec Daemon, s'apprêterait à marier sa fille Lena, donc la petite meuf que Viserys n'a pas voulu épouser, au chef de Braavos.
Un seigneur.
Enfin, ouais, un seigneur des seigneurs de Braavos, un seigneur très haut.
Un seigneur naval. J'ai bien compris.
Ouais, naval ou financier.
Non, naval, je crois.
Naval, les deux. Ah oui, donc ça fait beaucoup.
Un seigneur naval de Braavos.
Est-ce que tu peux refaire un petit point Braavos pour qui a oublié?
Écoutez, je vous dis pas Braavos si vous avez oublié.
C'est toi mon expert à l'est de Westeros, tu vois. Tout ce qui est à l'Orient, c'est toi qui sais.
Alors, Braavos, c'est une des Free Cities, une des cités libres de d'Essos. Braavos, c'est un peu genre, elle est, je crois, au nord. Elle est un petit peu cachée, cette ville. Rappelez-vous,
je vais chercher la carte.
Rappelez-vous, dans Game of Thrones, c'est là où Arya va apprendre à devenir une faceless woman. Braavos, c'est une cité qui a été fondée par des esclaves libérés qui se sont rebellés, qui ont fondé Braavos. Je sais plus les détails de ça, mais ça a été, c'est un peu la République libre à la base, quoi, Braavos.
Et donc, mais un peu Monaco aussi, quoi.
Ouais. Et donc tous les, voilà, c'est un peu, ils font un petit peu leur truc à eux, quoi. Et chaque, je sais pas s'il y a un seul chef, mais il y a plein de communautés différentes à Braavos, en fait. La série nous fait croire au début que, enfin,
j'ai pas la géographie en tête tout le temps non plus. Et
selon toi, Braavos, c'est à peu près au même niveau que King's Landing?
Je pense, ou un peu plus au sud. Dorne, c'est toujours vachement plus au sud que ce que je pensais.
Bref, en tout cas, Braavos.
Braavos, c'est une ville avec la banque de fer.
Exactement.
Qui est la banque la plus riche du royaume et la banque auquel même les rois et les reines.
C'est là où tu passes entre les jambes de l'énorme statue.
Du titan. Le titan de Braavos, tout à fait. Il passe en dessous dans Game of Thrones, un peu comme les grosses statues de rois dans Le Seigneur des Anneaux, là.
T'as besoin d'une pièce pour qu'on t'amène à Braavos.
Ah, ça, c'est pour les Faceless Men, je crois. Il lui donne la pièce, il lui dit, tu dis Valar Morghulis à n'importe quel marin de Braavos et il t'amènera. Mais je crois que ça, c'est un truc des Faceless Men, c'est pas que un truc de gens de Braavos. Mais du coup, pourquoi c'est important que Corlys Velaryon aille marier sa fille? Du coup, Elle a quel âge Léna maintenant? Bah elle a, alors dans l'épisode 3, on avait Lénor sur un dragon. Vous voyez, c'est le jeune Vélarion qui était sur le jeune dragon Sismok. Elle a le même âge parce qu'ils sont jumeaux, il me semble. En tout cas, ils sont frères et sœurs très proches.
Elle est plus ou moins adulte là.
Elle a en gros l'âge de Rhaenyra. Hein. Donc c'est, enfin, elle est un peu plus jeune que Rhaenyra.
Elle est plus jeune que Rhaenyra puisque.
Bah, elle avait 12 ans quand Rhaenyra en avait 14. Ouais, 14-15. Okay. Donc elle est un peu plus jeune. Bon, elle est jeune pour se marier dans nos standards modernes, mais pour Westeros, elle est adulte et elle aura sûrement une act, enfin, elle aura une actrice plus âgée qui va la jouer. Mmh. Et donc elle, si elle est mariée à un fils d'un seigneur naval de Braavos, pourquoi ça inquiète le trône de fer? Pourquoi est-ce que c'est grave?
Bah parce que c'est l'éternelle peur que Westeros soit attaqué par les Free Cities, quoi.
Tout
c'est
à
la
fait.
Raison pour laquelle ils partent en guerre contre le Crab Feeder.
Oui, c'est, parce que c'est les ça, Free quoi. Cities commencent à être un peu bien, leur choper bien la veste.
Par contre, Braavos, ils sont pas dans la Traiarchy, tu penses?
C'est Lys, Pentos et Myr, je crois, ouais. La Traiarchy.
Ils sont pas dans les
c'est pas eux qui géraient le
Crab Feeder. Guys, tu vois.
Mais ils ont pas aidé. Les cités libres, c'est vraiment, encore une fois, c'est des cités libres, c'est pas des royaumes qui cèdent et qui ont un roi commun. Et ça marche beaucoup au capitalisme. Du coup, le fait que, enfin, à l'argent. Du coup, le fait que Corlys Velaryon, qui est la meilleure flotte de Westeros et qui soit la famille la plus riche, s'associe via un mariage de sa fille à un seigneur de Braavos qui a beaucoup d'argent et une super flotte, ça fait potentiellement une méga flotte et une méga armée qui va peut-être un jour se dire, le petit Viserys là, il nous a bien manqué de respect et on va peut-être aller reprendre une partie de Westeros et en faire un endroit qui est à nous, quoi. Donc c'est pour ça que le conseil urge à nouveau Viserys de marier Rhaenyra, qui est là, hein, qui est présente, qui est là, oui, vraiment je suis là, et qui n'a toujours pas envie de se marier, mais c'est pour ça qu'à la fin aussi Viserys va lui mettre la pression en lui disant, en fait tu vas épouser Lénor Velaryon, parce que c'est leur contre-attaque à cette mesure diplomatique, c'est pas d'attaquer bien sûr Braavos ou Corlys Velaryon, c'est de contre-attaquer avec leur propre mariage d'intérêt, qui du coup va être pour Rhaenyra, mais on en reparlera, mais c'est pas forcément le pire parti pour elle, Lénor. Au moins il a un dragon et il sait s'amuser. Comment va Viserys? Comment va la santé de Viserys Targaryen?
Mal.
Mal, hein? Qu'est-ce qu'il a? Il y a vraiment
déjà,
beaucoup
vu,
de gens
qui... T'as capté
qui
que depuis la chasse, là?
Bien sûr.
Il a deux doigts en moins.
J'ai vu. Épisode 3, c'est subtil, mais on voit que donc son doigt qu'il a mis dans les asticots, là, qui s'était coupé sur le trône de fer, il l'a mis dans les asticots. L'épisode d'après, c'était Ciao, et il a perdu l'autre doigt, donc il a perdu l'index et l'annulaire de la main gauche. Et là, il a l'air d'avoir des genre d'escarres et de plaies qui se referment pas. On voit que pendant le bain royal, il y a des gestes très doux et il a l'air d'avoir mal et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Viserys? Pourquoi il est malade? Surtout si les Targaryens tombent pas trop malades.
Parce qu'il est malade, parce que son âme est malade.
Parce qu'il est faible et torturé par cette prophétie.
Parce que la prophétie le ronge, parce que le trône de fer, il n'est pas à sa place sur le trône de fer. Le trône de fer le rejette, le trône de fer le coupe. Le trône
il
de
n'a
fer,
pas de dragon en plus.
Voilà, exactement. Il est wounded. Il est pas bien. Combien d'épisodes va-t-il
tenir? Alors, je vous rappelle qu'on parle d'une histoire de succession. Je vous rappelle aussi que tous ces gens sont morts à la fin, en plus de ne pas exister. Donc il y a des gens qui vont mourir, je ne sais pas quand, on verra. Mais en effet, la série n'a pas l'air de nous dire que Viserys est dans une forme olympique et va nous faire 40 ans de règne en plus, jusqu'à s'éteindre à son bel âge de 92 ans, quoi. Ça ne va pas.
Ça s'appelle la Dance of the Dragon, ça s'appelle pas...
La
Viserys vit
gars
avec ses deux enfants tranquillement, avec tu vois ce que je veux dire.
Ce serait trop marrant que ce soit une sitcom familiale sur la parentalité et l'éducation, tu sais, c'est juste ça. Keeping up with the Targaryens.
Ça s'appelle la guerre civile entre les Targaryens, donc
oui.
À un moment...
Si on parle de succession, il faut bien que des gens meurent. Mais c'est alors.
Sauf
c'est...
dans la série Succession.
Toujours pas mort, le vieux. Il a fait une attaque épisode 1, saison 1, il est toujours là. Incroyable, série Succession. N'hésitez pas à regarder si vous ne regardez pas encore. C'est la meilleure chose.
Il y a eu un autre Emmy, un deuxième.
Oui, mais toujours pas pour Kieran Culkin qui joue le petit Rome là. Il mérite. Ouais. Mais Matthew McFadden en a eu un qui joue Tom. Bref. Vous renseignerez sur les Emmy et vous regarderez Succession. Oui, donc en effet.
Vous avez OCS, vous pouvez déjà le regarder.
Bien sûr, et vous avez OCS puisque vous regardez légalement House of Huddy tous les lundis afin d'être à jour pour le récap rigolo et ce récap. En effet, en fait, Viserys, il a pas de pandémie, il a pas une maladie incurable, on sait pas ce qu'il a, mais c'est effectivement quelque chose qui doit être lu de façon allégorique plus qu'autre chose. C'est quand même intéressant que dans les premiers épisodes, c'était très secret le fait qu'il n'était pas en bonne santé. Otto Hightower, donc sa main, faisait en sorte qu'il n'y ait que lui et le maître, et peut-être un serviteur, mais seulement un qui soit présent pendant les moments où on le soignait. Là, ça a l'air d'être quand même plus connus. Alors il y a sa femme, ça, ok, il y a sa femme, Alicent, mais il y a 4-5 domestiques, une qui porte les peignoirs, une qui le tamponne, etc. Et ça se voit visiblement que son corps va pas bien. Et en plus, bah, il a perdu deux doigts. Alors en vrai, quand il est en public, il a un gant avec deux doigts du coup remplis. Et ça se voit dans la scène là où il boit des coups avec Damon dans le jardin. Quand Damon vient de rentrer, il boit comme ça. Alors, j'arrive pas à détacher ses deux doigts, mais en gros, il boit avec deux doigts en l'air parce que tout droit, parce qu'il a une main avec un gant avec une petite prothèse. Donc c'est plus connu qu'il va pas bien, et ça explique aussi peut-être pourquoi on lui remet la pression sur l'histoire de succession, un peu moins parce qu'il a un héritier mâle maintenant, même si il l'a pas désigné comme héritière, appelons-le, que c'est Rhaenyra qui est l'héritière légitime du trône pour le moment. Ça détend quand même les lords du royaume, hein. On a bien compris que c'était assez important pour eux qu'il y ait un petit garçon dans l'histoire. On en arrive à la double deux salles, deux ambiances de cet épisode, à savoir la Night Out de Rhaenyra et Daemon Targaryen et la Night In de Alicent Hightower.
Je vais t'offrir un monde au mille et une saveur où tu peux fourrer avec ton oncle et regarde, il y a aussi des nains qui crachent du feu.
Beaucoup de trucs qui crachent du feu à des...
Ben, c'est quoi? C'est le festival du théâtre de rue d'Aurillac toutes les semaines?
Moi j'étais sur Avignon Off. Mais debout, c'est selon. Alors, déjà, cette histoire de passage secret dans sa chambre, est-ce que tu l'as l'historique de d'où viennent les passages secrets?
C'est Maegor.
Oui, c'est Maegor le cruel.
Maegor le cruel.
Donc Maegor, ça fait 2-3 rois Targaryens qu'il a régné. Il était pas sympa, comme son nom l'indique. Et il a fait creuser dans le Red Keep, le Donjon Rouge, plein de passages secrets et de portes dérobées. Et ensuite, il a fait assassiner tous les architectes et les ouvriers qui avaient travaillé au projet. Donc personne ne sait tous les passages secrets qu'il y a dans le Donjon Rouge. Et c'est quelque chose qui revenait d'ailleurs in play dans Game of Thrones, puisque Tywin Lannister, qu'on connaît bien, et Tyrion Lannister connaissait certains de ses passages secrets, en profitait parfois pour aller au bordel, comme chacun fait, et parfois pour aller tirer à l'arbalète dans le vide de leur père qui était en train de chier aux toilettes, écoutez.
Arya, elle joue à chat aussi, elle poursuit.
Arya, elle cherche, oui. Elle cherche un chat. Et c'est comme ça qu'elle entend Varys et Littlefinger comploter contre Ned Stark saison 1, souvenez-vous. Donc qu'est-ce que t'as pensé de cette scène où Rhaenyra découvre un sac avec des fringues, un papier, moi j'étais en full escape game.
Moi j'ai rien compris, genre,
j'ai rien
pourquoi il y a des vêtements
déjà
sales. À un moment elle sent les vêtements, oui, et elle a plu, et je suis genre, c'est quoi le délire, genre pourquoi il y a
moi j'étais vraiment en mode,
ah d'accord, en fait elle doit se déguiser.
Moi je croyais qu'il y aurait quelqu'un dans sa chambre, je croyais que le message c'est, il y a Daemon dans ta chambre, il est venu, il a posé son sac, quelqu'un d'autre peut-être, je sais pas, un espion ou quoi. Et il a vraiment fallu qu'elle regarde le truc, elle regarde le mur, j'ai fait « Ah,
on
est
vite
dans les passages dérobés !»
On comprend vite que c'est la vibe Aladdin. Et moi, je trouve que... Moi, je trouve que King's Landing...
Qu'est-ce qu'on pense de la rue du cirque de King's Landing, qui n'est pas un... Alors, dans les podcasts que j'écoute...
Je capte pas si c'est un coupe-gorge ou juste genre un endroit très touristique. Je comprends pas trop.
Est-ce que c'est une feria ou est-ce que c'est l'endroit où il faut pas aller? Bah, on sait pas trop parce qu'en vrai, ils ont pas l'air en danger. T'as Rhaenyra qui se barre à un moment toute seule et t'as à un autre moment Daemon quand même qui la laisse toute seule et elle rentre toute seule au Red Keep. Ça a pas l'air d'être risqué, tu vois.
Non.
Donc, j'ai l'impression que c'est un endroit festif, c'est un peu la rue de la soif.
À part des funambules, tu vas...
Oui, il y a des funambules, il y a des cracheurs de feu. Ça, c'est en termes de sécurité pyrotechnie, c'est pas un concert de Rammstein, quoi. C'est très... Faut pas porter du synthétique, ça prend feu très vite. Il y a des diseuses de bonne aventure, il y a de la street food, il y a des pièces de théâtre, super. Théâtre de rue.
Théâtre de rue,
c'est Avignon off, quoi. Donc pourquoi pas, ça met une bonne ambiance. Moi j'étais contente parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le peuple déjà. J'en avais parlé dans l'épisode avec Fabrice, mais je trouve que ça manque cruellement de gens du peuple cette série, pour nous raccrocher un petit peu à c'est quoi les enjeux finalement, c'est quoi les personnes réelles qui sont pas nobles et qui vont pâtir de tout ça. Et j'aime toujours voir King's Landing réinventé. Alors là c'est un peu genre, est-ce que c'est tous les soirs comme ça? Est-ce que c'est un festival? Est-ce que tous les mardis c'est la rue du cirque, mais tous les jeudis c'est la rue d'autre chose?
Je pense que c'est tous les soirs comme ça.
Ça a l'air
des bordels,
festif,
des trucs, des mecs qui crachent du feu, la cour des miracles, effectivement, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le message qu'on veut nous donner par rapport à Fleabottom.
Alors ouais, alors est-ce que c'est Fleabottom donc Culpucier, qui est le pire quartier de King's Landing, ou est-ce que c'est, j'ai entendu que ça pouvait être la Silk Road.
Parce que est-ce que
Non, c'est il le code, a pas c'est un surnom de la drogue en ligne. Mais là, si, c'est, je crois que c'est la rue de la soie.
Il a pas un surnom, Damon, qui est le King, le
c'est le Prince Lord of, Prince of Flea
Bottom, ouais, un truc comme oui, ça. Oui.
Ah, donc en gros Button, voilà, on est dans les bas-fonds quand même de ouais. King's Landing, on n'est pas là où les nobles vont s'amuser, on est là où le peuple va s'amuser. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit meilleur moment quand Rhaenyra se rend compte que l'argent existe, car elle exactement. Est vraiment dans son privilège total de exactement. Petite gosse de riche qui s'encanaille en allant dans les quartiers chauds, mais qui sait très bien qu'elle va rentrer en chauffeur. Bon, alors elle rentre à pied, mais que potentiellement elle rentre en chauffeur et que elle croise d'ailleurs un membre de la garde royale. Ah oui, on va en parler. Elle croise un gars. C'est important que vous sachiez qu'elle a croisé ce gars-là. Elle recroise un gars de la garde royale qui la reconnaît et qui lui dit du coup. Bonne soirée, alors qu'il était plutôt parti
pour
l'embrouiller.
C'est le fils Strong.
C'est le fils Strong. Alors attendez, je vais vous remettre mes petites fiches de révision là. Normalement, là vous voyez, attendez, est-ce que vous voyez ? Oui, ça fonctionne. Vous voyez en haut à droite, Arwen Strong. Donc c'est celui qui avait regardé Rhaenyra en gros kiff quand elle est rentrée pleine de sang de sanglier dans l'épisode précédent.
Oui, il était en train de retourner, de dépecer un lapin. Oui. Il a dit bien vu, jeune
ouais,
fille.
Il était là, ouais. Ça me plaît, ça. Ça c'est une femme selon mon goût. C'est le fils de Lionel Strong qui donne des bons conseils à Viserys et le frère de Larys Strong, alias Larys Clubfoot, qui aime bien le gossip. Donc c'est ce gars-là qui est chevalier dans les Kingsguard, la garde royale. Comme Kristen Cole, on va en reparler, qui croise Rhaenyra pendant qu'elle est en train de se barrer parce qu'elle a pas voulu payer sa street food là, et qui l'arrête en lui disant où est-ce que tu penses aller, boy, et qui la reconnaît parce qu'elle elle l'appelle par son nom, et il est là, bah, princesse quoi, et il la laisse partir en mode bah écoute, bonne soirée pour cette fois quoi. Donc il kiffe ouais. bien la Rhaenyra canaille, et tant mieux parce que c'est bien qu'elle vive sa vie quoi.
Mais ouais, tu sais qu'ils sont en train de faire peut-être un spin-off. De qui s'intitulerait un spin une autre série donc qui s'intitulerait Flea Bottom.
J'adorerais parce que ça pour le coup tu vois si on, ouais, si j'ai à la fois une série avec que des nobles sur les Targaryens et ouais. une série avec le petit peuple de Westeros, moi ça me plaît.
Ouais, hein. Moi ça me débrise un peu.
Pourquoi?
Parce que l'esthétique clip de Mylène Farmer okay. Désenchanté là.
T'as envie qu'ils aillent voir le petit peuple d'ailleurs que
ouais. Non mais des... ouais non mais genre juste prends ton écuelle et mange du caca. C'est genre ça me stresse
en fait. Les prostituées avec les seins à l'air, ouais, tout ouais, machin, t'en as un peu marre.
Ouh, se maquiller, cracheurs de feu. J'aime pas les cracheurs de feu dans la vraie vie, c'est pas pour les voir là, pour les regarder à la télé.
Beaucoup
tu vois.
De cracheurs de feu dans cette série. Et
genre je trouve ça cool que ça serve un truc narratif dans cet épisode. Je veux bien qu'on passe pas notre vie à Flea Bottom quoi.
Oui.
On sent l'odeur à travers l'écran, tu vois.
Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que j'aimerais bien parce qu'au final, on n'a jamais eu de vision très directe, à part dans la novella Dunk and the Egg, de la vie du petit peuple à Westeros. Quoi. On l'a eu par procuration, par Arya, par Tyrion et tout. Mais si c'est bien fait, pourquoi pas faire un truc de mafieux à Flea Bottom, tu vois, ça me parle bien. Ouais. Après, comme dit Jimmy le Mouton, ça faisait un peu le peuple est sale, il vit à poil. Il est effectivement dans une forme de décadence et tout. On n'a pas des visions très nobles de la population de Westeros pour l'instant. Après,
parce que c'est ça dans les villes et après c'est les.
Oui, puis c'est les quartiers où Daemon y traîne aussi. Hein.
C'est les campagnes où les gens. Ont...
Je veux dire, il y a sûrement des quartiers résidentiels un peu chiants à King's Landing, mais c'est pas là où Daemon il va emmener Rhaenyra sans canailler quoi.
Non, mais bon, le truc, non, c'est cool, mais je pense que faire toute une série là-dessus serait chiant à mon avis.
Ok, on verra. On traversera ce pont quand on l'atteindra.
Comme c'est toujours, mais c'est comme le truc des Marvel en fait, où quand ils veulent faire un truc un petit peu plus, on va se focus sur la vie des vrais gens et pas parler que des super héros. On se rend compte qu'en fait c'est un peu chiant et qu'on préfère les histoires sur les super héros en fait.
Je comprends. Peut-être qu'au bout d'un moment on sera là. Bon bah c'est juste des gens qui se battent pour deux pièces d'or, tu vois. Ça va pas faire 8 saisons quoi. 8 saisons et un film.
On verra. Tout peut-être. Prouvez-moi le contraire, tu vois. Mais le fait est que c'est vrai que je trouve que ça lui fait pas de mal à Rhaenyra de se rendre compte.
J'aime bien comme
de...
tu dis ça, c'est un côté un peu tonton. Tu vois, genre ça lui met du plomb dans la tête à la gamine un peu là, un de sortir, peu, d'aller au charbon là, de voir la vraie vie des vrais gens. Et t'as raison.
Ouais, quoi. Mais
clairement.
Bah, ça, c'est ce qui peut faire d'elle une meilleure reine que quelqu'un qui est enfermé, tu vois.
Oui, et pour, enfin, alors je trouve que c'est intéressant que dans cet épisode ce soit très clair qu'elle s'en bat la race de son peuple. Ça l'intéresse
moi,
pas.
Je suis moins radical que toi.
À l'âge qu'elle a, en tout cas, là actuellement,
elle
a l'air d'avoir.
Elle vient de voir une pièce de théâtre qui représente sa vie où on la prend pour une conne. elle est contrariée.
On la prend. Oui, ok.
On la, ou on dit bouh, on la, tu vois.
Oui, on la boue. Mais quand Damon lui dit, il y a des gens qui, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'on peut pas gouverner si on n'est pas un garçon, elle dit l'opinion de ces gens ne m'intéresse, enfin ne compte
ouais,
pas.
Ouais, bien
vois.
Sûr, mais bon, maintenant au
elle
moins
est quand
elle
même
l'a
un
vu.
Peu.
Maintenant qu'elle l'a
un
vu
peu
là.
De droite, quoi.
Ouais, mais maintenant qu'elle l'a vu là, la pièce, elle
tu
se rend compte.
Tu penses ça va la travailler?
Elle se rend compte. Elle se rend compte. Elle réalise. Moi, je pense que cette scène,
ah ouais.
elle est là pour la faire réaliser quelque chose qu'elle ne réalisait pas.
Ok, moi je pense qu'elle est là pour nous. Alors, mais c'est pas incompatible. Je pense qu'elle est là pour nous faire réaliser
qu'elle s'en bat les
couilles. Que c'est en fait, il y a pas de. Encore une fois, il y a pas de bonnes et de mauvaises personnes dans House of the Dragon. Et là, c'est compliqué de pas être dans l'équipe de Rhaenyra. Tu vois, c'est compliqué de pas être pour elle au point où on en est parce que elle est légitime au trône. Il y a tout un propos qui est hyper 2022 sur l'égalité, la place des femmes, mais qui est dans le bouquin, hein, qui est pas inventé pour le coup et qui est encore une fois historiquement réel aussi. Il y a eu pas mal de meufs qui ont failli être reines de royaumes genre l'Angleterre et la France et qui l'ont pas été parce que des hommes au dernier moment ont dit non, on fait pas ça avec des meufs. Donc c'est un vrai sujet. Mais je pense que là, il y a plein de gens qui doivent être très team Rhaenyra, mais comme plein de gens étaient team Daenerys. Et on déchantait très fort, très vite. Et on dit, mais ça n'a pas de sens, tu vois, qu'elle se révèle être pas qui on pensait qu'elle était. Et alors, je dis pas que Rhaenyra va faire une Daenerys et tout cramer dans deux épisodes. Spoiler pour Game of Thrones, once again. Mais je pense que c'est bien de nous rappeler que les Targaryens, en général, et les personnages de cette série, enfin, en sens encore plus large, ne sont pas manichéens. Il n'y a pas vraiment de gentil ni de méchant. Et en fait, on peut être pour sa légitimité au trône, tout en se disant, est-ce que ça va être une bonne reine quand elle sera reine? En vrai, on sait pas, parce que pour l'instant, ce qu'elle nous a montré, c'est, elle est impatiente, elle est caractérielle, elle a un gros ego, elle refuse des obligations de la cour, y compris, alors certaines fois pour de bonnes raisons, genre, non, je vais pas épouser ce vieux gars qui a 70 ans, mais aussi, enfin, tu vois, quitter à la moitié son tour de prétendant, c'est pas hyper diplomatiquement malin, et on dit Viserys, il est un peu nul en tant que roi, mais alors, elle, on sait pas comment elle gouvernerait, tu vois, on est pour elle, mais on sait pas pourquoi. Et je pense que la série nous rappelle, à cette occasion, et à une autre occasion dont on va parler avec Kristen Cole dans cet épisode, et avec Alicent aussi, que Rhaenyra, elle est pas, voilà, c'est pas une petite fille chérie, parfaite, qui mérite le trône et qui est juste entravée par des hommes méchants. Elle est aussi une noble, elle est aussi pourriatée, elle est aussi complètement déconnectée de la réalité de son royaume.
C'est vrai.
Et elle est aussi imparfaite puisqu'elle va finir par mentir à Alicent dans les yeux et avoir cette relation sexuelle avec Kristen Cole dont on va parler, puisque ça pose aussi des questions de possibilité du consentement dans ce cadre-là, quoi. La night out, merci Ezoc. La night out de Teki,
donc,
de pas du tout de Damon et Rhaenyra arrive au bordel.
Au bordel. Et au
là,
bordel, lui
qu'est-ce
dire...
que tu te dis? Est-ce que tu te dis here we go? Ils vont.
Moi, j'étais content, quoi. J'étais content. Je suis genre.
Toi, t'étais là, l'inceste.
On va... Non, mais alors, mais l'inceste, c'est quoi? Ça sert à rien d'être énervé contre l'inceste. Être énervé comme. Non mais être...
ça sert à rien d'être énervé
non, mais
contre l'inceste.
Être énervé contre l'inceste dans Game of Thrones.
Cette série. Oui, bah oui.
Être énervé contre l'inceste dans Game of Thrones, c'est comme être énervé contre les nuages, quoi.
Oui.
Genre, tu peux.
La pluie.
Ils seront quand même
voilà.
là. Tu vois ce que je veux dire? Il va pleuvoir. À un moment, il va pleuvoir des bites de ton oncle. Et donc, qu'est-ce que
What can you
tu
do,
vas t'en c'est... prendre une dans la gueule? C'est sûr.
Soit
tu vois
tu
ce que je veux dire?
Soit tu mets un parapluie, soit tu lèves le nez, mais elle va arriver, quoi. J'ai pas vu venir l'inceste tout de suite. Mais tu vois, je te dis, en fait, ils ont bien calculé leur coup pour que t'oublies que les Targaryens, ils font ça, en fait, dans la vie, et que du coup, c'est pas hyper bizarre pour Rhaenyra de faire ça, quoi.
Dans le chat, qui avait oublié que les Targaryens...
Bah, Marcelineux dit, j'ai pas vu venir l'inceste tout de suite, et puis
bien
c'est
sûr,
monté, mais monté. Ah oui, c'est monté. Moi, en tout cas, je l'ai vu venir, mais dès que Daemon, il a rejoint Rhaenyra, j'étais là, ok. Let's go.
Bah oui, let it go quoi, Frozen.
C'est l'occasion. Alors, on va commencer à parler du female gaze avec cette scène de bordel. Cet épisode a été réalisé. On va faire un point cinématographie féministe, ok. Cet épisode a été réalisé par une femme qui s'appelle Claire Kilner. C'est le premier épisode de House of the Dragon réalisé par une femme. La bonne nouvelle, c'est qu'elle revient pour l'épisode prochain et pour l'avant-dernier de la série. Et souvenez-vous, d'après l'historique de la saison, oui, pardon, tout à fait, de l'épisode.
De mansplainer.
Mais tu fais bien de me mansplainer quand je me trompe seulement. Sinon, c'est interdit. Souvenez-vous, historiquement, Game of Thrones, l'épisode 9 de chaque saison, pendant quelques saisons, c'était une dingue. C'était notamment le Red Wedding. Et là, on ne sait pas s'ils vont garder la formule, mais pour l'épisode 9, donc l'épisode 4, 5 et 9 de House of the Dragon, on retrouvera la même réalisatrice, Claire Kilner, qui, je trouve, a fait un très bon boulot sur cette scène de bordel, puisque c'était devenu un running gag dans Game of Thrones, le bordel comme un... littéralement comme un décor, et beaucoup de femmes nues, et principalement des femmes nues, qui étaient là avec le fait que Littlefinger est un bordel, ça les a bien servis dans la saison 1 et 2, parce qu'ils n'avaient pas trop de budget, donc ils étaient là, fais les cheveux Littlefinger, il y aura des meufs à poil, ça va capter un peu les gens. C'était devenu la série des seins et des dragons et de l'inceste. Mais c'était des bordels et des corps de femmes principalement qui étaient filmés avec ce qu'on appelle plutôt un male gaze, donc un regard masculin, souvent des réalisateurs et des cinéastes masculins qui vont filmer des femmes comme ils pensent que ça excite les hommes hétéros, en gros. Là, on est dans un bel exemple dans cet épisode, surtout dans la scène de sexe plus claire, mais aussi dès cette scène de bordel, je trouve, de female gaze, avec un regard sur des corps nus qui est sexuel, qui est sexualisant. On est dans un cadre érotique, c'est pas juste des corps, c'est des corps qui sont en train de faire l'amour, qui sont en train de se désirer, qui sont en train de se baiser, de se prendre, de faire plein de choses plus ou moins décadentes. Et on a des gens qui dansent tout nus, etc. Mais je trouve que c'est filmé d'une façon qui est pas forcément plus sensible et délicate, parce que les femmes ne sont pas que la douceur et le désir féminin n'est pas forcément doux et tendre. Il peut être aussi impérieux et même violent et rugueux. Et on verra que quand Rhaenyra, elle a la dalle, quoi. Mais je trouve que c'est déjà une scène de bordel qui te montre que c'est plus la même série et on n'est plus à la même époque, tu vois. C'est quand même... Enfin, en tant que méta, nous public et eux, gens qui font cette série, ne sont plus à la même époque. Après, je pense pas que les bordels à l'époque des Targaryens étaient plus clean que les bordels à l'époque des Baratheon. Je pense que c'était la même, c'était même peut-être pire en termes de MST, dont ils ont peut-être trouvé des remèdes entre temps. Mais je trouve que déjà, ça met un mood un peu différent. Est-ce que toi, tu l'as ressenti cette différence alors, une fois que t'as réglé la luminosité de ton écran, parce que c'était quand même plutôt, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, assez imbitable chez moi au début. Il a fallu que je monte un peu la luminosité pour voir ce qui se passait, alors que j'avais fermé mon volet et tout. Une fois que t'as vu ce qui se passait, qu'est-ce que t'as pensé de cette arrivée au bordel et de cette vision du bordel à Westeros, qui est un peu différente de ce qu'on a vu avant? Il y a plusieurs étapes, il y a des salles cachées, il y a...
J'ai senti une volonté un peu plus artistique.
Un peu le porn féministe, tu vois. Qui est en mode...
Il y a une espèce de danse au début, non? Où ils sont en train de se rouler un peu.
Il y a plein
peu.
De gens nus et tatoués. Ouais, du coup, dans ma tête, c'est probablement des gens qu'ils ont importés, des esclaves.
Et moi, je me suis un peu surpris
à... Ils se roulent en danse contemporaine,
Je me suis un petit peu mis dans l'esprit, mis dans la peau d'un danseur ou d'une danseuse contemporaine qui vient dans un bordel faire un show.
Qu'est-ce qu'elle fait, elle
se rhabille. C'était pas mal aujourd'hui, mais on aurait pu se rouler un peu plus vers la gauche, plus vers la droite.
Plus de farine dans les pieds, là, c'est plus sympa.
Je me suis un peu demandé quelle est la vie de ces gens.
Est-ce qu'ils font ça tous les soirs? Est-ce qu'ils sont à la répète et tout? Mais en effet, il y avait un côté très danse contemporaine et beaucoup moins dérangeant, un peu gratuit, quoi.
C'était la horde.
J'ai pas la ref.
C'est une compagnie de danse.
J'ai la ref de zéro compagnie de danse, c'est chaud. Tae Tsempu qui dit « Je trouvais les scènes de bordel très difficiles à regarder dans Game of Thrones alors que celle-ci était vraiment intéressante. » Donc ouais, je trouve qu'il y a, voilà, il y a une proposition qui est plutôt cool. Et alors ensuite, let's go. On en arrive à détail très important. Daemon retire sa capuche et retire à Rhaenyra son bonnet, sachant que c'est leur signe distinctif principal, c'est leurs cheveux. À un moment, quand ils sont dans Fleabottom, mon mec avec qui on regardait l'épisode m'a dit ils vont être reconnus quoi quand ils regardent la pièce de théâtre, et je lui ai dit en vrai
il y a pas internet à l'époque,
la télé, tu vois, les gens ils les ont jamais vus ou alors de très loin,
il y a pas TMZ,
voilà, ils vont pas les reconnaître là, mal habillés, mal fagotés, tant qu'ils ont les cheveux cachés, parce que sinon un grand blond et une petite blonde avec les cheveux aussi clairs. C'est vraiment dans les bouquins, ils ont les cheveux argentés et les yeux mauves, les Targaryens. C'est vraiment des personnages de shoujo. Et du coup, ils sont hyper reconnaissables. Donc le fait qu'en arrivant au fond du bordel, Daemon enlève sa capuche et enlève à Rhaenyra son bonnet, c'est sûr qu'ils vont être reconnus. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont voir qui c'est. Et en plus, ça a pas l'air d'être un bordel de bas étage. Il y a sûrement des gens nobles qui viennent profiter des plaisirs de la vie. Hein.
Et puis surtout, je pense que, encore une fois, Daemon, c'est le Prince of Fleabottom. Ils ont trop l'habitude de le voir.
Il est dans son terre-terre. Ils disent, bien sûr.
Tiens, il est là. Ah ben, aujourd'hui, il a amené quelqu'un. Il a amené un...
Le chat est en feu de « Ah, bâtard, il a fait exprès !» Ouais, il a fait exprès.
Bien sûr, il a fait exprès.
En vrai, moi, ma take, c'est le plan, et je pense que c'est ça que l'épisode nous dit, le plan de Daemon, c'était emmener Rhaenyra au bordel, la faire reconnaître, probablement, on va en parler, mais probablement la troncher, en vrai, mais dans tous les cas, en tout cas, souiller sa réputation pour aller voir Viserys et faire exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire lui dire « Personne voudra l'épouser maintenant. » Aucun lord, en tout cas, de ton pays de merde, la Westeros, qui sont pas des Targaryens, voudra l'épouser. T'as qu'à la marier avec moi, ça reste dans la famille, je suis un Targaryen, on garde le Blood of the Dragon. Et en fait, c'était son plan pour que personne d'autre veuille d'elle. Donc, c'est pour ça que j'en parle, c'est que c'est vraiment pas anodin qu'il enlève sa capuche. Et ensuite, ça part, tonton et sa nièce, qui se roulent des grosses pelles, qui se dessapent, qui se plaquent contre le mur, qui se retournent. We are going hot and strong. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand Daemon emballe la petite Rhaenyra et que c'est un moment de vie atypique quand même?
Je me dis un peu dégueu, mais bon, ouais, autant que voilà, c'est comme la pluie, quoi. On va y passer, quoi.
Toi, t'as vu ça comme une averse, t'as fait ah. Une goutte, deux
gouttes.
Ouais, bah oui, ça drache.
Ouais, il pleut.
Mais ouais, ça drache de l'inceste, là, c'est à vous
en dire. Mais en fait, moi, j'ai vécu le fait qu'il l'interrompe, le sexe.
On va en parler de pourquoi il s'est arrêté.
Exactement. Moi, je vais donner ma lecture maintenant, mais après discussion avec toi tout à l'heure, tu m'as fait changer d'avis.
Bah, j'ai surtout la source des gens qui ont fait l'épisode.
Exactement.
Ce n'est pas mon avis personnel.
Mais. Effectivement, moi, je pensais que c'était un power move. Je pensais que c'était un truc de
quoi.
J'ai le pouvoir sur toi. Un truc aussi de si t'es consentante, ça m'excite moins.
Ouais.
Et un truc et quand tu commences à kiffer, hop, on arrête. Tu vois ce que je veux dire, genre, parce que c'est pas maintenant que ça doit se passer.
Oui.
Mon plan, il est pas comme ça.
Tu donnes une dose, tu la laisses mariner, c'est le classico connard,
ouais,
quoi.
Exactement.
Moi, je l'ai lu pareil, hein. Je l'ai vu deux fois, et les deux visionnages, j'étais là. Bah, en vrai, il lui fait un chaud-froid, quoi. C'est vraiment ce qu'il fait dans la vie, c'est un connard, donc il fait des chauds-froids aux meufs, surtout quand elles sont plus jeunes, et qu'il a pu les manipuler et les groomer. On en avait parlé du concept de grooming depuis tout petit, parce qu'il connaît Rhaenyra depuis qu'elle est née. Ouais, c'est un move assez attendu qu'il la chauffe et qu'il la lâche parce que il veut la faire réclamer, quoi.
Or, apparemment, selon la réalisatrice...
On va sortir les quotes, puisqu'il y a, sachez-le, sur HBO en tout cas, un behind the episode où à chaque épisode de House of the Dragon, il y a l'équipe qui parle de l'épisode. Et l'équipe s'est exprimée sur cet épisode et pourquoi Daemon s'arrête. Alors,
parce qu'on a déjà vu Daemon impuissant.
Oui,
enfin, du moins,
on
pas
a vu
y arriver.
Daemon, épisode 1, ne pas arriver à performer comme il le voulait avec Misaria, sa compagne...
Parce qu'il est trop stressé, parce qu'il est
saoulé de ne pas être héritier,
parce qu'il est contrarié, il n'est pas bien, il n'y arrive pas, tu vois.
Yes, mais il donne un coup de poing sur le mur en mode masque toxique, qui est frustré. Alors, il faut dire que la scène va vite, elle n'est pas hyper éclairée, il y a plein de cuts et tout.
J'ai pas vu le coup de poing contre le mur.
Au deuxième visionnage, comme en plus après j'ai fait des screens pour le récap, j'ai vu qu'il y a un moment où il y a un truc de montage bizarre où ça fait un gros bruit et il fait un mouvement où c'est au moment où il se retire, il s'éloigne d'elle. Et ensuite, il y a un plan où ils sont reprêts, mais ils se rééloignent. Et au début, quand ils s'éloignent, c'est un peu playful. C'est un peu genre, viens me chercher.
Ouais, ouais.
Et en fait, elle essaye de l'embrasser une fois, deux fois. Et genre, la troisième fois, il fait une tête vraiment emmerdée. Tu vois, il est là. Et j'étais là, ah, vraiment le move de connard.
Ouais,
genre, au moment où il fait, tu saoules. J'ai vraiment senti tout ce que tu ressens quand t'es une meuf de 18 ans qui essaye de pécho un mec plus vieux parce que t'as l'impression que c'est une bonne idée, ce qui est pas vrai. Et que le gars te fait un move de, t'es un peu needy. Et que tu te dis, ah ouais, il a raison, je suis qu'une merde. Et que c'est juste un move pour te faire rester plus accroché. Donc moi, je l'ai lu comme ça. Mais c'est peut-être mon biais personnel, voilà. Mais il y a
on a raconté beaucoup sur toi en une phrase là.
J'ai raconté toute ma vie sur internet, tu sais, c'est
en lisant écoutez, les lignes
quand
là.
Quand on est une petite meuf un peu réservée de 14 ans qui aime bien les trucs de nerd, bah guess what, les nerds de 30 ans essayent de te sauter. Une bonne idée de vie. Alors, donc le show, il y a deux avis, il y a l'avis du showrunner, donc le créateur le co-créateur de la série Miguel Sapochnik qui avait déjà beaucoup bossé sur Game of Thrones, et il y a l'avis de la réalisatrice Claire Kilner. Il y a deux avis différents. L'idée, c'est que Miguel Sapochnik, son idée, c'est que Daemon utilise Rhaenyra comme une façon d'atteindre Viserys, et que son impuissance, donc c'est vraiment le truc, en tout cas le consensus, c'est qu'il s'arrête parce qu'il se rend compte qu'il est impuissant, donc il n'a pas d'érection, qu'il va pas pouvoir performer l'acte sexuel, et que c'est pour ça qu'il s'arrête et qu'il se barre, parce qu'il n'a aucune façon mature de gérer ses émotions. Mais pourquoi il est impuissant, c'est plus là qu'il y a débat. Donc Miguel Sapochnik dit au final, son impuissance dans cette scène, c'est un reflet du fait qu'au fond de lui, il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Moi, ce qui est pas trop la vision que j'ai de Daemon, je pense que ce qu'il fait, il s'en bat la race de si c'est bien ou pas, et je pense que pour lui, c'est bien, parce qu'il est dans la team, les Targaryens, c'est des demi-dieux, et on devrait rester entre nous, coucher entre nous, être entre nous, et que, comme il dit à Viserys, Viserys, il dit, mais les lords de Westeros n'accepteront jamais votre mariage, et il dit, mais qui ça intéresse leur opinion? Il est vraiment en mode, en fait, même ouais, les lords dit, de Westeros, dit, c'est des agneaux, tu
et
vois.
Et puis Viserys lui dit, t'as déjà une femme, et il dit, bah, c'est, ça pas empêché Aegon the Conqueror d'avoir une deuxième femme.
Ce qui est pas faux en soi. Et donc la réalisatrice Claire Kilner, elle voit autre chose derrière l'impuissance de Daemon, et bon, je trouve que son avis est plus intéressant parce que c'est elle qui a réalisé l'épisode. Elle dit, en fait, il pense choquer Rhaenyra en l'amenant au bordel, mais comme elle est pas choquée, elle est plus excitée qu'autre chose, et bon, il pense aussi choquer Rhaenyra en la chopant, et comme elle est pas choquée, elle est plus excitée qu'autre chose, il a plus rien, il a plus aucune carte à jouer, et il est plus en contrôle, il est plus en charge de la situation. Et au final, son impuissance, ça en dit beaucoup de ce qui se passe quand les jeunes femmes désirent le sexe autant que les jeunes hommes. Du coup, la réalisatrice a une vision un peu plus avec un prisme genré de cette impuissance qui est effectivement, mais qui se rapproche de notre vision de c'est un move de connard, sauf que c'est pas un move de connard prémédité de je vais lui faire un chaud-froid parce qu'il était du coup a priori parti pour accomplir l'acte, mais c'est un move de connard de comme t'es trop à l'aise avec ce qui se passe, je vais pas être capable de, enfin la situation ne me va plus et je me casse quoi. Et alors c'est alors, pas
un, je ça pense... je l'entends et je le comprends, mais moi ce que je comprends pas après, c'est ce qui se passe après en fait.
Qu'est-ce qui se passe après
Bah en fait elle est vue par cet enfant.
Oui, alors ok. Donc,
qui va okay. Alors si je peux me permettre d'avancer un petit peu dans le temps vite parce que je veux juste comprendre ça.
Ouais là on est en.
On m'explique okay. ça. Et après,
façon,
on
a à peu près clos le. Pour, en gros, c'est ça. Pourquoi Daemon et Rhaenyra, il n'y a pas d'acte qui est conclu? C'est parce que Daemon est impuissant, pour des raisons debatable, mais qui sont sûrement liées au fait qu'il est plus en charge de la situation et que Rhaenyra s'éclate un peu trop. Et il finit chez Misaria. Voilà. Donc, ça,
mais
c'est...
ce que je comprends pas, c'est qu'il s'endort. Ouais. En fait, il est kidnappé un peu par Misaria.
Ouais, on sait pas
on
trop
pas
comment
trop
il se
capté.
Retrouve. Alors, ouais.
On n'a pas trop capté. Et à ce moment-là, il se réveille chez Misaria. Et Misaria donne une pièce
yes.
au petit gamin.
Yes.
Donc Misaria fait un Varys, en gros.
Oui, Misaria is the first Varys. Mais ok, on va faire un point Misaria.
Misaria is the new Varys.
Comment l'info a circulé? Qui a vu?
Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est le même enfant qui a donné l'information à Hightower.
Oui.
Je comprends.
Alors
je
en gros, moi, ma logique.
En fait, si c'est une...
Ouais, non, c'est très peu
en
clair.
En fait, pourquoi? Si tout ça, c'est un plan de Daemon pour mettre sa nièce dans la merde. Pourquoi est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un plan de Misaria?
Pour moi, c'est un plan de. Alors moi, ma take, c'est Misaria est partie de chez a quitté Daemon à l'épisode 2 quand il a fait croire qu'elle était enceinte. Il a volé un œuf
oui,
de dragon machin.
Vraisemblablement, ils se revoient.
Ils sont
pas vus entre temps.
Voilà, ils sont pas vus entre temps. Mais c'est quand même déjà c'est pas clair. Donc pour moi, ils sont séparés là. Elle est rentrée. Enfin, elle a fait sa vision. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Là, elle est de retour à King's Landing. Elle n'est plus prostituée et elle est surnommée le White Worm, donc le ver blanc. C'est pour ça qu'ils l'ont habillée en blanc. C'est pour qu'on fasse le lien. Mais bon, c'est confus parce que Otto Hightower parle du ver blanc. Et en gros, effectivement, c'est un peu une première Varys. Alors elle n'a pas de rôle évidemment au Conseil Royal comme Varys l'avait, mais c'est un peu une chef des espionnes quoi.
C'est l'informatrice d'Hightower.
Et c'est l'informatrice d'Hightower. Et quand il dit à Viserys, ma source ne m'a jamais donné de mauvaises informations, sa source, c'est le White Worm. D'accord. Parce qu'on voit effectivement un petit gamin qui voit Rhaenyra et Daemon au bordel, qui ensuite voit Otto Hightower et qui ensuite va chercher son paiement auprès de Missaria. Donc lui, en gros, c'est un little bird comme Varys avait des little birds qui sont des orphelins et des enfants pauvres de King's Landing qui lui donnent des infos parce qu'ils peuvent rentrer partout. Ce gamin voit Rhaenyra et Daemon au bordel, il informe Missaria, Missaria lui dit « Ok, va prévenir la main du roi parce qu'il me paye pour ce genre d'informations. » La main du roi dit « Intéressant, je vais aller en parler à Viserys. » Le gamin va dire à Missaria « Paye-moi parce que j'ai donné l'info. » Et au moment où le gamin il va prendre son paiement, Daemon se réveille chez Missaria.
D'accord. Donc c'est...
C'était pas clair. Hein. J'entends ouais, que c'était pas, moi, j'ai pas trop vraiment idéal dans l'épisode. Hein.
Donc quelque part, c'est de la manipulation de la part de Missaria.
Missaria, elle a pas provoqué la situation. Elle la constate et elle l'utilise. C'est Daemon d'accord, qui a décidé d'emmener Rhaenyra au bordel. Missaria, pense. En fait, je pense que Daemon, il part du bordel, il continue à picoler, comme l'homme qu'il est, c'est-à-dire un connard. Et il finit par. Et en fait, Missaria finit par avoir vent de. Il y a Daemon complètement bourré
parce
dans les rues.
Parce que Missaria, elle a aussi cette vibe de je te protège. En te
oui,
faisant
elle
dormir
le
là.
Fout, elle le fait dormir là quand même à l'abri. Elle lui donne un truc contre la gueule de bois. Elle a l'air d'être en mode pas haineuse envers lui, et je pense pas qu'il y avait du poison dans le truc, tu vois.
En fait, faut que je remate l'épisode, parce que...
Bah, remate cette scène, si tu veux, mais c'est pas clair, la relation entre Daemon et Missaria, c'est pas clair où elle est, c'est pas encore clair son rôle à elle, c'est pas hyper clair ses sentiments envers Daemon, et je pense qu'on en verra plus, parce
toi,
que je pense que le fait qu'il la ramène...
Toi, tu penses que, concours de circonstances, elle avait un de ses Little Birds qui a vu ça?
Bah, je pense que Daemon, il revient en ville. C'est évident que les Little Birds de Missaria vont te suivre pour voir ce qu'il fait, tu vois.
Okay.
Et à partir du moment où il y a des gens qui te disent, il y a deux blondinets en train de se rouler des pelles dans un bordel, elle est là. Go. Et c'est comme on a dit, c'est le quartier de Daemon, c'est le bordel de Daemon. Enfin, c'est pas à lui, mais c'est là où il va tout le temps, quoi.
S'il va cafter à Hightower et qu'elle fait croire à Daemon qu'elle le protège des ragots en l'isolant. Elle le manipule en gros.
Ah oui.
Elle lui fait croire qu'elle est de son côté et que
elle
veut pas qu'il y ait de drama.
Daemon
mais en l'occurrence, elle cafte.
Daemon ne sait pas que c'est via Missaria que Otto a eu l'info.
Ouais.
Mais Daemon, ça l'arrange que Otto ait eu l'info puisque c'était ça son plan, c'était
d'accord,
d'être vu.
Okay, très bien.
Donc en soi, si Daemon et Missaria se rabibochent, le fait que Daemon ait une espionne qui a plein d'espions sous ses ordres, ça peut être utile. Donc à voir comme. Mais bon, là, il a pas gagné des puntos, ça a été un connard. Il a jeté son doliprane et il l'a traité à nouveau d'un mot qui ressemble à prostituée mais qui est moins poli. Donc bon, il a pas gagné des points. On verra. J'étais très choquée que Daemon abandonne Rhaenyra dans le bordel. J'étais vraiment... Après, du coup, au deuxième visionnage, j'étais là, ok, c'est quand même un bordel luxe et tout, ça va, c'est pas les bas-fonds de King's Landing. Mais j'étais vraiment en mode, tu l'as découverte, tout le monde sait qui c'est, elle est à moitié défroquée, elle a vraiment les fesses à l'air. Mmh. Elle a 18 ans, elle est vierge, et c'est hyper dangereux de la laisser livrer à elle-même au milieu de King's Landing. On sait pas comment elle rentre, c'est une ellipse. Ils disent qu'il y a, du coup, Otto, il dit il y a des servantes
qui
l'ont vu
déguisée.
On l'a vu rentrer dans sa chambre, mais comment elle revient du bordel au château, c'est ça ma question, tu vois. Est-ce qu'elle vient à pied? Je sais pas c'est quoi King's Landing la nuit, mais enfin, déjà, moi, en tant que meuf la nuit à Paris, tu vois, je suis pas hyper bien. Rhaenyra, elle devait pas être 100% sereine à traverser King's Landing, ou alors... Et on sait qu'elle est trop fière pour choper un garde royal et lui dire « C'est moi la princesse, ramène-moi », tu vois. Elle est rentrée toute seule. Et apparemment déguisée en page. Donc elle a remis son déguisement et elle est rentrée, quoi. Ce qui est badass. Je sais pas si elle est repassée par... Bah non, elle est pas repassée par le passage secret puisqu'elle passe par la porte. Mais j'ai été hyper... Ça, j'ai trouvé ça hyper cruel de la part de Daemon. Beaucoup plus que de la laisser en plan sexuellement, ce qui est voilà un move de gros manipulateur, hein, y a pas de problème. Mais de la laisser seule tout là-dedans, alors qu'il vient de lui apprendre que l'argent existe et que, elle sait pas se comporter dehors, j'étais là, waouh! Ça, c'est vraiment un move où on peut être assez ciao Rhaenyra, quoi. Je savais qu'elle finissait pas comme ça, mais j'étais là, pif bof quand même! Pif bof quand même! Et on n'a pas parlé de l'autre. On va parler bien sûr de Rhaenyra et Kristen Cole, mais on n'a pas parlé de l'autre, noble femme qui vit une soirée moins fun, c'est Alicent. Où on voit du coup cette juxtaposition en montage alterné de la night out à la concrète sous MDMA de Rhaenyra et de Alicent, mère courage avec un père démissionnaire dans son château, qui est alors en fait c'est intéressant cet épisode parce que ça pose plusieurs questions autour du consentement et de comment on représente des relations sexuelles où le consentement est flou. Il y a la relation Daemon-Rhaenyra où à la fois l'inceste c'est mal, mais dans cet univers là on sait que c'est quand même un peu plus toléré chez les Targaryens. Il y a la différence d'âge qui existe. Il y a évidemment l'emprise de... C'est un homme plus vieux de sa famille et plus puissant qu'elle. En tout cas, pendant toute sa vie, il a été une figure d'autorité. Et en même temps, elle a l'air d'être à fond. Clairement, on ne peut pas se mentir, Rhaenyra, elle a l'air d'être à fond sur son oncle. Mais le rôle des adultes, c'est de protéger les ados, y compris de leurs propres désirs. Parce que quand on est jeune, parfois, on a des désirs qui... On n'est pas capable de les mener à bien. Mais du coup, ça pose des questions de consentement. Qui consentit à quoi dans cette scène entre Daemon et Rhaenyra? Et encore, c'est une scène qui ne débouche pas sur un rapport sexuel complet. Alicent, elle est mandée par le roi au moment où elle est au lit. Le roi veut sa présence. Alors, elle a eu un moment cool avec lui, assez tendre, où elle l'a baigné. Elle a renvoyé les servantes aussi parce qu'il est dans un moment de vulnérabilité physique et émotionnelle et elle a pris soin de lui et tout. Elle a pas l'air de s'épanouir dans la maternité de dingue. Mais d'ailleurs, sa fille s'appelle Elena. Notez-le. Elle a une fille qui s'appelle Elena en plus de son fils qui s'appelle Aegon. Ils le disent pas dans l'épisode. Mais elle s'appelle Elena, cette petite. Et elle a pas l'air de s'épanouir dans la maternité, mais elle a l'air d'aller mieux maintenant qu'elle est plus enceinte jusqu'aux sourcils. Mais on a quand même cette scène où du coup elle est mandée par Viserys. Il y a un rapport sexuel et c'est compliqué de parler de où est le consentement dans ce rapport sexuel. Est-ce qu'on est sur du viol conjugal pur et dur? Est-ce qu'on est dans une vision tellement différente du consentement et du devoir et de la liberté des femmes et des hommes finalement, parce que bah il y a aussi des moments où des hommes sont dans des rapports sexuels plus ou moins libres. J'ai trouvé ça hyper intéressant que cet épisode ose poser ces questions sans forcément y répondre. Il dit pas voilà qui consent à quoi et qui abuse qui, mais il les pose de façon respectueuse. Et je trouve que c'est un équilibre très dur à trouver. De par exemple, moi dans mon récap rigolo, j'ai pas fait de vanne sur le moment où Alicent et Viserys ont une relation sexuelle parce que j'étais là. En fait, je vais pas faire des vannes sur un viol conjugal parce que c'est pas marrant. Et du coup, mais j'ai fait des vannes sur Daemon qui emballe Rhaenyra, tu vois. J'étais là, pourquoi il y en a un où ça va et l'autre où ça va pas? Enfin, ça m'a posé des vraies questions de... Est-ce qu'on peut rire de tout, finalement? Pourquoi pub? Ah, parfois, il y a des pubs, ça arrive, c'est random. Normalement, j'ai mieux réglé ça maintenant. Donc je trouve ça intéressant que cet épisode pose ces questions. Je trouve que c'est pas anodin le fait qu'il ait été réalisé par une femme. Alors, c'est pas pour dire que les femmes peuvent pas faire des trucs sexistes. Bien sûr que si. Mais il y a peut-être une sensibilité différente sur ces questions-là. Et j'ai vu une take, en gros, que le fait que cet épisode soit autant polarisant et qu'il y ait autant de gens qui ont des regards différents sur ce qu'on voit dans l'épisode et ce qui se passe, c'est quasiment un hommage et une vraie fidèle adaptation de donc Fire and Blood, Feu et Sang, qui est le bouquin dont est adapté House of the Dragon, parce que Fire and Blood est raconté par plusieurs narrateurs différents, et qu'on sait jamais c'est quelle version la bonne. Et le fait qu'il y ait des gens qui sortent de cet épisode en disant bah là, Alicent c'est un viol conjugal, ou en disant bah Alicent elle fait son devoir et ok elle passe pas une relation sexuelle épanouissante, mais plein de gens n'en passaient pas dans ces cadres-là. Le fait qu'il y ait des gens qui voient Kristen Cole comme un abus et d'autres comme un beau moment de vie et tout, c'est assez intéressant. Comment tu t'es senti, toi, devant toute cette side storyline Alicent, qui est elle aussi une noble et une des femmes les plus puissantes du royaume, mais qui a au final une vie de merde un peu, quoi, visiblement, selon elle.
Bah, elle a une vie de merde, c'est sûr. C'est sûr, elle a une vie de merde. Elle s'en rend compte dès le moment où elle en discute avec Rhaenyra. Enfin, elle s'en rend compte globalement au moment de la série, enfin, au moment de cet épisode, et c'est verbalisé très frontalement par Rhaenyra quand elles sont en train de discuter sur le banc là. Et mais en même temps elle a ce truc Alicent, tel que je la vois dans la série, j'ai l'impression qu'elle a ce truc de, elle est très conservatrice. Elle est très dans son rôle de je suis la reine, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est mon rôle de
Je sais pas si je dirais. Je pense que tu la vois conservatrice parce que t'as la version du bouquin qui en plus est un peu peut-être, plus religieuse et tout. Peut-être. Là pour moi elle est
peut-être, mais la
elle
scène
est un
d'après...
peu fataliste en mode bah girl c'est notre vie, qu'est-ce que je
ouais, exactement,
dis
genre, fataliste, ouais.
J'ai pas choisi d'épouser
ouais.
ton daron, j'ai pas choisi
ouais,
ma vie.
Ouais. C'est comme ça.
C'est comme ça, tu vois, c'est j'en tire le verre à moitié plein comme on peut quoi. Et puis ouais, ouais. C'est comme ça quoi. Bah comme dit. Je sais plus qui disait sur le chat, c'est mais en fait rien n'est consenti. Toute la relation depuis le début n'est pas consentie par Alicent, c'est son père qui l'a
exactement,
forcée.
Ouais,
elle y allait quand même. Donc
elle
qu'est-ce que tu veux de chercher du consentement ouais, quand dès le ouais. début elle a pas envie d'être là quoi. Ce qui est ouais. pas faux, c'est pas comme si elle avait choisi son mari quoi. Après, on a eu des, on a eu plein de visions enfin, dans Game of Thrones, il y a quand même très peu de gens qui sont mariés par amour.
Ouais, c'est mais pas dans, trop ce qui dans, se fait. Dans Game of
Mais on exemple, voit dans... quand les gens se respectent ou pas, ouais. tu vois.
Mais tu vois, dans Game of Thrones, même Sansa, qui est au début, avant d'avoir ces galères,
grosses galères.
Ces galères.
Grosses
qui,
galères.
Qui n'en finissent jamais. Galères.
Ouais.
Mais elle est quand même montrée comme quelqu'un qui dit, moi, je suis prête à assumer le rôle de mère au foyer, parce que ça arrive avec tellement d'avantages chanmés oui. d'être à la cour, de pouvoir oui. jouer à la princesse.
D'être reine et tout.
Tu vois ce que je veux dire? Roi, ouais. Que, machin. Moi, je ressens même pas ça chez Alicent.
Non, tu non, non, parce qu'au début, quand son père l'envoie chez le roi, elle est vraiment en mode. Ok. Et elle a ce truc, et c'est vrai que, alors c'est noté dans le chat, c'est vrai, je crois qu'elle le fait plus, c'est qu'elle se bouffait les doigts quand elle était ouais. ado, et elle le fait plus. Et pour moi, ça veut pas dire qu'elle est plus heureuse, ça veut juste dire qu'elle contrôle mieux. Elle est, elle ouais. devient adulte, et elle fait. La paix, je sais pas, mais
alors,
en tout cas, elle vit avec
son destin.
Alors, où
est le curseur en elle? Ça, on le saura jamais parce qu'on n'est pas dans son cerveau. Où est le curseur en elle de « je ronge mon frein et ok, je me fais troncher pour faire des héritiers, mais parce que en même temps, c'est une réaction stratégique. » Faut aussi savoir que dans le fait de faire des héritiers, il y a quelque chose de stratégique. Il y a quelque chose de stratégique pour sa survie à elle.
Pour celle de sa famille.
Et pour celle de sa famille, et pour celle de, à un moment, Viserys, elle le sait qu'il sera mort. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Qu'est-ce qui va lui arriver derrière?
Qu'est-ce qui va lui arriver derrière?
Et d'ailleurs,
plus elle aura de gamins, plus elle assurera sa survie.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Si jamais Viserys devait mourir pendant que les enfants sont jeunes, alors, ouais. si c'est Rhaenyra l'héritière, ça marche pas, mais par exemple, si c'était pas Rhaenyra l'héritière, et que c'était Aegon, il y a eu des cas où il y a eu des reines régentes à Westeros, donc pas des
mais
reines
Cersei.
Cersei, par exemple, oui, quand ouais. ses enfants sont trop petits, elle dirige, et du coup, c'est elle qui siège au conseil et tout, et qui tranche avec le conseil royal. Donc, c'est
donc,
aussi potentiellement
part, où est le curseur
du pouvoir
de...
pour Alicent, ouais.
Où est le curseur de je subis en étant, genre, au lieu du curseur de c'est vraiment un viol conjugal, et de, je ronge mon frein, c'est je joue le jeu pour pouvoir assurer ma le fait de rester dans la de
oui
rester,
bah parce que
rester,
c'est quoi son choix aussi enfin ouais. elle va faire quoi, elle va dire non après ouais. alors c'est il y a quelqu'un sur le chat qui dit que pendant la scène de sexe avec Viserys elle se triture les doigts et que Viserys lui prend la main pour l'empêcher
ah oui,
ce qui est je l'ai pas remarqué ah, je l'ai putain, vu trois fois enfin j'ai vu deux fois l'épisode plus une fois pour faire
en tout cas il y a des rats. J'ai vu des rats.
Il y a des rats, oui. Il y a une, alors il y a une symbolique rat. Il y a un rat sur le crâne de Balerion, le gros dragon devant ouais, lequel ouais. passe Rhaenyra pour sortir. Il y a un rat sur le crâne du dragon et il y a un rat sur la tête de Lee pendant qu'Alicent et Viserys forniquent, n'est-ce pas ce qui est un symbole intéressant. Ouais. Peut-être un symbole d'une forme voilà de pourriture au sein de ce royaume, mais aussi de choses qui s'infiltrent, qui d'un vernis qui se craquelle quoi. Mais oui, je trouve que le personnage d'Alicent, c'est vraiment celui où j'aimerais le plus savoir ce qu'il y a dans sa tête. Parce que c'est
en fait,
dur à savoir.
En fait,
quoi.
Le truc, c'est que quand il y a des rois et des reines qui sont impliqués, il n'y a pas de consentement, en fait.
Oui, il n'y a pas de, on est sur du devoir, on n'est pas sur du plaisir.
Tu vois ce que je veux dire? On est sur.
Mais c'est le roi qui la mande. Et
voilà.
Elle ne peut pas mander le roi pour coucher voilà. avec, tu vois.
Donc, si, quand on suit cette logique-là, est-ce que le sexe que Rhaenyra va faire avec Sir Criston, est-ce que lui aussi, il n'est pas problématique à ce niveau-là?
Eh bah, très bonne transition. On y arrive, ok? Alicent passe un mauvais moment. Anyway, peu importe le mot qu'on veut mettre dessus, elle
passe
un très mauvais moment.
Parce que Alicent, elle passe un mauvais moment et elle ne peut pas dire non, mais Criston, est-ce qu'il peut dire non?
Eh bien, on y arrive. Rhaenyra rentre à King's Landing, enfin au Red Keep, au Donjon Rouge. Elle est bien, bien chauffée. Elle a bien bu des petits shots, en plus, avec Tonton Daemon. Il n'y a pas eu que du touche-pipi. Il y a eu aussi bien de la tease. Elle arrive. Elle rentre dans sa chambre. Sir Criston, il est là. Attends.
Je pensais que t'étais
déjà rentré dire faire bonne nuit, dodo. Et là, tu re-rentres. Mais t'es pas sorti. Donc déjà, lui, il est là.
Ouais.
Après, bon, Rhaenyra, elle est un peu casse-cou. Est-ce que c'est, je pense pas que c'est genre, tu vois, il a pas l'air, il est, ok. Et, mais il s'inquiète. Il dit, attends, mais elle est arrivée en trombe et tout, machin. Oh là là, j'appelle le docteur, j'appelle le maître et tout. Elle a, chut. Et là, elle se dit, si je peux pas avoir tonton, je vais avoir Jon Snow. Je vais avoir mon petit Jon Snow personnel. Et du coup, décide de rentrer dans ce jeu du chat et de la souris avec le casque de Criston Cole afin de l'inviter
ouais.
dans sa chambre.
Ouais.
Moment où j'ai, personnellement, et je suis désolée de l'admettre, pousser un couinement sonore. J'étais vraiment en mode « Ah ! Elle va le pécho et c'est trop bien !»
Mais en même temps, c'est un rare moment dans Game of Thrones où il y a une meuf qui est au contrôle de sa sexualité.
Oui, et qui a envie de pécho un gars.
Ouais, et on peut être content pour elle.
Oui, mais en et même après temps, s'interroger sur le gars, il peut dire non. On parlait de Jon Snow et Ygritte.
Il dit non quand même.
Kristen, il dit non, évidemment, parce qu'il est pas con et que vraiment lui, il risque sa vie. C'est ça aussi, c'est que elle risque d'être, de perdre énormément de valeur sociale, certes, mais en vrai, déjà, elle sait, on va en reparler, mais elle sait qu'elle risque pas forcément une grossesse. C'est quand même une grosse diff avec les vraies femmes du Moyen Âge de la vraie vie. Il y a des options, il y a une contraception slash pilule du lendemain un peu plus efficace à Westeros que ce qu'on avait au Moyen Âge de la réalité véritable. Et bah en fait c'est la fille du roi quoi, donc dans tous les cas elle va pas se faire décapiter. Alors que Kristen Cole, il a juré abstinence, il n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles et de porter des héritiers parce qu'il est dans la garde royale. Et il a encore moins le droit de déflorer la fille
héritière.
Le manteau blanc, mon gars, il est censé niquer zéro.
D'accord. Et dans les comme Barry Stan Levy.
Comme Barry Stan, comme Jaime Lannister, qui se souvient qu'il n'était pas censé tremper sa nouille non plus, ni dans sa sœur, ni personne. Ouais. Oui, il est censé être faire vœu de célibat pour justement ne pas risquer qu'il engendre des bâtards, puisqu'il n'a rien à transmettre et que ça fout toujours la hesse d'engendrer des bâtards, pour ne pas le déconcentrer de sa tâche. Et alors, ok, les Kingsguard et le petit Arwen Strong là qu'on a vu tout à l'heure, probablement qu'ils vont au bordel et soulever des petites serveuses régulièrement, mais pas déflorer la fille du roi. Ça, c'est
non.
Et du coup, se pose la question de à quel point Kristen est en capacité de consentir à cette relation. Il rappelle dans l'épisode précédent qu'il vient d'une famille qui n'est pas noble, qui n'est pas une grande famille. Le fait d'avoir été nommé Kingsguard, c'est le plus grand honneur que sa famille ait connu. Et il dit à Rhaenyra, qui est un peu en mode « ouin ouin, je sers à rien », il lui dit « en fait, pour une meuf qui sert à rien, t'as changé ma vie, donc rends-toi compte du pouvoir que tu as dans la vie ». Et du fait que... Ok, enfin, il est en empathie, je pense, avec sa situation de c'est pas facile de devoir se marier sans le vouloir, de tes trucs avec ton daron, avec ta mère qui est morte et tout. Et il est un peu aussi en mode, il y a quand même pire hein, dans le royaume. Il y a quand même 2-3 gens qui ont une vie un peu pire que toi quand même. C'est chiant ta vie, mais il y a pire. Donc il lui garde un peu les pieds sur terre. Je trouve que leur camaraderie, elle a l'air réelle. Ils ont une relation cool et tout, mais il y a une différence, un déséquilibre de pouvoir qui est indéniable, qui est que Rhaenyra est non seulement concrètement, là, soit son boss, soit la fille de son boss, ok, ou l'adjointe de son boss, mais que c'est aussi la future reine et fille du roi, que c'est une personne beaucoup plus noble que lui, et que concrètement, s'il dit non et qu'elle dit bah si, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu toute la question. Moi, ma lecture de cette scène, et la façon dont je l'ai vue, c'est que je trouve qu'elle a été filmée et jouée de façon à ce qu'on voit son hésitation, et notamment quand il enlève sa cape blanche, son manteau blanc, il le pose et la caméra s'attarde dessus, et lui-même il s'attarde dessus, il le pose sur le dossier de la chaise, sur la coudoir, et il le regarde longtemps, tu vois, il le regarde en mode...
Bien vu, j'avais pas capté ça, j'ai oublié cette
histoire. On y va ou pas ?
J'avais oublié
pareil, il regarde
que
la
c'était
porte plein de fois, tu vois, il regarde la porte, et tu peux le voir comme il regarde la porte parce qu'il a peur d'être surpris, parce que s'il est surpris, il peut mourir, mais aussi comme il regarde la porte comme je peux encore y aller, genre, c'est mon devoir là-bas, mon rôle, mon poste, il est là. Je suis pas censée être là, je suis pas censée faire ce que je fais.
Ouais.
Et moi, j'ai eu l'impression de voir ce chemin personnel qu'il fait pour arriver à « Ok, je le fais en conscience et je consentis à ce qui se passe. » Et je suis d'accord. Et j'ai envie d'y aller, tu vois.
D'accord.
Et j'ai l'impression que quand... Enfin, il y a tout ce temps où Rhaenyra, elle lui enlève son armure, donc elle le délace pièce d'armure par pièce d'armure, où il est de plus en plus souriant, de plus en plus proactif, et au final, c'est lui qui l'attrape, qui la soulève, qui la met sur le lit et tout. Et j'étais là. Alors déjà, j'ai trouvé que c'était une scène de sexe très belle. Franchement, très excitante, très très hot. Et il n'y a aucune scène de cul dans Game of Thrones, je pense, que j'ai trouvé excitante. Je crois qu'il n'y en a aucune que j'ai bien aimée, en tout cas à ce niveau-là. Et là, j'étais là. Petit soft porn sympa, petit female gaze sympa. Bon, alors en plus, Kristen Cole très jolie, Rhaenyra très jolie, ça aide, hein, c'est des belles personnes. Mais au-delà de ça, genre le moment où elle se penche sur ses poignets, elle commence à lui délacer ses gants, j'étais en mode... Adieu, j'ai chaud, j'ai tellement chaud. Parce que, genre, je suis une de ces meufs qui a un kink sur les gars qui ont des bandes de boxe, par exemple. Tu vois, les gars qui font la boxe et qui ont des bandes sur les poignets, quand ils enlèvent leurs bandes, je suis là... Adieu, vraiment. J'ai revu Pulp Fiction il n'y a pas longtemps, que je débrief dans un excellent podcast qui s'appelle Le Film Club. Abonnez-vous, c'est avec Fabrice Florent, c'est déjà dispo. Et dans Pulp Fiction, il y a Bruce Willis qui joue un boxeur qui se retrouve dans un taxi et qui enlève sa tenue de boxeur. Et du coup, il enlève ses bandes et son peignoir et tout. Et quand il défait ses bandes, j'étais là, Bruce Willis des années 90 avec des bandes de boxe. Et du coup, vraiment... quand Rhaenyra elle commence à enlever les gants de l'armure et qu'il y a un gros plan avec une lumière toute douce dessus et que ça remonte sur les petites bouclettes de Kristen Cole et ses pas de doigts, j'étais là, mais let's fucking go! Yes! C'est hyper hot ce qui se passe! Et bravo,
je
quoi.
Découvre Thirsty Mimi, quoi.
Ah oui, Horny Mimi 2020. Mais je suis pas la seule, tu vois. Ça dit d'accord avec Mimi, etc. Donc moi, j'ai lu cette scène, mais c'est peut-être parce que ça m'arrangeait aussi. Comme il prend le temps de consentir et comme sa relation avec Rhaenyra lui permettrait de dire vraiment c'est non. Et un peu comme c'est pas la première fois qu'elle tente, enfin qu'elle flirte, tu vois. C'est peut-être c'est la première fois qu'elle y va aussi cash parce qu'elle est reb, parce que Daemon l'a quand même défroqué, lui a probablement calé des doigts à des endroits indus, et qu'elle est hot, 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 mais, et qu'elle est plus vieille aussi. Mais je pense que cette petite dynamique de flirtouille, elle dure depuis un moment, et je pense que moi je l'ai lu comme il peut dire non, autant que un quasi-roturier embauché par la couronne peut dire non à la fille du roi. Enfin, évidemment qu'il n'y a pas de consentement total, quoi. Mais du coup, c'est intéressant que cette scène pose des questions d'homme qui consent à une relation sexuelle avec une femme dans un jeu de pouvoir au travail, finalement. Même si, bon, finalement, il risque pas son poste, hein, il risque sa vie, quand même. Parce que je trouve que c'est très 2022 de poser ces questions-là, que Game of Thrones a peu posé les questions de la violence sexuelle sur les hommes. Elle a posé un peu les questions de la violence sur les hommes, notamment avec Theon Greyjoy et toutes les mutilations que nous connaissons. Mais dans les bouquins, c'est souvent mentionné que quand ils disent, par exemple, des jeunes filles ont été vendues en esclavage, ils disent des jeunes garçons aussi. Quand ils parlent de personnes qui sont violées, il y a souvent des... Alors, souvent. En tout cas, c'est évoqué régulièrement dans les bouquins, le fait que les hommes aussi sont victimes de violences sexuelles. Et qu'ils peuvent aussi se retrouver dans des situations où ils n'ont pas forcément envie d'y aller, mais ils ne sont pas forcément en l'état de le dire sans risquer beaucoup trop. Donc je trouve ça intéressant que cet épisode réalisé par une meuf, qui est le premier épisode où il y a du coup il y a trois relations sexuelles, il y a Daemon Rhaenyra, Alicent Viserys et Kristen Rhaenyra, elle pose trois fois la question du consentement et du désir et de la légitimité de ce désir de trois façons hyper différentes, quoi. Et je trouve que c'est top-notch télévision. Et un degré de subtilité dans la façon d'aborder les relations sexuelles qui est très loin de ce que Game of Thrones a fait pour le coup. Qui était subtil sur plein d'autres choses, mais pas sur le cul, quoi. Même sur des trucs intéressants comme Tyrion et Shay et tout, c'était genre... Même Cersei et Jaime, c'était genre... Bah, c'est un peu bas de plafond, quoi. Comment tu l'as vu, toi, cette scène de Rhaenyra et Kristen? Est-ce que t'as eu aussi chaud que moi?
Ouais,
ouais, vite fait, ouais.
C'est vrai.
Ah, quand même, c'est... Quand même, c'est pas
vrai. Si, c'est vrai. Bah, moi, Rhaenyra... Je la trouve jolie, quoi. Je trouve ses regards.
Elle a une gueule, franchement.
J'aime bien.
Bah tu peux. Écoute, moi aussi j'aime bien. Elle est super.
En tant que personne prognate, j'aime les personnes prognates.
Ah je comprends. Tu vois,
parce que j'ai fait part à des amis de.
Peux-tu définir prognate pour les gens qui.
Prognate, c'est qui ont la mâchoire du bas qui arrive. Plus en avant que la mâchoire
un
du
peu
haut.
Avancé, ouais.
Alors que la plupart des gens ont la mâchoire du haut, qui a la mâchoire du bas
un
qui est derrière la mâchoire du mâchoire du bas en retrait, c'est normal et ou normal.
C'est il doit y avoir un mot.
Il y a un terme, je me rappelle pas. Et mâchoire du bas un peu cro-magnon là, comme moi j'ai ça.
un peu cro-magnon.
C'est prognate, prognatisme.
Je voulais plein d'émojis contexte. Voilà. Pour le point contexte.
Moi le petit secret, c'est que. Rhaenyra me fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup.
Ah, très bien. Du coup, donc, tu as passé un moment.
Donc chaque scène, je projette.
Je vois, je vois. Écoute, voilà. Bravo, bravo à toi de fréquenter des gens aussi cool. Est-ce que tu t'es posé cette. Est-ce que toi, tu l'as vu comme Kristen, il y va à fond? Est-ce que tu l'as vu comme il y va un peu à reculons parce qu'il est vraiment pas censé y aller, mais il a envie d'y aller? Est-ce que tu l'as vu comme il a pas le choix, il est obligé? Est-ce que tu l'as vu comme Rhaenyra, elle abuse de le mettre dans cette situation, tu vois?
Moi, j'ai vu comme Rhaenyra un peu en mode shippy, tu vois.
Ah bah oui.
Je l'ai vu un peu en mode...
Elle cherche la merde, mais la moitié de la séduction féminine passe par chercher la merde.
Et j'aurai ce que je veux, tu vois. Donc,
un caprice.
Très bien, ouais, caprice. Très bien pour elle, tu vois. Très bien pour elle, mais en même temps, bon, voilà. Et... c'est en entendant quelqu'un d'autre en parler, c'est en entendant une youtubeuse en parler, que je me suis rendu compte de, ah, c'est vrai que Kristen, au début, il dit, si les rôles étaient inversés, ce serait, on dirait, il y a abus, tu vois.
Oui, si c'était un lord qui venait, faisait venir une domestique, et qui lui piquait, enfin, une employée.
Et qui commençait
qui
à lui faire,
hey,
machin,
en
tu
vas-y,
vois.
Viens et tout, on serait là, hey, oh.
En fait, il y en a qui se sont fait cancel pour moi, tu vois.
Oui.
Et en fait.
Mais j'ai vu des gens dire, Rhaenyra, elle lui fait une Weinstein. Elle l'invite, parce que Harvey Weinstein, son modus operandi, c'était, de souvent d'inviter des personnes, des actrices qui ont, enfin, des femmes de l'industrie du cinéma qui étaient un statut moindre que lui dans sa chambre d'hôtel sous le prétexte du travail pour ensuite les mettre dans des situations de viol.
Genre,
et du coup, bah, elle le fait venir dans sa chambre, lui il est au travail, il peut pas dire non, il peut pas se barrer et ensuite elle est là, bah, c'est pour niquer, quoi.
Mais il pourrait se barrer, il pourrait se barrer, mais elle, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est difficile. Hein, c'est...
Il pourrait, mais à quel, qu'est-ce qu'il risque s'il se barre et que tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans cette série.
On est dans le gris là, on est dans le gris et c'est ça qui fait que la série elle est cool, tu vois. C'est le fait qu'on en discute après, tu vois, et que chacun a un peu son interprétation. Je trouve ça très bien.
Oui, je trouve ça très cool aussi, et je trouve que c'est très bien qu'on n'ait pas de réponse définitive à vous donner ni à se donner, parce que la sexualité c'est complexe, les jeux de pouvoir c'est complexe, les rapports de genre c'est complexe, et ça allait encore plus dans un monde fictionnel avec des dragons et des dynamiques médiévales. Mais c'est des bonnes questions à se poser. C'est toujours, en fait, il y a 10 ans, quand il y a eu Game of Thrones, on s'est pas demandé si Cersei ou Jaime pouvaient consentir à coucher avec l'autre, tu vois. On était juste en mode, ah, ils couchent ensemble. On s'est pas posé la question de façon aussi précise sur, on s'est pas demandé si Ygritte et Jon Snow, ils consentaient vraiment.
Ouais, ça plus. Parce qu'entre Jaime et Cersei, il y a quand même ce truc de, ils sont jumeaux. Depuis qu'ils sont petits, il y a des jeux sexuels malsains.
Oui, clairement, oui. Donc, ils ont grandi dans ça, comme
donc,
on dit.
Donc voilà, ils ont grandi dans ça. Tu vois?
Mais sur un Jon Snow et une Ygritte, la question s'est pas posée. Sur un Jon Snow et une Daenerys, la question s'est pas trop posée
putain,
non plus.
C'est un peu le Ygritte, elle kidnappe un peu Jon Snow quand même.
Oui, en gros, elle le kidnappe et lui, sa mission que lui a donné son ancien chef de la garde de nuit qui s'est fait tuer,
c'est d'infiltrer
les Sauvageons un peu à tout prix pour aller trouver Mance Rayder, qui a l'air d'être un roi qui prépare un truc. Donc en vrai, il est en infiltration et c'est un peu la question
à chaque James Bond. C'est une question que tu peux poser à chaque.
Si t'es un soldat infiltré dans un pays ennemi et que tu couches avec quelqu'un pour te faire passer, bah est-ce que tu désires vraiment, est-ce que tu consens ou pas, quoi.
Chaque intrigue d'espionnage où il y a du cul, tu te poses la question.
C'est très vite compliqué. Mais du coup, on a quand même Kristen Cole, he gets it, Rhaenyra, she gets it, it's happening, elle n'est plus vierge. Il y a eu relation sexuelle pour la princesse et en même temps, comme c'est dit très vite, c'est pas comme si à son âge, son propre père ou son propre oncle était vierge et encore puceau, clairement. La perte de la virginité est beaucoup moins importante chez les hommes puisqu'elle ne s'associe pas du risque d'être enceinte et d'être dévalorisée socialement. C'est une plus grosse affaire pour Rhaenyra. Du coup, moi, j'ai eu quand même un petit côté de meuf, c'est pas malin, tu vois. Genre, c'est pas malin de niquer ton garde mignon qui est là depuis 10 ans à tes côtés. Ça va être, c'est genre la personne
c'est même pas
qu'on
ça
va
soupçonner
minute 1. Si t'as un enfant brun, on va dire que c'est lui, tu vois. C'est
évident, quoi. Mais non, parce que là, en l'occurrence, la rumeur veut que ce soit avec Daemon.
Oui, mais si elle pond un gamin et que le gamin il a les cheveux noirs,
ouais.
Bah, on va bien se dire que c'est pas Daemon. Bon.
Ouais,
bon.
Certes.
Va boucler tout ça. Du coup, ce qui nous reste en termes de conséquences à ce qui vient de se passer, c'est que Otto va faire un move. Otto va le tenter. Il a l'info parce que du coup, l'espion, on en a parlé, l'espion de Misaria vient lui dire Daemon et Viserys et Rhaenyra. Personne ne sait pour Rhaenyra et Kristen. Kristen Cole, personne ne sait, personne ne se doute. Lui, il passe entre les gouttes. En vrai, il a
personne
de la chatte.
Il a grave de chance.
D'être tombé le soir où Daemon et Rhaenyra ont fait nana sur le bordel. Parce que n'importe qui dirait, j'ai entendu dire que Rhaenyra a fait des dingues il y a 2 jours, tout le monde dirait, on sait avec Daemon. Et pendant ce temps, Kristen, qui en plus est là pour la moitié des discussions parce qu'il est garde royal, donc il est tout le temps dans les pièces, il doit suer sous son armure en mode, ok, il parle de Daemon. Mais vraiment, il doit pas passer des très bons... Je pense que son transit va être très compliqué. Mais du coup, Otto a l'info et décide d'aller réveiller Viserys pour lui dire « On a vu ta fille et Daemon dans un bordel. » Et Viserys, il est là. Et donc, elle est là dans un bordel en train de faire « Tu sais quoi ?» Et Viserys, il dit « Bah dis, je sais quoi, c'est quoi le truc ?» Et Otto, il est là « J'ai pas envie de le dire. » Mais il lui dit... Alors, le terme qu'il utilise, c'est « coupling ». En train de s'accoupler. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu fornicage total. Ce qui nous le sachons, n'est pas 100% vrai. Alors, on met la limite où on veut, mais en tout cas, il n'y a pas eu pénétration vaginale, a priori. Il n'y a pas eu rupture de virginité sacrée de l'époque.
Tout ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'il peut y avoir enfant.
Oui, bien sûr. C'est, est-ce que ça a rompu l'hymen, et encore l'hymen à l'époque se rompait, notamment pour les filles nobles, beaucoup en équitation, puisque ça peut arriver. Et aussi que l'hymen, en vrai, c'est pas un marqueur très fiable, hein, de la virginité d'une personne. Mais effectivement, est-ce qu'il y a eu rapport sexuel qui pourrait donner un bâtard et qu'on sait compter comme une défloration ou pas? Il y a eu perte de vertu et de pureté sociale, ok, mais est-ce que ça a été très grave? Ce que Otto, il dit, alors est-ce qu'il le croit ou pas? Ou est-ce qu'il en gros, est-ce qu'il a eu les infos exactes? Et lui, il exagère en disant qu'ils ont carrément couché ensemble.
C'est pas clair parce que.
Ou est-ce qu'il a eu des infos erronées, un peu exagérées, et lui-même, il fait le téléphone arabe de, ah oui, ils étaient carrément en train de coucher ensemble et après ça va s'aggraver? On ne sait pas. Le gamin était pas dans la pièce, il peut pas savoir qu'ils ont pas fini. En effet. Mais il peut pas non plus savoir qu'ils ont commencé. Il les a vus se rouler des pelles. Ça a duré genre 2 minutes. Douche comprise, c'est quand même un peu rapide. Qu'est-ce qu'on fait de Otto Hightower dans tout ça? Est-ce qu'il est auto-centré? Est-ce qu'il bosse un peu pour le bien du royaume? Est-ce que quand il va le dire à Viserys, est content de pouvoir faire couler Rhaenyra? Ou est-ce qu'il est saoulé? Est-ce qu'il a un peu peut-être d'empathie aussi pour ce père qui doit gérer sa fille? Il a une fille du même âge.
Non.
Qu'est-ce qui se passe chez Otto Hightower?
Non, Otto Hightower, il est là, il est sans pitié, Otto Hightower.
Est-ce qu'il est auto-centré? Bravo, Héberna, je l'ai dit, je l'avais même pas. Trop bien.
Otto Hightower, il est là pour faire avancer sa house, faire survivre sa house,
yes.
Faire survivre la house of Hightower. Kaft.
Ensuite, il poucave de ouf.
Ensuite, Viserys embrouille sa fille.
Ouais.
Sa fille lui dit, très bien, je vais faire mon devoir, je vais me marier avec Lenor.
Attends, non, entre-temps, quand il kaft, il y a Alicent qui écoute.
Ouais, Alicent
et la
écoute.
Première personne qui confronte Rhaenyra, et c'est très important, c'est Alicent.
C'est Alicent. Et Alicent la juge un petit peu
et
en mode.
Elle est dégoûtée.
Ouais, elle est dégoûtée parce qu'elle est dégoûtée par l'inceste. Le sister wiving, c'est pas cool.
Moi, je pense qu'elle est aussi dégoûtée par une jeune femme qui se déflore, tu vois. Elle est dégoûtée. Moi, je l'ai vue plus comme un truc. Mais parce que j'avais un peu oublié son côté hyper religieux dans les bouquins. Je l'ai vue plus comme un truc de. Un peu meuf, t'es une salope, tu vois, de slut shaming de sa pote, et un peu de meuf, genre tu sais que c'est tout ce qu'on a dans le monde en tant que femme, c'est notre statut maritable, enfin mariable, c'est notre statut de pureté, c'est, enfin t'es en train de tout gâcher. Pourquoi? Pour faire n'importe avec ton oncle, tu vois. Alicent, elle est un peu plus mature.
Ouais, mais ce qui rejoindrait aussi cet aspect, il faut jouer au jeu selon les règles.
Ah, mais Alicent, elle est pas là pour renverser le système de l'intérieur.
Exactement.
Hein. Elle est là, il faut se plier au système.
Qui fait qu'elle se plie quand elle fait du sexe avec Viserys aussi.
Oui. Et je pense qu'il y a un peu
de consentement.
Il y a de la jalousie dans Alicent,
de la
liberté,
de
l'impertinence de Rhaenyra, et aussi de la possibilité qu'elle a d'envoyer chier beaucoup de choses, là où Alicent, qui n'est pas fille du roi, aurait pu envoyer chier moins de choses,
exactement.
Et on voit bien qu'au final, alors, on l'a pas vu essayer de se rebeller, c'est peut-être moins dans sa nature, mais elle subit aussi beaucoup de choses, Alicent, et elle voit Rhaenyra qui a l'idée de subir 10% de ce qu'elle subit, pète un câble et fait des caprices, qui finit par aller faire nimpe potentiellement avec son oncle dans des bordels. Elle est là, mais girl, mais moi, je subis tous les jours d'avoir réussi à tirer le meilleur des options que j'avais en tant que meuf, et c'est déjà pas ouf. Et toi, t'es en train de tout jeter par la fenêtre juste parce que tu fais du caprice. Et je pense que c'est aussi une... C'est marrant parce que c'est un peu deux visions quasiment du féminisme qui s'opposent, tu vois. Il faut jouer selon les règles et on va pas pouvoir renverser le système d'un coup de pied et il faut être raisonnable et y aller petit à petit, et une version un peu plus jeune, un peu plus sanguine de mais on crame le système, au pire on se lève et on se casse et on fait ce qu'on veut. Et en même temps, Rhaenyra, elle est pas altermondialiste, elle est pas là pour renverser le système, elle veut juste être reine, être chef du système.
Et Rhaenyra lui ment en lui disant...
Ah, elle lui ment parce qu'elle lui dit... Et j'ai revérifié parce que j'étais là. Peut-être qu'elle fait une technicalité de...
Non, elle lui dit...
Sur la tombe
me.
De ma mère, je n'ai pas couché avec Daemon, où j'étais là. Ok, on pourrait dire que... Mais elle dit non. Elle jure sur la tombe de sa mère que Daemon ne l'a pas touché. Et ça...
En l'occurrence, il l'a touché.
On l'a vu. On n'est plus dans des bails de qui a rapporté quoi dans Fire and Blood. Ouais. Est-ce que c'est le septon? Est-ce que c'est le bouffon?
Non, on l'a vu. La caméra était là.
Ça s'est touché. Ça s'est calé des wads. Ça s'est... déshabillé. Alors, on a alors, ok, j'adore les gens qui des fois sont sur leur propre théorie. On a 21 qui dit Alicent kiffe Daemon depuis le début.
Non.
Non. cette anecdote est fausse, je suis désolée. Non, sauf surprise, sauf réécriture du perso.
C'est ça, alors, gens qui...
Je suis plutôt contente qu'ils aient pas fait un triangle amoureux éclaté. Genre, en fait, les deux meufs sont liées par « On désire le même gars ».
Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que à aucun moment la série
elle
ne dit ça,
déteste,
en fait.
Elle déteste Alicent. Ah, le tournoi. C'est pas complètement con. Dans le tournoi épisode 1, quand Damon arrive, Alicent est aussi très intéressée par Damon. Mais en vrai, elles sont plus intéressées par Kristen Cole, toutes les deux. Mais Damon, il me semble qu'il donne sa faveur à Alicent. C'était un truc. Et vraiment, non, Alicent n'est pas spécialement intéressée par Damon. Alors, est-ce qu'à un moment, elle s'est dit, tiens, quitte à épouser un des deux Targaryens.
Alicent donne sa faveur à Damon?
Il me semble que Damon demande la faveur à Alicent et Kristen demande celle de Rhaenyra.
Ok, d'accord.
Est-ce que Alicent s'est peut-être dit un jour, entre les deux frères Targaryen, entre Viserys et Damon, je me taperais plutôt Damon, peut-être. Peut-être qu'il pourrait la blâmer. Mais elle est pas en... je pense pas qu'elle est dans une démarche de jalousie envers Damon. Je pense qu'elle est dans une démarche de... elle est perturbée par les gens plus libres qu'elle, parce qu'elle comprend pas. Enfin, elle est là en mode... en fait, le système, il est comme ça, donc ça sert à rien de se rebeller contre. Et aussi parce qu'elle, elle a moins de pouvoir factuellement que Rhaenyra et que Daemon, quand bien même elle est la femme du roi. Et que du coup, je pense qu'il y a aussi une frustration de « oui, bah ok, faites des caprices, faites votre vie et tout, mais à la fin, vous allez finir par devoir rentrer dans le rang et faire comme moi et comme tout le monde, quoi. » Et aussi, elle a une vie de merde, quoi.
Quand on en fait son hobby numéro un de faire des théories sur les séries, on essaie quand même de lire ce que la série essaie de nous faire comprendre.
Ouais. La série nous donne plus un dégoût un peu misogyne et un peu inceste, enfin un peu anti-inceste aussi.
Elle est anti-inceste.
De Alicent envers Rhaenyra.
Voilà.
Et je pense aussi une inquiétude un peu légitime de femme à femme, de en fait ouais. Meuf, t'es en train de gâcher le seul truc que t'as, quoi. Si t'as plus ta virginité, ta pureté et que t'es plus un bon parti, ta vie ça va être l'enfer. Et ouais. Elle lui dit d'ailleurs au début dans le jardin. La plupart des femmes de notre rang n'ont pas le choix de leur mari, ne serait-ce qu'entre deux personnes. Toi, t'as le choix entre des douzaines, tu vois. Et ok, ils se battent pour ta fortune en plus, enfin, et pas que pour toi, mais en vrai, est goldée, Rhaenyra. Elle a le choix que Alicent n'a jamais eu. Et je pense que dans l'énervement d'Alicent, il y a beaucoup de meufs. Si j'avais eu ça, je l'aurais pas gâché à coucher avec mon tonton, quoi. Si j'avais eu le choix, j'aurais pris le meilleur mari possible. Et donc, toi, t'es en train de faire nimp. Et ouais, bah, en même temps, Rhaenyra, elle est là, je m'en fous de vos règles, je vais faire ma vie.
Donc, Rhaenyra a capté que Otto Hightower a cafeté.
Oui, parce que elle lui dit. Elle lui dit, mon père, enfin, au début, elle dit, m'a dit que.
Ouais.
Et Rhaenyra, elle commence à creuser, elle fait, ok, on m'a pas dit que. Ton père l'a dit. Enfin, mon père l'a dit à ton père.
Ouais,
et
j'ai entendu. Donc ensuite. Viserys embrouille sa fille.
Ouais. Non, Viserys embrouille Daemon, d'abord. Je crois. Attends, j'ai noté. Nya, nya, nya. Espion, Otto Viserys, Alicent Rhaenyra, Daemon Viserys et le plan de Viserys. Oui, d'abord, c'est ça. Viserys embrouille Daemon. Donc, Daemon arrive, il se fait choper par les gardes, il se fait jeter devant le trône, à plat ventre par terre. Il est, rappelons-le, en gueule de bois 4000. À plat ventre sur le carrelage frais qui doit lui faire un peu du bien en vrai. À attendre Viserys qui est déjà tout un truc de je te fais. Donc la veille ils se sont réconciliés. Dans les bouquins il reste 6 mois. Daemon à King's Landing entre le moment où il revient des Stepstones un peu victorieux et le moment où il refait de la merde. Là c'est vraiment le soir même. Il est parti en couille avec la fille du roi. Le roi il est fatigué. Il est là frère. Vraiment j'étais content de te revoir et tout. C'était chiant. T'es trop chiant. J'aimerais bien que tu sois cool mais t'es pas cool. Du coup il a pas la patience. Il arrive, il le démarre, il lui met des coups de pied dans les reins. J'étais là, waouh! Un coup de pied dans les reins en gueule de bois. Alors, je sais pas si vous savez, mais la gueule de bois et les conséquences de l'alcool, c'est beaucoup de déshydratation et beaucoup des reins qui en peuvent plus de filtrer et du foie qui en peut plus. Donc, le coup de pied de Viserys en bas du dos de Daemon, j'étais là, cruel. Et aussi, j'étais là, qui êtes-vous? C'est qui Viserys qui tape son frère à terre? C'est quoi ce niveau d'énervement? C'est fou quand même, non? Qu'est-ce qu'il fait pour toi qu'il est aussi...
Au moins, je déteste l'expression, mais il porte ses couilles. Hein.
Oui, bah, de temps en temps, il a des fulgurances de « Attends, je suis roi et je suis père de famille. » Est-ce qu'il est en gueule de bois ou drogué par Misaria?
C'est ça, à ce moment-là, où ce qu'on disait tout à l'heure,
Viserys, Daemon.
Daemon lui dit...
Problème-solution.
Problème-solution, je me marie avec...
C'est l'audace du gars, je l'adore.
Marie-moi avec ta fille, comme ça c'est réglé. Et Viserys lui dit, mais non, mais t'as déjà une femme. Il aussi dit, ouais, mais Aegon le Conqueror, il avait deux femmes. Il lui dit, ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule.
Bah, Viserys, pour l'instant, 100% des fois où on lui a proposé un mariage intra-Targaryen, ça a été un non immédiat, définitif. Bye, ciao, Rhaenyra Aegon, c'est non. Rhaenyra Daemon, c'est non. Ne revenez pas, ne passez pas par la case départ. Ciao.
Il me dit tu te casses, machin. Et
après, là, il y a l'humiliation qui va autour aussi, quoi. C'est pas juste.
Et je sais pas s'il lui Daemon dit qu'elle va se marier avec Rhaenyra.
Non, non, il lui dit pas. Non, non, Daemon, il a pas l'info. Viserys lui dit tu retournes auprès de ta femme et tu fais ta vie. Bon, il lui a déjà dit ça il y a deux épisodes, on sait comment ça a fini. J'espère qu'on va voir la femme de Daemon à un moment.
Je trouve que ça commence à la build
un peu ce truc de il la déteste tellement. Ouais. En vrai, c'est juste une meuf. Normalement, je crois, c'est juste une meuf. Elle est pas ultra détestable. C'est juste Daemon, c'est un connard et du coup, il aime pas les meufs et il aime pas les gens, quoi. Et elle est pas hyper fun parce que c'est un mariage d'intérêt et pas d'amour. Mais j'aimerais bien qu'on la voit à un moment, tu sais, genre en fin de. Ah, j'ai peut-être oublié un truc, ok. Mais qu'on la voit et que ce soit juste une meuf, mais qui est sympa, tu sais, qui est ce truc où le gars il en parle comme de la pire personne pendant toute la saison, et à la fin tu la vois et elle est adorable, et elle est genre un peu ultra sexy en plus.
Il dit qu'elle est moche.
Imagine, c'est comme dans ce film avec Will Ferrell et Mark Wahlberg, où Will Ferrell, sa femme c'est Eva Mendes, et il arrête pas de dire, je suis désolé, ma femme est pas belle, elle s'habille mal, elle cuisine mal, alors que c'est Eva Mendes, genre gaulée comme une fusée Tesla, là, machin, qui fait des petits plats, et Mark Wahlberg il est là, qu'est-ce qui se passe? J'adorerais que ça soit la vanne avec Daemon et sa femme, mais je sais pas si on va l'avoir. Mais en tout cas, oui, il l'a pas choisi, il l'aime pas. C'est pas une Targaryen aussi, en vrai, fondamentalement, Daemon.
Elle est dans le Veil, non? Elle est là où il y a la.
Elle est dans le Veil, tout à fait.
Là où il y a l'enfant, le breastfeeding.
Ouais, c'est Aerie, là, c'est là où il y aura plus tard Lisa Arryn, la sœur de Catelyn Stark, qui fait l'allaitement, la Leche League. Fabrice Florent, coucou. Qui fait la Leche League un peu tard. Ok, bon bah du coup Daemon propose, on s'épouse. Viserys dit c'est non.
C'est non.
Et Viserys va plutôt aller faire deux choses importantes, trois choses importantes. Il va aller parler d'un certain poignard à sa fille. Il va aller virer une certaine personne et il va aller faire livrer une certaine boisson. Du coup, Il parle du poignard à sa fille. Ouais.
Alors attends.
Enfin, d'abord, il parle avec sa fille.
Moi, ce que j'aimerais.
Oui.
Avant qu'on rentre dans les détails du poignard.
Oui.
Il parle du poignard, on s'en fout un peu, en fait.
On va vous en parler vite fait, mais on va vous en parler
plus tard.
Ouais.
Mais, en vrai, il lui dit, écoute, t'as fait une connerie, ton problème, c'est moi. Elle lui dit, je veux pas me marier avec qui tu veux pour régler tes
problèmes politiques.
Ton headache.
Et il dit, tu es mon problème politique.
Ouais, voilà.
Ça... Punchline. Viserys, franchement, il s'est levé avec des punchlines ce jour-là.
Donc là, Viserys, il est déter, quoi, quand même. Et il lui dit, tu vas te marier avec Lénor Velaryon, comme ça. Voilà. Elle dit...
Once again, bon parti. Let's go. Et le conseil de Lionel Strong est suivi.
Ouais, exactement. Rhaenyra, elle lui dit, tu sais quoi, je vais faire mon duty, je vais me marier avec ton pote, là. Mais toi, il faut que tu fasses fais le ménage devant ta porte et vire le mec
le vautour sur ton trône.
Et donc,
Viserys répond, bah qui ça, littéralement les démons de minuit. Et elle est là, bah duh. Peut-être littéralement ton numéro d'os qui prend toutes tes décisions à ta place et qui a mis sa fille dans ton lit et qui veut mettre son petit-fils sur le trône. Lui, et Viserys, il est là.
Ah ouais.
Tu crois ? Attends.
Et là, c'est ouf
parce que... Il commence à faire la girafe à relier, là. Ah oui, ça fait un long coup. Ça fait quand même 4-5 ans depuis l'épisode 1 hein, qui sont passés.
En fait,
il vient de percuter.
Magiquement, il capte que Otto Hightower a mis Alicent dans son lit. Il capte que... Et il capte aussi une vieille histoire de qui a tué mon père.
Ouais, alors
tu vas me dire que magiquement mon père il est mort à partir de je sais plus.
Donc là on va enchaîner. Donc Rhaenyra dit à Viserys, ok, je me marie avec Lénor Velaryon. En attendant, toi tu gères ta main du roi. Viserys dit, tu sais quoi, deal, et il le fait, bravo. Donc il a ce rendez-vous avec Otto. Ce qu'il raconte à Otto, c'est quand mon père était vivant, il a été nommé main du roi.
Ouais.
Du roi Jaehaerys, et pendant une chasse royale. et ça a duré 5 jours. Et ensuite, il est mort immédiatement, enfin au bout de 5 jours seulement à être humain. Il est mort d'une maladie.
Mystérieusement.
Of a burst belly, il dit. Ce qui, dans le livre, est décrit comme ce qui semble être une forme d'appendicite. Hein. C'est... Mmh. Y a pas de... Il me semble pas que dans le livre, c'est amené comme un potentiel complot, mais bon, ça reste la main du roi qui se fait tuer. Et c'est à ce moment-là que, du coup, le père de Viserys, qui était un Targaryen, n'a plus, est décédé. Il n'était plus main du roi. Et que le roi a choisi une nouvelle main, qui était, du coup, Otto Hightower. Et, enfin, qui était Otto Hightower ou son père? Je sais plus, non. Otto Hightower, je pense.
Non,
oui, c'est pas héréditaire. Donc, Otto Hightower est là depuis deux rois, qu'il a bien servi, puisqu'il était là avec Jaehaerys. Et effectivement, quand Viserys lui rappelle ça, il y a un petit côté genre, c'est marrant ou pas comme coïncidence?
Ouais.
Est-ce que le timing il est pas, ouais, un peu marrant? Ouais. Il l'accuse pas.
Mais
parce
il
qu'en vrai,
à
mais,
moitié,
mais
hein,
il sous-entend. En tout cas, il met en doute. En,
il dit,
en gros,
il
lui dit
ça même... fait depuis deux générations que tu veux te rapprocher du,
oui,
du trône.
Mais il lui dit, je me demande à quel moment t'as décidé de faire passer tes intérêts avant ceux du trône. Donc il dit,
ouais,
pas depuis,
ouais,
le début, tu
d'accord,
cherchais que ça.
D'accord.
Il dit, il y a un moment où t'as shifté. Je sais pas quand c'était. Mais là, t'en es au point où t'es prêt à faire du mal à mon sang pour mettre ton sang sur le trône du fer. Donc,
ouais,
en faisant,
ouais,
référence à,
ouais,
son petit-fils Aegon, mmh, le fils d'Alicent et de Viserys, qui veut mettre sur le trône. Et où, du coup, il le licencie. S'il était vraiment
donc,
en train de l'accuser.
On apprend que Viserys voit clair dans son jeu.
Enfin! Bah,
ouais,
enfin, quand littéralement sa fille,
ouais,
lui a dit,
ouais,
voilà,
ouais,
lui a mis le calque du point à relier sur,
ouais,
les points à relier, lui a,
ouais,
fait le dessin,
ouais, ouais,
il a fait, ah putain, c'est une girafe.
Ouais,
incroyable. Et du,
ouais,
coup, il va voir Otto, il fait, c'est une girafe depuis le début quand même. Et Otto, il fait, ah, je pensais pas que quelqu'un te montrait le calque, mais oui, c'était une girafe, c'est vrai. Otto est très genre, somme, mais ok.
Non,
il se défend pas trop, et en même temps, c'est la meilleure façon de réagir.
Il a le seum, mais ouais, il ronche.
Il
n'a
pas
quoi,
vraiment d'option, quoi. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va se venger? Est-ce qu'il va repopper? Est-ce que Viserys va devoir le rappeler? Est-ce que quelqu'un d'autre va devoir le rappeler
à
la cour? Vous
questions
verrez.
Déjà dans le preview de l'épisode.
Ah, moi je regarde pas le preview de l'épisode suivant, donc I don't know. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme scène, et je trouve que le personnage de Otto, il est vraiment super intéressant, et il est moins
comme tous ces putains de fucking personnages qui sont géniaux.
Ils sont bien écrits. Même Kristen Cole, il m'intrigue, tu vois. Même,
ouais,
Kristen Cole, on a eu une demi-heure de est-ce qu'il était d'accord ou pas,
ouais,
alors qu'il a 4 répliques par épisode,
ouais,
et que c'est un peu un Jon Snow
trop
qui
bien
est là pour être BG, quoi.
Trop bien.
Point poignard, après on fait le Q&A. Enfin, point poignard.
Non. Avant point poignard,
quoi,
il y a une dernière scène où on apporte.
Mais on
n'a
pas fait la scène du poignard. D'abord.
On va faire le poignard après.
D'accord. Alors, donc, le point du thé.
Si ça te dérange pas, Mimi.
Non, ça me va très bien.
Ça
me va très bien, t'es qui? Donc le.
Non, mais parce qu'après, il faut que je rentre dans une zone pour le poignard.
Ah oui, ok. Le poignard, ça va être la zone.
Ce sera le point poisson, tu vois.
Ok, ça marche.
Après, on pourra pas en ressortir, après, on saura plus où on est.
D'accord. On est là depuis un petit moment. Du coup, guys and girls and everything in between. On va faire le point Mounty. Donc, on va finir juste le déroulé de l'épisode. Ensuite, on fait une mini pause de 3-5 minutes. Ensuite, on fera le point. C'est quoi cette histoire de poignard qui brille comme l'anneau unique? On répondra au Q&A et on pourra se dire, et on fera non pas le point homme-poisson, mais
ça sera au niveau du poignard.
Ok, bah super. Du coup, sera mutualisé. Donc, on va juste finir sur c'est quoi ce thé, et après, on fera une petite pause, comme ça, vous pourrez vous hydrater,
c'est
et on fera le point poignard.
C'est quoi cette bouteille de lait?
C'est quoi, papa, cette bouteille de lait? Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite fiole ronde qu'un maître amène, que le maître de la cour, le maître du roi, amène aux petites heures, à l'heure de the hour of the owl, comme dit Otto Hightower,
ouais, ouais,
à l'heure de la chouette, dans la chambre de Rhaenyra, la princesse royale. Qu'est-ce qui se passe avec cette bouteille?
Un contraceptif.
Tout à fait. Une pilule du lendemain. Ça s'appelle du Mounty, du thé de lune. C'est une potion. Alors c'est pas, voilà, c'est un mélange a priori de plusieurs plantes qui doit être bien préparé. Le maître dit que quand c'est mal préparé, c'est soit inefficace, soit ça peut, il dit,
c'est
créer
vraiment,
des effets
bois ce thé,
unpleasant.
Peut-être que ça va te tuer. Peut-être que ça va être... Si c'est bien préparé, c'est efficace. Je pense que je l'ai bien préparé.
Soit c'est efficace, soit je l'ai raté, auquel cas, soit ça fait rien, soit tu meurs. Bon, c'est,
ouais,
un peu ça.
Ouais.
Mais c'est finalement, oui, la contraception, c'est compliqué. Donc en gros, alors il y a pas de contraception à Westeros, il y a pas d'avortement non plus évidemment, mais il y a ce thé qui peut à la fois faire office de pilule du lendemain, contraception d'urgence. Donc comme la Rhaenyra le prend immédiatement, le plus tôt après, qui va normalement tuer dans l'œuf toute possibilité de conception, soit être pris au début de la grossesse et être un produit abortif. Donc ça, c'est un truc qui est connu dans le lore de Westeros. C'est un truc qui existe dans cet univers, qui est, fun fact, probablement inspiré d'une plante qui existait à l'époque romaine, dont les feuilles étaient en forme de cœur, qui est une plante qui aurait eu des propriétés contraceptives ou abortives et qui aurait été tellement utilisée qu'elle a disparu. Et on sait, on n'en a plus de nos jours. Il y a même certaines légendes, mais je crois que ce n'est pas prouvé, qui disent que si le cœur est le symbole de l'amour, c'est parce que les feuilles de cette plante étaient en forme de cœur et que les amoureux en utilisaient beaucoup puisqu'ils passaient leur vie à niquer, évidemment. Vous irez voir sur Google, faites plante contraception cœur rhum, vous aurez des réponses. Donc on a ce produit qui est notamment évoqué par Cersei dans Game of Thrones, puisqu'elle explique qu'en gros Cersei a sciemment choisi de ne pas avoir d'enfant biologique de Robert Baratheon, puisqu'en plus elle a été vraiment dans une réalité et un vécu de viol conjugal, elle ne désirait pas Robert Baratheon qui forçait des rapports sexuels avec elle, et du coup sa façon entre guillemets de se venger de ça a été de non seulement continuer à coucher avec Jaime et porter ses enfants et les faire passer pour l'enfant du roi, mais aussi de se débarrasser de tous les enfants qu'elle aurait pu avoir avec Robert Baratheon, la plupart du temps en prenant du Munti, donc du thé lunaire, dès qu'il y avait des signes de grossesse ou juste après un rapport, ou parfois il me semble qu'il y a une histoire de potentiellement un bébé Baratheon qui a peut-être été étouffé dans son berceau assez jeune. Il me semble qu'il y a un bail comme ça. Du coup voilà, c'est ça que Rhaenyra reçoit. Donc en soi, le fait que ce produit existe, c'est pas si surprenant. Ça existe dans l'univers de Game of Thrones. Ce qui est surprenant, c'est son père qui lui envoie. Et est-ce qu'elle va le boire ? Donc son père lui envoie.
On ne la voit, on ne la voit pas le boire.
Et ça fait partie des questions que j'ai reçues et même sur le chat je l'ai vu. Est-ce qu'elle le boit ?
Ça, c'est très important.
Et on
n'est
pas d'accord avec Teki sur est-ce qu'elle le boit.
Moi je suis team, elle ne le boit pas.
Moi je suis team, j'ai un utérus. Évidemment que si tu me donnes la pilule du lendemain, je vais la prendre. Mais vas-y, explique pourquoi elle le boit pas.
Non, parce que c'est spoil.
Ah bah super, c'est un bon podcast ou pas, c'est un bon contenu. Ok, attends. Oui, ok. Donc je vais vous le dire sans spoil. Là, je vais réfléchir et je vais voir si je peux vous dire, je vous mettre du contexte dans la logique de Teki sans spoil.
Après, les gens qui ont regardé les trailers, le trailer de la série en général.
Oui, non, d'accord. Okay. Bon.
Trailer de la série en général, ça compte comme du spoil.
Ok, bon bah, Teki pense que il le prend, qu'elle prend pas le thé.
Je pense qu'elle le prend pas.
Ok, mais une fois que t'enlèves ce que toi tu sais de la suite, c'est quoi sa logique de pas prendre le thé, tu vois? Elle a ce thé qui est un thé abortif parce que le maître lui dit ça vous libérera de toute potentielle conséquence, voilà. Pourquoi elle le prendrait pas?
Le maître il passe un quart d'heure à lui dire de, il y a une chance de que tu meurs.
Mais pas du tout, il lui fait une vague remarque de, il faut bien le faire et il dit pas mourir, il dit il peut y avoir des conséquences unpleasant, donc je pense qu'on est sur une chiasse slash fausse couche vénère slash PMS.
Moi je suis con, mais si tu vois pas du sang, mais c'est enfin... que le gars n'est pas mort. Si tu vois pas la personne boire le thé, c'est qu'elle l'a
d'accord.
pas bu.
D'accord, ok, je croyais que tu me disais si tu vois pas du sang, c'est qu'elle a pas bu le thé. J'étais là, non, mais enfin, c'est si une pilule du lendemain, il y a
non,
pas
de sang. Si on lui fait pas une Marion Cotillard où on lui ferme les yeux avec les doigts sur
mais
sur,
moi je pensais ça sur Stannis sur, et il était mort machin. Quand même frère Stannis il était mort alors qu'on a pas vu Brienne
si on l'a vu si
non on a non. vu Brienne lui le partir ouais, pour l'exécuter bizarre. Ouais, et lui a parlé
bizarre.
Et ils ont cut et j'étais
ouais,
là
c'était bizarre. Mais en vrai je pense que
elle va faire croire à tout le monde qu'elle porte l'enfant de Daemon, genre elle a ken une fois, ça tombe en pleine ovulation, alors tu sais quoi, elle sait pas, en vrai elle sait pas, ils savent pas comment on fait des bébés à l'époque, ils savent qu'on ken et après il y a des bébés mais ils savent pas l'ovulation et tout. Moi je prends pas le risque. Son père, ah oui, et du coup il y a l'idée qui du coup
si elle l'avait
pas totalement
si elle l'avait bu, on l'aurait vu faire.
Non, moi je pense pas. Donc il y a l'idée de, elle boit pas pour parce qu'elle est fâchée contre son daron, parce qu'en gros le fait que son daron lui envoie son thé, c'est une preuve qu'il la croit pas à 100%. Parce ouais. qu'elle, elle lui dit j'ai couché avec personne.
Aussi.
Et il dit c'est quoi, ok, mais je vais te filer la pilule du lendemain au cas où
ouais,
deliver ouais. dans Uber Eats dans ta chambre.
Ouais, exactement. Ouais,
par
ouais.
le maître royal.
Ça c'est vrai.
En plus.
Ça c'est vrai, 100%.
Et du coup il y a des gens qui disent.
Merci à cette personne qui a dit ça dans le chat, elle est dans ma team.
Par défi envers ça, tu vois, elle va ouais. pas le boire juste ouais. pour dire ah ouais tu me crois pas, bah je vais pas le boire.
Ouais.
Ça c'est la seule hypothèse où je crois elle le boit pas. C'est ok, il veut pas me croire, bah je vais il veut jouer au con, je vais jouer au con, je suis pas la fille de personne, je vais jouer plus au con que lui et je vais pas boire le truc. Et aussi pour que le maître puisse dire, si jamais c'est un test, que le maître puisse dire elle a pas bu le truc et que Viserys dise ok, bah elle a vraiment pas couché avec quelqu'un parce qu'elle aurait pas pris le risque. Mais moi, ma take, c'est qu'elle boit le truc, parce, enfin, elle boit la pilule du lendemain, là, parce qu'elle est trauma par le fait que sa mère soit morte, en couche, parce qu'elle est trauma par les risques de la grossesse dans cet univers, parce qu'elle a aucune envie que sa vie s'arrête, et je pense que Alison lui donne aucune envie de...
Deux secondes.
Je vois ce qui te fait bugger, et je suis là, je pense que, on regarde tellement pas cette décision sous le même prisme parce que toi t'es aussi dans tes deux trucs que tu sais du bouquin et moi aussi je l'essaie. Mais je suis là. J'essaye de réfléchir en in character. Ouais. Est-ce que la personne qui est Rhaenyra Targaryen à 18 ans, elle prend la pilule du lendemain? Et je suis là. Oui, évidemment qu'elle la prend parce qu'il y a rien dans sa vie qui lui donne la moindre raison de prendre le risque de tomber enceinte et d'accoucher parce que soit. Alors j'entends que c'est pas forcément
moi,
sur l'ovulation.
Le
hein,
prochain
mais...
épisode, Belly Watch.
Belly Watch. Ok. Vous savez quoi? Ok. Alors sachant que il nous reste un épisode parce qu'on l'a dit à chaque épisode, mais il y aura un time jump tellement conséquent dans cette série que les actrices qui, enfin plusieurs actrices et acteurs, notamment celles qui jouent Alicent et celles qui jouent Rhaenyra jeune,
ça on le sait depuis
changer.
Le trailer.
On le sait depuis la création de la saison, depuis c'est pas un spoil, c'est même moi j'ai pas vu les trailers, je le sais quoi.
Donc,
il va y
Alcock
avoir un changement.
Va recevoir son coup de fil de Marvel la semaine prochaine.
Voilà, et vous la verrez bientôt dans The Eternals 2. Non, du coup, il nous reste un épisode avec tout ce cast-là, et ensuite, à partir de l'épisode 6, on aura notamment des nouvelles actrices pour jouer Rhaenyra et Alicent, qui seront plus âgées, puisque l'idée c'est de jouer des versions d'elles plus âgées, parce que cette saison 1 va se passer sur 29 ans, juste la saison 1. Donc forcément, il va se passer, ou 19 ans, j'ai un doute, mais 20, non, 29, 19 c'est les dragons en tout, bref. Du coup, il va se passer beaucoup de choses. Moi, ma take, c'est que elle prend la pilule du lendemain. La take de Teki, c'est qu'elle la prend pas. Il y a une autre option où elle la, enfin, il y a deux autres options, c'est elle la prend, mais anyway, elle était pas enceinte, bon, du coup, ça change rien. Et il y a elle la prend, mais ça marche pas. C'est aussi possible. Et est-ce que si elle la prend, ça va être répété? Et est-ce que ça va nourrir la rumeur de Rhaenyra, elle s'est fait déflorer? C'est encore un autre sujet. On verra à l'épisode prochain.
Moi, j'ai du mal à...
Moi, j'ai été une fille dès adolescente tellement flippée des grossesses non voulues que je suis là, mais oui,
mais
toute option.
Tu es passée pour quelqu'un d'insensible.
Mais non, pas du tout.
Alors que
c'est juste
quelqu'un
que c'est
qui a lu les livres.
Qu'on regarde les trucs par un prisme différent, tu vois. Et en même temps, la take de, bah, elle va montrer à son père que, non, non, vas-y, j'ai pas besoin de ton truc. Ça, c'est un Rhaenyra
Moore. C'est valide.
In character, je suis là, j'y crois. On va faire une petite pause de vraiment 300 minutes. Ensuite, on revient vous parler de Azor Ahai et de ce fameux poignard plongé dans le feu. On va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram où il y avait pas mal de questions assez précises. Et ensuite, on se dira au revoir. Ok, on est là, on est hydraté comme jamais. Et on est ici pour vous parler ensemble avec Tequila Tex du prince qui a été promis. On a donc, en termes d'intro, Viserys se dit « C'est le moment de faire un nouveau point prophétie à ma fille. » En lui parlant, donc je lui ai déjà parlé de la prophétie du long hiver qui va venir et où il y aura « Il faut un Targaryen sur le trône. » Je vais maintenant lui montrer la dague familiale qui a un gimmick quand on la met dans le feu et qui raconte des choses. Qu'est-ce qu'elle raconte cette dague et qui est Azor Ahai? Et là, c'est le moment où Teki part en vrille. J'espère que vous êtes ready.
Donc déjà... Il explique que c'était la dague d'Aegon, mais qu'avant, c'était la dague... Parce que Aegon, c'était pas le premier Targaryen à arriver à Dragonstone, en fait.
Aegon, c'est le Targaryen qui a uni les sept couronnes et conquis Westeros.
C'était pas le premier.
L'arrière-arrière-arrière hein, de
c'était
Rhaenyra.
C'était pas le premier Valyrien.
C'est pas le premier Valyrien à être venu visiter, en
c'est effet. Pas le premier Valyrien qui débarque. C'est pas le premier Targaryen qui débarque. Il a un grand-père ou un arrière-grand-père, je sais pas, il y a 70 ans, je crois.
Bah, ils ont exploré quand même, quoi.
Sept générations qui arrivent avant Aegon.
Arrière.
Ouais, tu vois. Et cette dague appartenait à ce gars. Mm-hmm. Et je sais plus comment il s'appelle.
Oula, les noms.
Et
attends, il y a un arbre généalogique, on l'a peut-être dedans.
Ce gars qui était parti de Valyria juste parce qu'il y avait eu la prophétie, le doom, et qu'il sentait que ça sentait le roussi. Lui, il est parti à Dragonstone. Dragonstone, ça lui suffisait, hein. Il était très content, hein. Il était là avec sa petite famille, dans la Nar aussi, pas si loin de ça de Valyria, mais en gros, il était parti de Valyria parce qu'il sentait que Valyria, ça allait
moi,
partir en couille.
J'ai juste les parents de Aegon le Conquérant. C'est ouais. Aerion et Valena, Aerion Targaryen et Valena Velaryon. Mais je n'ai pas plus.
Donc c'est déjà à moitié Velaryon, Aegon.
Ah mais les Velaryons et les Targaryens ont bien taffé ouais. Ensemble, écoutez.
Et donc en gros, cette génération avant, elle est déjà là cette dague.
Oui.
Et ce qui explique Viserys à Rhaenyra, il lui dit Et qui sait à qui elle appartenait avant. Donc cette dague,
et là,
il est impliqué. Ça part
en couille.
Il
cette
est
dague
impliqué.
Qui cache un secret. C'est nouveau cette histoire cette, de feu.
Attention,
même.
Oui. Okay, ça, c'est, le secret, il arrive au moment d'Aegon.
Oui, ok.
Tu vois ?
Je vois.
Parce que, donc, déjà, l'information qu'on n'avait pas avant. Déjà, c'est la dague que Arya utilise pour tuer
le Night King.
Le Night King.
C'est la dague qui plante Bran, c'est la dague, enfin, qui.
C'est la dague qui plante Bran, c'est la dague
Bran
en.
Et
c'est,
qui donc, blesse c'est, Catelyn,
elle est en acier valyrien.
Tout à fait.
Exactement. Donc, elle est un peu magique, etc. Elle
a un nom, elle s'appelle Catspo. On a fait un point dague et arme avec Fab dans l'épisode précédent parce que c'était.
Très bien. Donc, les gens savent. Et en fait, là, on apprend, et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas, ni dans les livres, ni rien, ni dans le World of Ice and Fire, on apprend que cette dague, elle date de Valyria, en fait.
Elle est très, très vieille.
Elle est très ancienne, elle est ancienne, elle est avant, elle est pas arrivée avec, elle n'a pas été forgée par Aegon. Par contre, ce que Aegon a fait, c'est qu'il a fait graver sur cette dague, comme un secret qui se passe de génération en génération, il a fait graver dans cette dague la prophétie dont il a rêvé, qui est la prophétie du prince that was promised, ok?
Le prince qui a été promis.
Le prince qui a été promis, qui fait référence, selon les lectures, à Jon Snow ou à Daenerys, ok? Donc, cette prophétie, si vous voulez, le prince that was promised, en fait.
Attends, j'en profite juste pour dire, tout ça c'est de l'invention par rapport au livre, dans le sens où cette prophétie existe dans le livre, mais il n'y a pas d'idée du fait qu'elle est gravée sur cette dague. Toute cette scène où la dague, quand tu la mets dans le feu, elle révèle cette prophétie, et tout
ça,
le fait que les Targaryens soient porteurs de prophéties sur l'avenir de Westeros et un long hiver et une longue nuit, c'est des inventions de House of the Dragon. Donc nous-mêmes là, on est en terrain inconnu. On ne sait pas ça va être quoi les enjeux. On ne sait pas. On connaît la prophétie de Azor Ahai.
C'est pas vrai.
Que les Targaryens, ils sont maîtres de cette prophétie-là, tu vois.
Si. Parce que Rhaegar, il la connaît, cette prophétie.
Oui, mais Rhaegar, c'est un grand drama.
La prophétie,
un drama
la prophétie elle existe dans les livres.
Rhaegar, c'est le père de Jon Snow. Ok, rappelez-vous que le père de Jon Snow, c'est un Targaryen qui a couché avec Lyanna Stark, la sœur de Ned Stark. Et c'était un barde et un poète. Et du coup, lui, il connaissait la prophétie, mais
cette idée de
les Targaryens sont porteurs de cette prophétie de père en
fils,
enfin, d'héritier en héritier,
par la série.
N'existait pas avant.
Mais elle make sense. Elle est éclairée par la série.
Peut-être que c'est juste que Daenerys n'avait pas l'info parce qu'elle a été
exilée quand
elle était bébé.
Daenerys n'avait pas l'info, mais Rhaegar l'avait.
Ok. Donc, mais c'est nouveau, quoi.
En tout cas, voilà. Donc,
Rhaegar, c'est pas un dragon. Non, c'est Vhagar le dragon. Et Rhaegal, c'était un dragon de Daenerys.
Ouais, exactement. Donc,
on en peut huper.
Donc, Aegon fait graver par les pyromanciens. Donc les pyromanes,
magiciens du feu. Il dit les derniers pyromanciens.
Ouais.
Il y en a plus.
Mais si, parce qu'ils.
Ou alors Mélisandre.
On les voit. C'est
des cracheurs de feu, Tequila Tex.
Non, mais c'est eux qui gèrent le wildfire qui à l'époque du Mad King.
Ah oui, mais je dirais pas on les voit. Bon,
si
en fait, il y a un ordre de pyromanciens.
Ouais.
Pour moi, c'est pas pareil gérer le wildfire qui est un peu être artificiel. Tu vois, c'est le feu grégeois, donc c'est ce feu vert que Tyrion notamment utilise dans Game of Thrones. Ça, c'est du napalm.
Il
y a des gens qui gèrent ça. Et apparemment, oui. Et du coup, il y a une genre de magie du feu. En tout cas, ils ont gravé dans cette dague.
Ils ont gravé dans cette dague une prophétie qui est la prophétie du prince that was promised. Mmh. Mais la prophétie, il faut pas confondre la prophétie du prince that was promised et l'histoire dont elle est inspirée.
Oui.
En fait, la prophétie du prince that was promised, c'est pas genre, il va y avoir un prince qui était promis, c'est au-delà d'être, c'est plus que juste, il va y avoir.
En gros, la prophétie dit, il y a une histoire qui va se répéter.
Ouais, voilà, exactement.
Et du coup, il y a deux choses. Il y a cette prophétie et il y a l'histoire de base qui
l'histoire
est censée se répéter selon cette prophétie.
Qui est la
première. Comme, je sais pas, s'il y a une histoire qui dit, par exemple, une prophétie qui dit Jésus va ressusciter, y a une histoire quelque part, c'est la Bible qui dit c'est qui Jésus et qu'est-ce qu'il a fait. C'est pareil, quoi.
Mais nombreuses fois, on a parlé de Azor Ahai et les gens disent est-ce que c'est Jon Snow? Est-ce que Jon Snow c'est Azor Ahai? En fait, il y a déjà eu un Azor Ahai.
Oui,
la
Azor
question
Ahai,
c'est est-ce que Jon Snow est Azor Ahai? Est-ce que Dany
est censé se réincarner?
Et Azor Ahai reborn.
Oui.
Réincarné.
René. Et ça peut être, et ça c'était un vrai plot point dans Game of Thrones, un prince ou une princesse, puisque en haut valyrien, qui est d'ailleurs la langue que Daenerys, que Rhaenyra et Daemon parlent entre eux, qu'en haut valyrien c'est un mot neutre en termes de genre, donc le prince ou la princesse qui a été promis ou promise, c'était qui Azor Ahai?
Moi j'aimerais qu'on se pose la question de, voilà, les origines de cette de ce truc.
Oui. C'est quoi l'histoire de base?
Et aussi
l'Ancien Testament de la baille, quoi.
Et aussi de se poser la question de d'où viennent ces Valyriens? Quelle est l'origine des Valyriens? Toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont vaguement répondues dans les bouquins en mode la légende dit que, mais il n'y a pas de source écrite parce que tout le savoir qui était emmagasiné à l'époque du Doom of Valyria a disparu avec le Doom of Valyria.
Oui.
Donc, tous ces secrets-là, personne ne le sait. Or, il se trouve que, encore plus à l'est de Valyria, encore plus à l'est des Dothraki, derrière la chaîne de montagnes que les Dothraki n'osent pas franchir, derrière tout ça, et sandwiché entre ça et Ashai.
Donc tout à l'est de Essos. Tout à l'est de Essos. Il y a Westeros, et à l'est de Westeros, il y a Essos, qui est l'autre continent, en gros, qu'on connaît. Donc là, on va tout à l'est de ce continent-là. En gros, si on était dans notre monde, on franchit l'Oural, on traverse la Russie, et on arrive en Orient.
On arrive en Orient, et il y a...
un endroit dont on connaît très peu de choses dans l'univers de Game of Thrones, puisque c'est l'endroit le plus loin de Westeros, et que les gens ne sont pas curieux, finalement.
Et il y a Yiti, dont on a déjà abordé, qu'on a déjà abordé, oui. Donc, puisqu'il il risque d'y avoir un spin-off animé au sujet de Yiti qui va arriver. Yiti, c'est l'équivalent de la Chine. C'est un empire, the Golden Empire of Yiti. Donc tout est en or. Il y a des empereurs. Ça ressemble à la Chine médiévale, quoi.
La Chine, but make it gold.
Ouais, ça ressemble à la Chine médiévale. Il y a un Japon qui est Leng, la ville de l'endroit de tous les mystères, etc.
Ouais, beaucoup de fuites, toutes les magies, etc. De compétences.
Ouais, parce que les maesters, ils savent pas trop ce qui se passe dans cet endroit-là, donc ils disent ça en plein de mystères, de machins, de trucs. Bon. Alors que final, bon bah c'est une société qui existe avec des gens que tu trouves sur les marchés,
Ce regard très colonisateur, ouais, très occidental. C'est des choses mystérieuses
exactement,
et tout.
Exactement. Mais
alors que si tu demandes à un gars d'IT, il sera là, frère, c'est de la poudre à canon et du café,
ouais,
tranquille.
Et puis comme quand Daenerys se balade sur les marchés à Quartz ou à je ne sais quelle ville d'Essos, elle en rencontre des gens de IT.
Oui. Donc c'est pas des gens légendaires qu'on ne voit jamais. C'est juste les gens de Westeros, c'est tellement loin que c'est très alien, quoi.
Ils existent. Et donc ils ont cette civilisation. Cette civilisation, elle s'est fondée après ce qu'on appelle la Long Night. Ok. Donc elle est ancienne, de ouf.
Oui.
Genre pré First Men, etc. Pré invasion des. Enfin, elle est. Non, elle est pas pré-First Men, mais elle est pré...
Invasion des Andals.
Ouais, elle est pré-invasion des Andals.
Ça, c'est des trucs que je vous fais pas le contexte, vous irez.
Mais voilà, elle est ancestrale, quoi. Elle est ancestrale, cette...
Attends, je mets juste l'orthographe de Yiti, parce qu'il y a quelqu'un qui était sur Iti. C'est Yiti, Yiti.
Et donc, cette civilisation, aussi ancestrale qu'elle soit... Elle estime être l'héritière d'une civilisation encore plus ancienne. Alors, vous
et
suivez
là,
bien.
J'espère que vous suivez. Parce que là, on n'a pas pris la bretelle de sortie. On va prendre un virage, il va être serré. Accrochez vos ceintures. Vous allez rester focus. On y va. OK?
Donc, il y a le Golden Empire of Yiti. Mais avant ça, qui englobe tout un pan de désert, tout un truc, jusqu'à Ashai à Yiti en passant par Leng et toute cette partie extrême est de la carte des sauces, jusqu'au Shadowlands. Cette partie-là, avant, c'était un seul et même empire qui s'appelait The Great Empire of the Dawn, le grand empire du crépuscule. C'est ça?
Dawn, c'est l'aube. Crépuscule, c'est dusk.
Ok. From Dusk Till Dawn.
Mais en même temps, le soleil se lève à l'est.
Ouais, d'accord, donc, oui. Donc, le grand empire de l'aube. Excusez-moi. Le grand empire de l'aube.
Faites des vannes sur les reptiliens et tout dans le chat, mais on y arrive. Vous êtes prêts, hein. Ouais. On est en route, là. On est en route vers les chapeaux en alu et les complotistes. Ouais, ouais. Ça part.
Mais, bref. Y a,
grand empire de l'aube.
Il y a quand même des éléments, des preuves d'existence de ce grand empire de l'aube, qui a été rasé pendant la longue nuit. Mais il y a quand même des preuves. La légende dit que ce grand empire de l'aube, il a été créé par, il a été fondé par un premier empereur qui serait The Pearl Emperor, qui se baladait dans un carrosse fait d'une seule perle géante.
Grosse perle. Grosse
creusée
perle.
Dans une perle géante. Et qui, voilà. Donc, lui, il arrive des cieux, a priori.
C'est fou ou pas ?
Il arrive des cieux.
Vous voyez le chemin tranquille qu'on est en train de prendre.
Et ça c'est on sait pas, c'est légende, c'est on sait pas. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah non mais on sait pas, on sait pas.
C'est non mais c'est comme Rome a été fondée par les dieux, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Genre voilà, on sait pas.
Ouais.
Cet empereur
perle huître homme poisson. Une huître géante qui fait une perle géante.
C'est pas faux.
Des hommes poissons géants.
C'est pas faux, on est pas là.
Bravo le rôdeur, je vois qu'on suit. On suit bien dans le
fond. Donc, le premier empereur, il s'appelle le Pearl Emperor. Et ensuite, il y a toute une série d'empereurs. Donc, il y a The Jade Emperor, The Amethyst Emperor, il y a The Tourmaline Emperor.
Mais sur un thème
c'est
un
la
peu
descendance,
luxe,
c'est la descendance du Pearl Emperor. Et le Pearl Emperor, il va régner pendant 1000 ans.
Ah, c'est,
tu vois,
longtemps, quoi.
Ouais, il vit longtemps.
C'est fou, hein.
C'est un alien, hein, il vient des cieux. Okay,
non, mais vraiment,
tu c'est viens un de ange, dire
c'est un alien.
C'est un ange.
Moi, ça fait trois fois que je dis aux gens, préparez-vous, on y arrive.
Non, mais et c'est un ange.
Il n'y a pas de moment où tu as dit, on parle d'alien. On est sur une théorie.
Non, mais on sait
des
pas, il est mythique. Il a peut-être jamais existé.
Des cieux.
Il a peut-être jamais existé. Il a peut-être fait semblant que, voilà, c'est
mais
peut-être...
on est sur une théorie de, il y a des êtres descendus des cieux qui ont créé la vie, qui ont apporté la vie quelque part. Et toi, t'es en mode, ouais, c'est un alien.
Ouais, ils ont créé cet empire. Ils règnent pendant 1000 ans. Ils règnent pendant 1000 ans. On est dans un monde où il y a des dragons et des...
Il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai dit quelque chose ? J'ai rien dit.
Et des géants, il peut y avoir des...
Je t'accompagne, je mets du contexte.
D'accord.
Je traduis pour les gens.
D'accord,
je
d'accord,
n'y
d'accord,
crois
d'accord,
pas,
d'accord.
Mais je n'ai rien dit pour l'instant.
Bon, en tout cas, le Great Empire of the Dawn, voilà, commence dans la lumière. Parce qu'en fait, il est l'émissaire de la Maiden of Light.
La demoiselle de la lumière.
Ce Pearl Emperor, ok? Dans cette religion, dans cette mythologie,
ouais.
Il y a, tout comme chez le Lord of Light, là, il y a le Lord of Light,
donc
il y a le Great
of Light,
Other.
C'est celui que Mélisandre vénère, il y a le Lord of Light, de la lumière, et l'ennemi.
Ouais, l'autre.
Qui est l'ombre, finalement.
Voilà. Et ben là, ça se traduit dans ce coin-là des sauces.
C'est Rlor.
Chez Rlor, c'est ça. Dans ce coin-là des sauces, ça se traduit par The Maiden Made of Light and The Lion of Night.
Le lion de la nuit.
Voilà. Donc l'ennemi, c'est le lion de la nuit.
C'est les Goa'uld, en fait.
Et donc, eux... Et donc voilà. Donc là, il règne pendant 1000 ans. Et ensuite, sa descendance, à chaque fois, le règne est plus court. Jusqu'à une impératrice dont la pierre précieuse m'échappe, qui se fait trahir et poignarder par son frère. Son frère qui s'autoproclame Bloodstone Emperor, l'empereur de la pierre de sang. Et cette Bloodstone Emperor, lui, il vénère il vénère pas la Maiden of Light, il vénère une pierre tombée du ciel.
Et là, on est dans les anciens astronautes.
Et là, on est
à Planétos.
En fait, il y a un météore. Ce serait un météore.
Et c'est lui, Azor Ahai.
Non.
Mais on parlait de Azor Ahai, frère.
Il est pas encore là, Azor Ahai. Il est pas encore là.
Attendez,
on avait promis.
Perdus.
Non, on avait promis du lore, on va leur donner du lore. Donc, et t'as ouvert cette porte, tu peux plus la refermer maintenant. Désolé.
Je suis pas parti pour la refermer. Moi, j'ai ouvert la porte, il y a du Mistral, j'ai mis un cale-porte pour qu'elle reste ouverte.
Je te promets que je vais aller vite.
T'inquiète.
Je te promets que je vais pas rentrer dans les détails.
Moi, je me lève pas demain.
Donc, le Bloodstone Emperor, il est corrompu. Il est méchant. il a tué sa hein, il veut laisser rentrer les démons dans le Golden le pas le Golden Empire, ça c'est autre chose, dans le Great Empire of the Dawn.
Oui.
Donc bon, il y a le Great Empire of the Dawn. En gros, c'est le Bloodstone Emperor qui va créer la Long Night.
OK.
En faisant je ne sais plus quel acte contre nature.
Oui,
il va déclencher la Long Night qui va faire rentrer les démons dans le l'empire, le Great Empire of the Dawn.
OK.
Pour repousser ces démons, cette civilisation ancestrale et alors ce qu'il faut savoir sur le Great Empire of the Dawn, c'est qu'ils sont méga avancés en fait.
Oui.
Et ils ont un savoir
mais
de
tout
ouf.
Comme des fois tu lis des trucs sur la Chine du 13e siècle
ouais.
où limite les gars ils sont pas en train de sauver des mails, tu vois. Et t'es là
ouais.
nous vraiment on se baignait dans la boue à l'époque.
Ouais,
donc, franchement.
Ouais.
Pour
ils
des
sont méga
colons
en
occidentaux, on aurait pu se détendre en termes
comme
d'audace.
Comme égyptiens, comme ceci,
voilà.
comme cela.
C'est des fois
tu
t'as des trucs de civilisation qui sont là, mais et
là
par
où
exemple,
partout dans le monde
les
c'est
Romains,
des hommes préhistoriques, et ben dans certains
ouais.
endroits c'est déjà une civilisation.
Grave.
Donc là, le Great Empire of the Dawn sont méga avancés dans la science et dans la magie. Ok. Et pour repousser tous ces démons, ils vont construire une grande muraille de Chine, similaire au wall.
Au mur, tout à fait.
Et faite de pierre noire fused black stone.
Donc fondue de alors, pierre noire fondue
ouais.
soudée quoi, c'est ça.
Ouais,
soudée entre elles par chaleur.
Soudée par chaleur.
Genre. C'est bien bien collé. Quoi.
Donc pour que ce soit soudé par chaleur, il faut qu'il y ait des dragons. Ok.
Parce que c'est déjà, tu vois, là t'es déjà en train de faire un saut logique. Qui t'appartient dans le sens où on peut se dire bah ils sont super forts en magie et super technologiquement avancés, ils ont peut-être inventé des trucs pour souder des pierres entre elles, tu vois.
Ouais.
Mais
okay. Or,
vous voyez, c'est comme ça qu'on finit dans les spirales des théories.
Non,
c'est
mais
qu'on affirme des trucs comme si c'était genre évident, genre bah pour souder les pierres, il fallait des dragons, alors que pas du tout, peut-être qu'ils avaient autre chose, mais c'est pas grave. Donc mais oui, pour dans cet univers a priori pour souder des pierres, il faut des dragons.
Or, pour souder des pierres, il faut des dragons parce que comment parce que et en plus de ça, on a la preuve qu'il y a déjà des dragons à Ajaï et à Stygiai.
Oui.
Les
dragons
gens
ne
disent
sont pas une invention Targaryen, ils existaient avant. Hein, pour
les dragons existent avant les Targaryens. Ça, c'est une question qui se pose. Mais en l'occurrence,
ah pour moi, c'était sûr qu'ils existaient avant, mais qu'il y avait une forme de. Mais c'était pas genre ils ravageaient le monde entier. C'est
ouais.
juste il y en avait moins quoi.
Ouais. Donc en fait, tout ça implique. Sous-entend que dans le Great of Empire of the Dawn, on déjà domestiqué les dragons. Ok ?
Si on veut, oui.
Plausible.
Plausible.
Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'origine des dragons à Valyria ? C'est qu'à un moment, comment les Valyriens sont passés de
juste des gens.
De bergers, des bergers.
De juste des gars, quoi. Oui, des gars en plus pas de la haute, quoi. Des campagnards,
ouais,
on va dire.
Une tribu de bergers. Comment sont-ils passés à...
On est les plus grandes dramatiques bitches du royaume et on a des dragons. Car on a des dragons.
Exactement. Question. La réponse à cette question... Enfin, la légende, ce que les maîtres disent à ce sujet, c'est que des mages de l'Est seraient venus leur expliquer comment apprivoiser les dragons, etc.
Et comment qu'ils auraient
Attends. Donc là, on revient dans le Great Empire of the Dawn.
Ouais.
Le Great Empire of the Dawn, en gros,
ouais.
c'est déjà les premiers Dragon Riders. Puisqu'ils sont déjà en train de fondre des murs pour créer le
oui.
truc.
Donc, ils ont des dragons, déjà,
ils ont des dragons,
chez eux,
ils ont des dragons,
aussi.
Ils ont des dragons.
Ça se tient. Moi, je suis
d'aucun
dirait
qu'ils fondent Ajaï à ce moment-là, parce que Ajaï, on sait pas trop d'où elle vient, cette ville. Et
side story.
Voilà.
Vous l'aurez dans
ouais.
le DLC de ce podcast, c'est faux.
Et c'est là, et les dragons viennent à peu près de là, en gros.
Oui.
Donc, les premiers à, ce sont des magiciens, ce sont des, voilà. D'ailleurs, petit aparté.
On va aller vite sur l'aparté.
Dans le bouquin, Daenerys, dans Game of Thrones, Daenerys à un moment fait un rêve où elle est entourée de ses ancêtres. Et on dit que ses ancêtres, on estime que ses ancêtres sont des Valériens, mais mais ils ont les yeux des mêmes couleurs que les empereurs de l'Empire of the Dawn. Ok. Et spécifiquement cité améthyste, tourmaline.
Oui, parce que dans les bouquins, les Targaryens ont les yeux violets, vraiment. Genre les yeux mauves, ça revient beaucoup, et c'est les seuls à avoir ces yeux-là.
Genre des yeux de couleur améthyste, tourmaline, jade, machin, tu vois.
Ouais. Tous les yeux pierres précieuses.
Les yeux pierres précieuses. Mais avec du rouge, du bleu, du jaune, du jaune, c'est les ancêtres qui apparaissent en rêve.
Je vous ai dit, ils ont une dégaine de héros de shoujo manga, et c'est vrai, hein. Quand j'étais gamine, je lisais des shoujo, et c'est très bien les shoujo, et il y avait beaucoup de gens aux cheveux argentés, aux yeux mauves, et j'étais là, waouh, ouais, c'est trop cool, hein. Après, j'ai essayé d'avoir les cheveux argentés, c'est compliqué, ça coûte cher.
Mais en tout cas, on estime que c'est les Valériens, mais est-ce que les ancêtres des Valériens, ce serait pas The Great Empire of the Dawn?
Et c'est quoi le rapport avec Azor Ahai?
Le rapport avec Azor Ahai, c'est
et ce
comment
couteau dans le, tu vois, c'est à la base comment on a Viserys et Rhaenyra avec un couteau dans le barbecue.
Bon, il y a une...
c'est là qu'on arrive tranquillement.
Il y a une histoire, il y a une histoire. En fait, Azor Ahai, il aurait vaincu. C'est un héros qui, à l'aide d'une épée, Lightbringer, aurait vaincu The Lion of Night, aurait vaincu les démons et aurait mis fin à la longue nuit, la première longue nuit. Donc la prophétie veut...
Mais toujours au prix de tuer quelqu'un qu'il aime, non? Il y a toujours cette idée de
il
sacrifice.
Oui, il doit... En fait, Lightbringer, il doit plonger Lightbringer dans le cœur de son...
De Nissa Nissa. Donc en gros, Azor Ahai, qui est un héros combat des puissances maléfiques, pour avoir une arme assez puissante pour les tuer, il doit forger cette arme, il n'arrive pas à la forger, et la seule façon de la forger et de faire tenir le métal, c'est pas de la plonger dans de l'eau, mais de la plonger dans le sang de sa bien-aimée Nissa Nissa. C'est ça la légende de Azor Ahai. Et alors, il faut dire, parce que les gens se demandent, tout ça, en effet, ça vient pas des livres Le Trône de Fer, Game of Thrones, Song of Ice and Fire. Ça vient beaucoup de A World of Ice and Fire, qui est un autre livre qui est beaucoup plus, qui est de George R. R. Martin, hein. Tout ça est canon, on n'est pas en train d'inventer et de, alors il y a de la théorie dans tout ça, mais tous les faits sont vrais, quoi. Est-ce qu'il y avait le Grand Empire of the Dawn? Oui.
Oui.
Est-ce qu'ils avaient un mur en pierre fondue? Oui. Tout ça, on l'invente pas. Mais c'est dans World of Ice and Fire beaucoup plus que dans Game of Thrones, où ça va être plus des Tyrion entend quelqu'un dire « Ah, il paraît qu'il y a encore le mur de pierre fondue », et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est donc, de là qu'on vient, en termes de sources.
Donc en gros, le mur de pierre fondue sert à être une preuve de l'existence de cette société ancestrale.
Et des dragons.
Haïti, tu vois. Et des dragons. Et de la présence de dragons à Essos. Donc la théorie, ça serait que il y a eu la première longue nuit qui a détruit au final le Great Empire of the Dawn. Mm-hmm. Certaines personnes qui auraient survécu à ce Great Empire of the Dawn auraient eu vent du fait que la longue nuit pourrait se reproduire.
Mm-hmm.
Et sont allés chercher des bergers, à Valyria pour leur transmettre le sang des Dragon Riders, pour leur transmettre le savoir de l'apprivoisement des dragons, pour qu'un jour ils soient capables d'aller encore plus à l'est, à Westeros, pour empêcher la deuxième longue nuit d'avoir lieu.
Dingues. Et au final, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est des prophéties qui se réalisent un peu. Parce que si c'est ça la prophétie, bah à la fin, il y a des Targaryens qui ont été jusqu'à Westeros, et il y a des Targaryens en la personne de Jon Snow et Daenerys, entre autres, qui ont empêché une deuxième Long Night d'arriver. Donc tout ça, c'est des prophéties qui se réalisent, mais comme toutes les prophéties, le message dans cet univers, c'est toujours à la fois... fais attention à ce que tu souhaites, tu vois. Be careful what you wish for, parce que ça peut arriver, mais avec beaucoup d'ironie du sort. Et parfois, les prophéties sont traîtresses, elles sont informes, elles sont imprécises, et souvent, elles se réalisent d'une façon un petit peu cruelle et un petit peu inattendue, au lieu d'être juste, il y aura un héros Targaryen avec une épée enflammée qui va sauver tout le monde et tout le monde sera content, quoi.
Il y a une encore plus deep strat de cette théorie. Parce qu'en fait, dans Song of Ice and Fire, Azor Ahai a plusieurs noms. Hyrkun the Hero.
Là, je suis perdu même moi.
Un nom qui ressemble à E.T. mais qui n'est pas E.T.
Ok.
Et un nom qui ressemble à Leng mais qui n'est pas Leng.
Ok.
Et un nom d'une
ville. Là, on est dans les théories, mon gars. On est sur YouTube dans des vidéos d'une heure 46.
Et un nom d'une ville en haut des sauces. Et donc, et aussi Eldrick Shadow Chaser. Rien à voir avec les.
Là, vous l'avez si vous aimez.
Rien à voir avec les autres noms. Mais si tu regardes la carte, si tu fais. Donc, il y a ces cinq noms qui sont alias de Azor Ahai.
Oui.
Qui correspondrait au fait que l'empire étant éclaté après la Long Night, chaque civilisation qui naît de cet empire mort crée son propre truc, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Irkun, donc ça correspond à Irkun the Hero. Il y a une autre ville qui porte le nom d'un autre truc, nanana.
C'est un peu comme si genre Zeus y mourait et qu'on avait quatre villes différentes qui s'appellent Zeus mais en différentes langues. C'est un peu
ouais,
ça
exactement,
l'idée.
Un petit
et
peu.
Et ça donnerait l'idée de ah en fait toutes ces villes on pensait qu'elles viennent de sociétés de civilisations différentes mais on s'est rendu compte qu'elles veulent toutes dire Zeus dans leur langue et du coup elles se font toutes référence à la même mythologie. Donc peut-être qu'il y a un point commun à toutes ces villes là.
Mais
un peu
sur
l'idée.
Les cinq trucs, il y en a quatre où tu sais clairement genre. Il y en a un, c'est clairement genre Yeti. Il y en a un, c'est clairement Hirkun. Il y en a un, c'est clairement machin. Et après, il y a genre, au milieu, il y a Eldrick Shadow Chaser. Genre, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois?
Il
est chelou. Et c'est genre.
Oui, c'est comme si au milieu, t'avais Chasseur de Voldemort, quoi. C'est un peu genre. Qu'est-ce que ça fout
là? Et je pense
là,
que et il y a un mec sur YouTube qui te rattache ça à Westeros de manière impeccable.
Mais évidemment, il y a un mec sur YouTube.
Il y a un
Alors,
mec sur YouTube.
Il y a deux épisodes, on vous avait mis dans la description, enfin, non, l'épisode précédent, du coup, avec Teki, en tout cas, on vous avait mis dans la description les recos chaîne YouTube de décryptage.
Ouais, bah là, j'en rajoute une,
c'est, théorie.
Et je pense que quelqu'un en avait déjà parlé dans le chat, c'est Lucifer Means Lightbringer. On lui fait vraiment des trucs.
Incroyable,
méga fat. Alors, donc lui, en gros, t'explique que les Hightower et les, Dane.
Mm-hmm.
Qu'en fait, Dane.
Donc, les Hightower, c'est la famille de Otto. Ok. Et Dane.
Qu'en fait, Dane, ça vient de
Dawn. Oui, bah oui, je vois bien.
Et Dane, ils ont Lightbringer, en gros.
Attends, Lucifer means Lightbringer. J'arrive pas à noter et à animer
et à
t'écouter
en même
temps. Et à rire en même temps. Ok. Attends, il faut revenir sur Azor Ahai parce que les gens sont perdus. Les gens sont là en mode, attendez, mais la prophétie sur la dague, c'est pas Azor Ahai. Je suis perdu, ça y est.
La prophétie sur la dague, c'est pas Azor Ahai. La prophétie sur la dague, c'est.
La réincarnation.
C'est la Long Night va se reproduire.
Oui.
Et il faudra une réincarnation d'Azor Ahai. Et la logique veut que, ce sont des démons de glace qui vont arriver et qu'on le sait puisqu'on l'a vu dans la série que c'est seul le Dragon Glass peut les battre, que seul le feu des dragons peut les battre, nous allons créer une civilisation dragonnière pour qu'elle arrive à Westeros, pour qu'elle puisse sauver l'humanité de ces démons, une nouvelle fois.
Voilà le TLDR que vous attendiez de pourquoi Teki vous raconte tout ça. C'est parce qu'en gros, l'idée, c'est que les Targaryens ont été littéralement créés par peut-être des aliens, peut-être pas des aliens, mais en tout cas, ont été créés par des gens qui savaient qu'un jour, il y aurait des ennemis de glace et qu'il faudrait.
Donc, ils ont été créés dans un but, en fait.
Une civilisation, une société, un peuple magie de feu pour les combattre. Voilà, c'était ça, bam! Ça marche, j'ai envie de lâcher mon micro, mais il est pas à moi.
Ça marche, non?
Bien sûr, ça marche. C'était incroyable. Merci pour. Est-ce que tu veux te faire un nouveau jingle de points? Ça peut être le point prophétie. Ça peut
Empire
être...
of the Dawn. Non, je vais trouver. Pour la prochaine fois, je trouve.
Bien sûr, on aura un point Teki en général la prochaine fois. Ok, on est bientôt à la fin de ce contenu. Ne vous inquiétez pas. Je vais vérifier s'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu.
Ouais, attends. Est-ce que ça réagit comment ça? Je veux savoir.
Ah, ça réagit alors. Ça dit Pololo. Je comprends mieux quand Teki a dit faut que j'aille dans ma zone. Ça se tient. Tout ça pour que Arya leur sauve le cul. Mais pourquoi créer des Targaryens? Bah pour avoir des gens qui peuvent chevaucher des dragons pour battre la menace de glace. C'est très.
Arya leur a sauvé le cul avec une dague en verre dragon. On est d'accord. En acier valérien. Donc une dague qui vient des Valériens. Il y a quand même ce besoin de culture valérienne.
Okay. En gros,
derrière.
L'idée, c'est il y a très longtemps, une civilisation a vu qu'un jour il y aurait une menace qui vient de la glace et de la nuit. Et cette civilisation, c'est un peu genre. Ouais, okay. Cette civilisation a déjà vécu
quelque chose de similaire.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'elle a peur. Et du coup, elle se dit, on va faire en sorte qu'il y ait une société de gens qui maîtrisent le feu pour se battre contre une menace qui va venir de la nuit. Et du coup, ils ont repéré les gens de Valyria qui, à l'époque, étaient juste des bergers. Et ils en ont fait une civilisation Alors, on sait pas exactement comment, mais par magie, entre autres, ils en ont fait une civilisation capable de chevaucher des dragons dans l'idée qu'un jour, dans très longtemps, il y aurait le Night King et qu'il faudrait bah, des armes dragonesques et enflammées pour venir à bout d'une telle menace. C'est ça l'idée, c'est que les Targaryens ont
été créés par design, pour aller contre la ice.
Alors, en termes de questions, est-ce que Otto a aussi un réseau d'espions secrets? Donc, on est back to House of the Dragon, Otto Hightower.
Ben, en l'occurrence, c'est
Otto a en tout cas une source, qui est Misaria, ou en tout cas un envoyé de Misaria. On ne sait pas si c'est exactement de qui est la personne qui gère ses petits oiseaux à lui. Mais en tout cas, il y a pas encore de réseau d'espionnage étendu dans le Red Keep, mais il y a Otto qui prend des actes clairs pour surveiller des gens et récolter des informations. Donc peut-être qu'il a un réseau d'espions qu'on ne connaît pas encore. Pourquoi Rhaenyra parle au Valyrien avec Daemon et pas avec Viserys? C'est une bonne question parce que je pense qu'on n'a pas la réponse. Donc il y a une langue qui s'appelle au Valyrien, que les Targaryens parlent, que les dresseurs de dragons, donc ceux qui surveillent les dragons dans la grande fosse là, dans Fosse Dragon, ils parlent aussi. C'est la langue qui parle avec les dragons pour les calmer et tout. Et que, à part ça, personne d'autre à Westeros ne parle. Et effectivement, normalement, tous les Targaryens le parlent, mais Rhaenyra ne le parle pas avec son daron. Mais elle parle au Valyrien avec Daemon.
Parce que moi je l'interprète comme le daron, il est whitewashé un peu.
Ouais.
Il est Faith of the Seven friendly, tu vois. Il aime pas l'inceste, il veut pas contrarier l'establishment, la religion dans le pays qui sur lequel il règne. Mm-hmm. Donc du coup, il s'en bat les couilles de parler valyrien. Même s'il pourrait, il le fait pas.
Et oui, pour il moi, a le pas élevé sa fille.
Sa relation avec sa fille, c'est pas ça. Alors que, quand ils sont entre nazis.
Voilà. Entre blondinés. On est là, on est entre nous, bien sûr.
Quand ils sont un peu fierté targaryenne.
Ouais, ouais.
Donc Daemon méga fierté targaryenne, Rhaenyra méga fierté Rhaenyra en tout cas en joue quand elle.
En gros c'est les gens un peu chauvins de ta famille quoi.
Ouais exactement. Et ben en fait Rhaenyra elle c'est un caméléon dans cette situation. Quand elle parle avec l'un elle s'adapte à l'un, quand elle parle avec l'autre elle s'adapte à l'autre. Quand elle passe avec son tonton raciste elle joue le jeu. Quand elle parle avec son daron libéral elle joue le jeu.
Mais tu vois, c'est incroyable comme allégorie. Parce que moi, j'allais utiliser l'allégorie, que je connais bien, parce que ma mère est marocaine, des parents immigrés qui parlent ou parlent pas la langue de leur pays c'est d'origine, vrai. Et des enfants qui finissent par être, justement, par pouvoir jouer plusieurs rôles. Et pour moi, voilà, c'est un peu genre Viserys, il a pas parlé aux Valyriens, à Rhaenyra, parce qu'il voulait s'intégrer dans la société de Westeros. Rhaenyra, elle parle aux Valyriens parce que tous les Targaryens apprennent le haut Valyrien. Et en fait, Daemon et elle, ils sont plus attachés à la famille Targaryen que Viserys, en tout cas, de façon superficielle, oui, au symbole un peu superficiel de la famille Targaryen. Et du coup,
il y a des nuances en fait, à ça, parce que Viserys, il a quand même le...
Ouais, mais il a la prophétie, il a le poignard, il a le modèle.
Oui, il a
Valyria,
le modèle de Valyria, il est quand même attaché à ça.
C'est pour ça que je dis peut-être de façon plus superficielle.
Ouais,
en tout cas, ils sont plus dans la représentation de « Regarde, on est différent de vous ».
Ouais.
Et on est la famille Targaryen, tu vois. On traîne pas avec vous, on n'est pas exactement les mêmes. Du coup, ouais. Entre nous, on parle une autre langue. Et je pense que ça vient aussi, en tout cas, côté Daemon, où c'est peut-être un peu plus conscient, de c'est bien si les gens savent pas ce qu'on se raconte. Tu vois, c'est pas. Lui, il sait aussi que la gamine, elle commence à être à l'âge où il va vouloir mettre son zob dedans. Et peut-être qu'elle, elle sait un peu qu'elle est à l'âge où elle va avoir envie de tenter son tonton, ce qui est une phrase que je prononce dans ma vie grâce à House of the Dragon. Et du coup, bah, ils ont plus intérêt à ce que personne ne
tente. Tenter son tonton.
Tenter son tonton. Ça va peut-être être le titre de cet épisode.
Waouh!
Attends, tenter son tonton avec Tequila Tex. Est-ce qu'on n'est pas sur un truc, tu vois, qui rebondit comme ça, là? Une petite.
C'est dégueulasse ce que tu dis.
Ouais, ouais,
mais,
ouais. Désolé d'avoir mêlé ton nom à tout ça.
Je pense qu'il y a aussi ce côté, ils savent qu'ils sont espionnés.
Oui, oui aussi, ils sont à la cour. Alors Daemon a assez d'expérience de la cour et je pense que Rhaenyra aussi.
Et ils ont raison.
Pour savoir qu'il se passe des Zumba. Alors question intéressante, on va pas s'y appesantir de ouf.
Des pitreries.
Je pense que des Zumba, pitreries et autres funambuleries. Je pense qu'on va finir par en reparler parce que ça fait référence à une théorie que j'aime beaucoup. Il y a Lunart qui m'a demandé, avec la scène de fin, donc la scène où le maître amène le thé abortif à Rhaenyra, je me dis que les maîtres doivent être quand même sacrément dans la confiance et la confidence. Alors c'est pas faux, parce qu'effectivement c'est une info importante qu'a le maître à ce moment-là d'apporter une pilule du lendemain à la princesse, et en même temps il soigne déjà le roi qui est malade sans que personne le sache, en tout cas pendant longtemps personne le savait. Il y a une théorie de complotiste. Alors c'est pas une théorie qui est interne au bouquin. Il y a pas des gens dans Westeros, dans House of the Dragon ou quoi qui croient ça, mais c'est une théorie des lecteurs et des lectrices qui, en gros, c'est la grande Meister conspiracy. L'idée, c'est qu'il y ait un genre de franc-maçon, enfin de volonté secrète des maîtres qui savent beaucoup de choses, qui sont au contact de tous les puissants, qui sont peut-être un peu dans une dynamique de garder le bien du royaume et de lutter contre des aberrations comme l'inceste et les dragons et la magie, et de plutôt amener Westeros vers quelque chose qui est basé sur la science et la médecine, et du coup qu'il y aurait des maîtres qui travaillent entre eux pour faire tomber les trucs liés à la magie et faire monter les choses liées à la science et la médecine, puisqu'en plus, bah, c'est leur pouvoir, c'est là où ils excellent. Un Targaryen, il va jamais respecter un maître plus qu'à un certain niveau, parce qu'au bout d'un moment, un Targaryen, il est magique. Donc il sait qu'un maître, il va lui parler de trucs physiques qui concernent les gens normaux, mais que ça va pas vraiment le concerner, lui, le Targaryen. Alors s'il y a plus de Targaryen, il y a plus personne de magique, il y a que des maîtres, et ben bah, à la fin, les maîtres, c'est les chefs. L'état de l'hôpital public en France montre qu'il suffit pas d'être médecin pour être chef du pays. Mais c'est la logique derrière la grande Meister conspiracy. Et du coup, effectivement, c'est bien de savoir que, alors, je suis pas en train de dire c'est vrai, c'est pas vrai. Je l'ai découvert assez récemment, cette théorie, donc je l'ai pas encore creusée, mais je l'aime bien, déjà de base. Mais c'est assez intéressant de se rappeler.
Tu veux qu'il y ait plus de magie, c'est ça?
En vrai, t'aimes bien cette théorie. C'est pas ce qui m'intéresse.
T'aimes bien
plus,
cette théorie parce que tu
veux. Oui, j'ai de la magie.
Moi, je veux du rationnel et pas des pierres magiques. Du coup, évidemment, je veux qu'il n'y ait plus de magie. Du coup, j'aime bien la grande Meister conspiracy. Donc, c'est bien de savoir que, serment d'Hippocrate et secret médical ou pas, Jimmy le mouton, il y a les maîtres qui savent beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses. En vrai, il y a des servantes, il y a des gars qui vident des pots de chambre. Enfin, il y a énormément de personnel, en vrai, auprès des nobles. Donc, tout comme dans la vraie vie, il y avait énormément de personnel auprès des nobles au Moyen-Âge. Il faut aussi accepter qu'il y a plein de gens qui vont rien dire parce que juste, ils vont mourir s'ils disent un truc. Donc. J'ai une dernière question, et après on va se dire bye bye, de ma petite sœur, qui m'a envoyé un audio, et je lui ai dit, ok, est-ce que je peux reveal l'audio en live et l'écouter avec tout le monde? Et elle m'a dit, oui, ça va, je dis pas des dingues. Donc on va voir. Elle avait une question sur l'épisode.
Je te fais un audio, parce que, en gros, c'est hyper compliqué à écrire. Et je veux dire, toi qui as vu tout Game of Thrones et qui connais House of the Dragon, genre, qu'est-ce que t'aurais aimé changer ou voir différent dans Game of Thrones? Avec les événements qui sont passés avant. Genre, imagine, tu vois, un truc de fou, genre, enfin, un truc à la con, genre, j'aurais aimé que dans House of the Dragon, il y ait tel truc qui se passe pour que, en fait, dans l'univers de Game of Thrones, genre, il y ait, je sais pas, plus du tout de dragons, ou qu'on garde les dragons, ou que Jon Snow qui pue la merde, il n'existe jamais, ou genre des trucs comme ça.
Bonne question.
Qui pue la merde. C'est une excellente question, j'aurais dû l'écouter avant pour y réfléchir mieux. Mais du coup, je me dis, on va peut-être la garder pour la prochaine fois. Comme ça,
ouais,
on a le temps
bien
d'y penser. Parce qu'en vrai, c'est une très bonne question. Et comme House of the Dragon amène, voilà, ces idées de, en fait, les Targaryens savaient des trucs. Et c'est des idées qu'on, nous, on, voilà, dans, en fait, dans Fire and Blood, je sais pas pourquoi je vous le montre à chaque fois, juste pour prouver que je l'ai. Mais bon, dans Fire and Blood, le bouquin qui a inspiré House of the Dragon, par exemple, il y a pas cette idée de les Targaryens ont l'info pour la Long Night et le Night King. Donc le fait de la porter dans la série, c'est là, ah ok, bah ça rapporte un relief supplémentaire à Game of Thrones. Du coup, c'est une très bonne question, merci Doudou, et on va y réfléchir et y répondre, peut-être prendre un peu le temps d'y répondre en ayant révisé la prochaine fois. Qu'est-ce que t'en dis?
We know. Believe in the words. Concentrate.
Je l'adore. Je l'adore.
Une série de
la fameuse la, série la, Willow.
Deuxième Willow, la suite de Willow qui arrive. Moi, j'ai rematé Willow et c'est pas si mal.
Écoute, si tu le dis.
Et il y a le premier morphing.
Ok, entre Willow et Only Murders in the Building, les gens regardent quoi?
Only Murders in the Building. Par contre, entre Willow et Rings of Power, j'ai bien peur que la réponse soit Willow.
J'ai tellement hâte. On va peut-être vraiment faire une discussion à un moment sur Rings of Power, parce que je pense que
on va faire une discussion sur Rings of Power.
On va être chaotique énergie, quoi. Pire que là.
Moi, je suis arrivé chez toi, Mimi, en me disant, putain, en fait, j'ai envie de parler de la saison pizza de Chef's Table, en fait.
Ah, moi, je regarde pas Chef's Table. Mais ça m'a donné envie quand je t'ai vu regarder et hyper ça en story.
Aïe, c'est tellement bien. Et puis, c'est tellement tout le temps pareil à chaque épisode.
Il est salé. Écoutez, on va
mais
se dire au revoir.
C'est bien quand même.
Merci d'avoir été là, Tequila Tex. Quel plaisir.
Merci.
De
ah
te
putain.
Retrouver.
Alors là, j'ai donné. Hein. Aujourd'hui, j'ai beaucoup donné.
Ah ouais,
hein.
Ouais,
parce
ouais,
que franchement, je pensais pas arriver à être cohérent dans mon histoire d'homme de d'Empire of the Dawn.
Franchement, on a rattrapé les wagons. Moi-même, à la fin, j'ai eu un petit côté de ah. Ah ouais, ils ont créé les Targaryens, ok.
Moi-même,
j'ai
peut-être.
Compris. Alors qu'ils me l'avaient briefé avant.
Peut-être qu'ils ont créé les Targaryens, peut-être. Peut-être que. Donc, j'ai pas terminé, mais donc, allez voir cette chaîne.
Lucifer Means Lightbringer. On mettra le lien dans les notes du replay podcast.
C'est un type qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, David Lightbringer, je sais plus son
moi
nom.
Moi aussi, je m'appellerais David Lightbringer si je pouvais.
C'est vachement bien fait. Chaque vidéo est vraiment extrêmement bien foutue. Et lui, il pousse le truc jusqu'à à Westeros, la house of Dane,
qui est une vraie maison.
Qui ont une épée un peu magique là.
Oui, très. Ils ont l'épée du matin. C'est...
Ouais.
Le gars s'appelle l'épée du matin et ils ont.
Sword of the Morning. C'est en fait Sword of the Dawn. Et ils s'appellent les Dane, ça ressemble à Dawn. Et en fait, ce serait des descendants du Great Empire of the Dawn qui serait arrivé avant les First Men à Westeros.
J'adore être
Mike
au monde avec toi.
Drop.
C'est trop bien.
Donc lui, allez voir sa chaîne, c'est chambé.
Allez voir sa chaîne, on la mettra bien sûr dans les notes du podcast. Merci d'avoir été là, Tequila Tex, merci d'être de retour.
Un grand plaisir comme d'habitude, on se voit la semaine prochaine.
Oui, merci à vous d'avoir été là. On va raid Marie Kigai tranquillement, évidemment, car elle est toujours en live et que c'est la meilleure chose. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver chaque lundi sur Patreon le récap rigolo de House of the Dragon. Abonnez-vous. On se retrouve sur cette chaîne dimanche, a priori au plus tard, peut-être vendredi, mais au plus tard dimanche, pour jouer à Y a moyen The Witcher 3, a priori le sondage s'oriente vers ça. Encore merci à vous d'avoir été là, merci à Nodus pour toutes ses compétences techniques, merci Tequila Tex,
merci
Mimi. Momo d'avoir peu participé. Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com/mymyhgl. Des gros bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.